La vie des gens, leur vie réelle par contraste avec leur simple existence physique, commence à des moments différents.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 35 du Roi Steven. Avant de vous présenter les personnes avec qui je suis, je garde la parole, j'en profite de l'avoir. Parce
ah
que,
ouais.
Oh, exactement, parce que je voudrais remercier Noxfolio qui nous a fait remarquer que comme on parle toujours du Discord à la fin de l'épisode, eh ben ça s'entend pas vraiment qu'on a un Discord. Donc rejoignez-nous sur le Discord de Podcut pour venir discuter avec nous, parce que ben, nous, on aime bien discuter avec vous. Voilà, okay. Maintenant, je peux...
T'as pas une 206 à vendre aussi, tant que tu y es
Non, elle est plus à vendre parce qu'on l'a réparée, donc ça va,
okay.
On la garde.
Et du coup, on parlera du Patreon au milieu du résumé.
Ce podcast inclut une communication commerciale.
Fait partie du podcast, du label podcast. Rejoignez-nous sur le Discord. Bien, alors, avec moi, ce soir, autour de cette table virtuelle, il y a Julien.
Bonsoir, j'espère que vous allez bien, toutes et tous, car je suis inclusif.
Urde.
Coucou.
Il y a Aymeric.
Bonjour, bonsoir.
Grand Poil.
Bonsoir.
Émilie.
Bonjour.
Et nous avons un invité avec nous ce soir. Il s'agit de Padre Pio.
Ben bonsoir à tous.
Bonsoir. Salut. Padre Pio.
Coucou.
Bienvenue.
Bienvenue. Ça fait un moment qu'on voulait te proposer de participer à ce podcast. Bah, en gros, à chaque fois que tu as fait un tweet parlant de Stephen King.
Donc très souvent et depuis très longtemps.
On s'est dit, faut l'inviter.
Ouais. Je pense que c'est mon côté vieux et le fait que je parle de King parce que je l'ai découvert en fait... je l'ai découvert à 14 ans et ça commence à remonter mes 14 ans. Donc c'est vrai que j'en parle depuis un moment. C'est un des auteurs qui m'accompagne depuis pas mal de temps et je suis super content de pouvoir parler de lui, quoi.
Et en plus, hasard total du calendrier, on t'a envoyé un message pour te dire est-ce que ça te dirait un jour. T'as dit oui, pourquoi pas, ça dépend du bouquin. On t'a dit bon, on fait bientôt La Part des Ténèbres et là t'as sauté dessus.
Ah ouais, parce que c'est en fait moi La Part des Ténèbres c'est un livre que j'ai lu, je devais avoir 15-16 ans, ça faisait partie des King qui était il était pas super impressionnant, c'était pas un des plus gros en volume, c'était un des trucs que je pouvais planquer en gros assez facilement quand ma mère essayait de me dire qu'il y avait la bonne littérature et la mauvaise littérature, et celui-ci il se planquait beaucoup plus facilement sous l'oreiller que les autres et accessoirement c'est un de ceux que je trouve le plus intéressant sur le rapport entre l'auteur, le narrateur, le héros, l'anti-héros, donc c'est vraiment un de ceux qui m'ont fait réfléchir à ce que c'est que la littérature, un peu comme Misery, qui est un autre livre quasi frère ou sœur de celui-ci d'ailleurs.
Est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, de ce que tu fais, de qui tu es, de où on peut te retrouver?
dans la vraie vie, mon vrai nom c'est Jean-Christophe Pio, d'où le Padre Pio, qui est un vieux surnom venu d'un jeu de rôle dans lequel je jouais un prêtre, et du coup c'est parti comme ça. Et voilà comment le Padre Pio est né, et j'ai découvert bien après qu'il y avait un vrai Padre Pio. Oui. Dans la vie, je suis rédacteur, journaliste. En gros, je vends ce que je tape à la machine, quoi. Enfin, ou sur un PC plutôt. Mais voilà, moi, je vends les mots que j'écris dans la vie. Donc, c'est forcément un truc qui m'a toujours touché, en fait, l'écriture au sens très très large, et après la littérature. Mais voilà, c'est mon métier dans la vie, c'est de vendre des articles, des bouquins jeunesse, des bouquins pas jeunesse, de faire un petit peu de podcast aussi, de faire un peu de radio. Voilà, et j'ai 45 ans, ça fait 45 ans, ça fait ouais 30 ans que j'écris des trucs, et ça fait 20 ans que j'en vis, quoi, à peu près.
Eh ben,
nice.
Ouais, hein.
Ça commence à faire...
Ça en impose.
Ah, ça nous rajeunit pas.
Bien, Aymeric, bon, on a déjà dit de quoi on allait parler, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît?
Alors, L'Appât du Désir et l'Archange des Ténèbres sont deux nouvelles de Jenna Showalter, groupées avec La Porte du Destin dans un recueil titré Fatale Séduction et publié chez Harlequin en 2016.
Oh, faut qu'on fasse un épisode là-dessus.
Non, c'est ce que je pensais aussi.
Encore et un pseudo.
Avec une couverture qui est de toute beauté, j'espère qu'on aura moyen de vous la partager.
Oh, cette couverture est fabuleuse.
Oh là là. Donc on a non. un torse tatoué d'un jeune homme.
Oui, c'est comme un gros cœur tatoué avec des veines bizarres qui partent de partout.
Et le surtitre me laisse penser qu'il s'agit d'une longue série de dans un univers partagé. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Blague à part, La part des ténèbres est un roman de Stephen King, écrit sous le nom de Stephen King, et sorti aux États-Unis en octobre 1989. Et pile un an après, en fait, puisque c'était le 8 octobre 89 et sorti en France le 9 octobre 1990, donc un an et un jour après.
Ce qui, pour l'époque, est pas mal. Hein. On a vu des bien plus grands.
Traduit par William Olivier Desmond, qui a entre autres traduit parmi les livres qu'on a déjà traités, ça, Les Langoliers, Tout est fatal.
Donc ça y est, t'as décidé d'afficher les traducteurs quand...
Si jamais vous avez des choses à redire, parce que moi, de toute façon, je l'ai écouté en livre audio, ce qui me permet de transitionner vers la partie suivante. Je n'ai pas trouvé d'audiobook en français. J'ai trouvé un début d'audiobook en français lu par, je pense, quelqu'un bénévolement. Mais j'ai trouvé que la première partie de 1 heure, alors que... Pardon, il y avait une sirène. On a trouvé que la première partie
la créature,
qui dure 1 heure.
Ou juste...
Comment ?
La créature.
Une créature ? La sirène.
Non, j'habite à côté d'un commissariat.
Je suis actuellement en garde à vue.
J'enregistre depuis la cellule de
dégrisement. Un peu d'écho, pardon. Mais...
J'avais le droit à un appel, c'est celui-là, c'est pour l'enregistrement.
Ah bah tu le rentabilises, au moins c'est bien.
Bon choix.
Et donc, je disais que l'audiobook en VO dure 15h14. Il est lu par Grover Gardner, qui a entre autres lu Le Fléau, qu'on a déjà nous traité. Et le nombre de pages en français sont de 460.
De 1252.
Ouais, moi j'ai.
Et aux USA de 431. Je pense que c'est pour les grosses versions cartonnées.
Mmh. La version France Loisirs fait 500, il me semble.
542 chez un vieux pocket.
Ouais, chez le vieux pocket, c'est ça. Mais c'est écrit très petit et très serré, donc c'est un piège.
Il n'y a pas vraiment de marge ni rien, ouais.
C'est ça. C'est un gros livre.
Il fallait rentabiliser le papier, surtout sur du pocket. Les livres de poche à l'époque, c'était vraiment la place valait de l'or.
À l'époque, ouais.
Et à l'époque où il y avait des arbres, on pouvait faire du papier.
Mais il est actuellement,
pas ces écolos.
Actuellement, il est au livre de poche. Il est aux éditions livre de poche.
Avec une très belle nouvelle couverture.
Ah ouais ? Je l'ai pas vu la nouvelle couverture.
Ah, j'ai pas vu non plus.
Moi, j'aime bien l'ancienne parce que, pareil, je l'ai découvert assez jeune et elle me faisait bien flipper avec ces deux petits moineaux qui forment un visage un peu renversé. Ah !
Mais attends, la nouvelle couverture, c'est celle avec l'œil jaune ? Ça, c'est l'ancienne.
Non, ça, c'est l'ancienne.
Eh ben, écoute, sur le site du livre de poche, il y a toujours l'ancienne.
Tu verras bientôt la nouvelle.
J'ai un vieux bonhomme avec un rouge-gorge et une colombe. J'ai pas trop compris la couverture France Loisirs, mais c'est pas grave.
Faut jamais trop chercher, hein, France Loisirs.
France Loisirs, ouais, leur couverture, elle était pas ouf.
On en a parlé hier dans l'école des facs. Un autre podcast du label Podcut.
Donne un Patreon. En fait, on a Patreon.
Attendez, je vous le mets.
Bien joué.
Et donc, pour ne pas non plus
donc,
rallonger
attends, alors,
trop,
donc,
parce qu'on a quand même beaucoup à...
Juste pour apporter l'info que je cherchais. Au livre de poche actuel, c'est 864 pages.
Ah oui.
Peut-être que pour les gens, un livre de poche, ils voient à peu près à quoi, ils voient un peu plus à quoi ça peut correspondre.
Ouais,
donc c'est un gros livre.
J'ai deux éditions de Salem, une ancienne qui date à peu près pas une des premières, et la toute récente, et la taille du bouquin double, parce que c'est écrit, il y a des plus grandes marges, et c'est écrit en plus grand, avec des intérêts plus grands. Oui.
On croirait moi quand je devais rendre des devoirs.
Marge 8.
Alors, il y a 14 lignes de 2.
Bon.
Et donc, le résumé en une minute, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, sauf que Mr. Hyde est écrivain, Dr. Jekyll aussi, et le Dr. Jekyll est aussi fait de l'observation ornithologique. Voilà. Mais à la fin, le méchant disparaît.
Mais non, mais tu spoil.
Pardon,
le spoil.
Oui, c'est résumé. Comme ça, le résumé va aller plus vite, après.
C'est ça. Et là, il meurt.
Okay. J'espère. Alors, tour de table. Qui en a pensé quoi ? Nous allons commencer par Émilie.
Qui l'a lu, évidemment.
Non.
Non, mais qui l'a lu au moins une fois.
Oui, mais en fait, je me souviens pas de ma première lecture de ce roman-là. Ça fait partie, un peu comme Le Fléau à l'époque, des livres que j'ai un peu oubliés parce que j'avais pas dû comprendre, que j'ai dû lire trop jeune et que ça avait pas dû me toucher. Donc je l'avais un peu oublié. J'avais jamais vu l'adaptation, donc l'adaptation, elle, je l'ai vue. Et c'était en
cherchant...
Ah bah
c'est bon, tu l'as relu, quoi.
cherchant des infos, je me suis rendu compte qu'en fait, il faudrait que je le relise parce qu'il est vraiment essentiel et il a vraiment une place particulière. On en parlera dans les chroniques plus tard, mais il est vraiment au centre. Enfin, il y a un avant et un après La Part des Ténèbres dans la bibliographie de King, quoi. Et pour ça et pour tous les liens qu'il fait avec sa vie privée, il est très intéressant. Mais je me souviens pas si je l'avais bien aimé ou pas. À mon avis, il m'a pas transcendé parce que je m'en souviens pas, quoi.
En le relisant maintenant, en plus, je trouve que le rapport avec sa vie privée est pas très subtil dans la façon dont c'est abordé dans le bouquin.
Ah
alors
oui.
Moi, quand je l'ai lu quand j'étais gamin, je connaissais pas toute l'histoire de King, donc cette partie-là, j'ai pas fait de parallèle avec lui. Là, en le relisant, tu te dis ouais. Ah oui, quand même.
C'est vrai qu'à l'époque, son pseudo venait d'être révélé et on savait qu'il était addict, mais tout le monde l'était, quoi, à cette époque-là. Tous les auteurs, tous les réalisateurs étaient plus ou moins accros à la cocaïne, donc
la fameuse époque
Canal.
Noyé
dans la masse. Exactement, donc c'était un peu noyé dans la masse, donc c'était peut-être moins évident, ouais. Surtout avec le regard d'un enfant aussi. Donc, mais il faudrait que je le relise quand on aura fini de relire La Tour Sombre.
Qu'as-tu pensé du roman ?
Je l'avais jamais lu, donc j'ai eu une grande surprise et je suis contente de pas l'avoir lu parce que du coup, avant je connaissais pas tout cet univers du pseudonyme, donc c'est une très bonne lecture. Après. Personnellement, je suis pas d'accord avec le final, mais sinon, effectivement, à recommander.
Pourtant, il y a une explosion.
Il y a une explosion, effectivement, mais je partage pas son point de vue du tout. Mais très bien, sinon, c'est vraiment nickel. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Pomme, toi qui n'as pas eu à faire le résumé, est-ce que tu as apprécié cette lecture ?
Alors, j'ai apprécié de ne pas faire le résumé. Cette lecture En fait, j'ai lu la première moitié en très peu de temps, genre en 3-4 jours, donc comme je lis très lentement, pour moi c'est beaucoup. Enfin, c'est peu de le lire en si peu de temps. J'étais vraiment accrochée. J'ai dû poser le livre une dizaine de jours parce que j'avais pas le temps de me replonger dedans. Et j'ai eu énormément de mal à revenir dedans. Je pense que si on n'avait pas enregistré un podcast dessus, il aurait traîné 6 mois sur ma table de chevet. Puis un jour, je l'aurais remis dans ma bibliothèque en disant « Oh, c'est dommage quand même que j'ai pas pris le temps de le finir. » Mais je pense qu'au final, je l'aurais pas fini. Et... je pense que un des trucs qui a fait que j'ai eu du mal à re-rentrer dedans, c'est déjà à un moment donné, j'ai compris où il voulait en venir, et comme à chaque fois que ça arrive, je décroche un peu. Une fois que je sais, on avance. Et j'ai l'impression qu'il a pas, entre le point de vue de Tad, le point de vue de George et le point de vue de Alan, je sais pas, il y a eu des moments où je me suis dit, mais pourquoi il fait ça ? Et on dirait qu'il a pas su choisir. Et il y a certains chapitres qui, pour moi, ont pas de... sont en trop, peut-être. Et donc, ça se disperse.
Tu veux dire qu'il répète 3 fois la même chose ?
Sous 3 angles de vue, oui, des fois. Mais, ouais, voilà. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la première partie, et j'ai eu beaucoup de mal avec la deuxième. C'était pas une purge, je le jetterai pas à travers la pièce, celui-là, contrairement à d'autres. Mais bon, voilà, je sais pas. Est-ce que si je l'avais lu tout d'un coup, si j'avais pas été obligée de le poser, est-ce que je l'aurais fini quasi d'une traite ? Peut-être. Mais je suis ravie de pas avoir pris de notes. Là, ça m'aurait pourri le bouquin. Par contre, je l'aurais détesté si j'avais dû faire ça.
Et voilà. Padre, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette lecture ou relecture ?
C'est ça. Moi, je l'ai lu en 2 fois. La première, donc encore une fois, c'était pas longtemps du coup après sa sortie en France, je pense. Et la deuxième, je l'ai relu il y a peut-être 1 an. Et en fait, j'ai pas lu le même livre. Quand j'étais ado, l'histoire m'a emmené. Effectivement, je l'ai lu d'une traite. Comme je pense, on a tous lu des King. On l'attaquait. Enfin moi, en tout cas, je l'attaquais en me planquant un peu dans la chambre. Et en gros, je l'ai terminé à 5h du mat. Donc j'ai dû le lire en une en une séance et je devais pas faire le fier le lendemain. Et quand je l'ai relu il y a quelques temps, je l'ai lu avec un autre regard, le regard de quelqu'un qui a voilà 20 ans de littérature de plus, de lecture en tout cas, de plus dans la figure. Et il y a d'autres choses qui m'ont passionné dedans. Moi, c'est un des livres. Alors, c'est pas le meilleur. Clairement, c'est pas le meilleur des King. Il y a plein de défauts dedans. Je trouve que c'est un livre, par exemple, qui l'a pas du tout. Le fameux tuez vos chéris de King. Je trouve qu'il l'a pas assez appliqué, par exemple. Il a pas assez raccourci certaines choses. Par contre, je trouve que c'est un des plus intéressants de King sur ce qu'il dit de lui-même, de son rapport à l'écriture, de cette espèce d'ambiguïté qu'il a tout le temps entre ouais, je fais juste un métier, c'est écrivain, c'est enfin l'écriture c'est un métier. Ouais, c'est un métier, mais enfin quand même t'as des trucs chelous dans la tête. Et je trouve que c'est un de ses romans qui le montre le mieux. Je trouve qu'il y a des trucs encore plus intéressants que dans Shining sur certains points sur le miroir entre sa vie et la réalité. Et je trouve qu'il a jamais poussé finalement aussi loin le jeu de ce mélange entre lui, ce qu'il est, lui Stephen King, lui son pseudo et ce qu'il voulait dire à travers ce pseudo, ce qu'il voulait faire à travers ce pseudo de Bachman. Cette espèce de trouble qu'il a toujours entre la réalité et la fiction, je trouve qu'il a jamais été aussi fin. L'espace a jamais été aussi fin que dans celui-ci. Ça veut pas dire qu'il a réussi ce qu'il voulait faire, mais je trouve qu'il était pas loin.
D'accord.
Bah, c'est vrai qu'il a tendance régulièrement à se mettre en scène dans ses œuvres, mais que là, on sent encore plus que dans les autres que c'est vraiment lui qui est au centre du bouquin.
Ben c'est ça. Là, il a jamais. C'est ce que Pomme, je crois, disait. Là, vraiment, il y a l'épaisseur d'une cigarette entre d'une feuille de papier cigarette entre sa vraie vie et ce qu'il raconte. Donc c'est. Moi, j'aime bien l'idée qu'il a vraiment jamais été aussi loin entre l'écriture de ses personnages et sa vie à lui. Et ça, je trouve ça intéressant, mais encore une fois, ça veut pas dire que c'est réussi.
Ouais, il a un peu écrit sa propre fiction en se disant, il écrit toujours à partir de et si là il s'était passé ça, mais là il se l'est appliqué à lui-même et pas uniquement à des choses qu'il voit à l'extérieur, parce que d'habitude c'est parce qu'il voit un truc passer et il se dit bah tiens, et si ça se transforme en monstre et pouf ça part de là, mais là ça part de mon pseudo il a été découvert et si j'avais pas réussi à m'en débarrasser, ce genre de choses quoi.
Ouais voilà c'est ça.
C'est quoi ton livre préféré, toi, de King?
Ah, je pense que
celui,
tu me poses...
Celui que tu trouves le mieux écrit, parce que tu disais, c'est pas son meilleur ou c'est pas le mieux.
Ouais, c'est ça. Alors, il y a celui qui m'a le plus emmené, c'est clairement ça, d'assez loin. Parce que je trouve que c'est un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. C'est pas un chef-d'œuvre de King. Je pense que c'est un livre qui le dépasse de très très loin et qui est vraiment au rang des grands, grands romans tout court. Tout genre confondu, toutes époques confondues. Je pense qu'il a touché un truc dingue. Et après, mon livre préféré est pas forcément celui-ci. J'ai une vraie tendresse pour Le Fléau.
Oui.
Ouais.
mais Le Fléau, bah évidemment.
Bah d'ailleurs, Julien, toi, qu'est-ce que tu as pensé de La Part des Ténèbres ?
Je suis ultra mitigé, ultra. J'arrive pas à me décider parce qu'il y a plein de trucs que je trouve cool et des trucs que je trouve moins cool. J'ai trouvé que c'était un livre trop long, avec parfois franchement des passages qui ont été durs à lire, parce que je me faisais vraiment chier. Je trouve que c'est une de ces histoires les plus simples, dans le sens où tu devines tout ce qui va se passer. Il y a vraiment aucun rebondissement où tu te dis « Ah putain, non, j'y avais pas pensé ».
Et pourtant, à aucun moment, il dit « Et c'était la dernière fois qu'il l'a voyé ».
Qu'il l'a voyé, ouais. C'est vrai, mais c'est... Je sais pas si on va dire que c'est un peu des plus classiques ou des plus simples, mais voilà. Et à côté de ça, j'ai bien aimé le lire dans le sens où c'est sûrement son plus autobiographique. Beaucoup plus que Shining, je trouve. Enfin, j'arrive bien plus à me projeter. Alors, peut-être parce que c'est une vision biaisée que j'ai de King, mais à projeter King dans le héros, j'ai oublié son nom,
Thad.
De Thad. La Part des Ténèbres, Thaddeus, là.
George Stark.
George Stark, ouais.
C'est que dans
Jack Torrance, quoi. Je trouve que c'était assez intéressant de, alors je sais pas si c'est là, comme ça que ça s'est passé. Du coup, je verrai quand Emily fera sa chronique. Mais j'ai trouvé que c'était ultra intéressant le postulat de départ, de se dire bah ouais, j'écris sous un pseudonyme. Le pseudonyme marche mieux que, alors pour le coup, je pense pas que c'était le Cat King, mais bon, bref, mon pseudonyme marche mieux que mon nom, que mes livres écrits sous mon vrai nom, et du coup, je décide de le tuer. Ça, c'était assez intéressant comme postulat de base. Donc voilà, Mystique Miraisin.
C'est pas la seule fois où il l'a fait. Il l'a fait aussi sur Vue imprenable sur Jardin secret, qui a fait Fenêtre ouverte, où c'est plus ou moins la même thématique. C'est un truc qu'il maîtrise en plus.
Je peux dire quelque chose qui va en décevoir plus d'un chez nos auditeurs?
Oh oui!
Je suis d'accord avec Julien.
Ah, je le savais! Ça fait deux fois de suite, hein. Vraiment, l'univers va collapser. Hein.
Trois, non? Ça fait pas trois fois, là, déjà?
Je sais pas, comptez pas, ne tenez pas les comptes, on est dans la merde.
C'est pas la première
19.
Fois.
Ah!
Les gens vont arrêter de nous écouter, hein. Trop consensuel.
Pas mal et plus salé.
Et toi, Aymeric, t'as donné ton avis ou pas?
Non, d'abord grand poil. Hein.
Ah.
Oui. Alors, ben moi, comme je l'ai dit un petit peu déjà, c'est un livre que j'avais déjà lu, mais quand j'étais jeune, ça fait partie de la série des Kings que tu trouves dans ta bibliothèque et tu dis ouais chouette, un nouveau, encore, j'ai encore de la marge avant d'arriver au bout de ce qu'il propose. Et j'ai pas de souvenir vraiment précis de la première fois où je l'ai lu. Déjà parce que je pense que je l'avais lu assez vite et que j'avais pas tout le rapport qu'il y a autour de King lui-même sur ça, parce que il est sorti en 90, j'avais 8 ans en 90, donc je l'ai pas lu tout de suite non plus. Mais là, en le relisant, j'aurais pas eu le résumé à le faire. Je pense que je le dévorais quasiment à la padré en une nuit. J'étais parti. Hein. Il est tellement écrit de manière, enfin. Il y a des morceaux trop longs, mais il est écrit de manière tellement séquentielle, rapide, des petits chapitres qui s'enchaînent, que c'est le genre de bouquin qui me piège à fond et je le dévore, quoi.
Ouais, tu m'as envoyé plusieurs messages qui sentaient la frustration à ce niveau-là.
Je peux continuer, mais il faut que je dorme aussi.
Ouais, je te rejoins, je l'ai commencé tard et je pensais du coup pas avoir le temps de finir de l'écouter et en fait je l'ai dévoré aussi en l'écoutant. Je trouve que il a comme Pomme l'a souligné le défaut d'avoir je pense beaucoup de il reprend plusieurs fois des scènes qu'on a quasiment qu'il a déjà quasiment tout raconté à demi mot dans un autre point de vue. Ça fait un peu meublage, mais c'est loin de ce qu'on peut trouver comme longueur dans d'autres romans, notamment ça.
J'espère que t'as pas écouté notre épisode sur ça. Hein. On n'est pas tous de ton avis.
Je l'ai écouté, mais ça, enfin bon, voilà, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est un livre qui est bourré de défauts, mais qui reste un truc qui échappe presque à King, en fait. C'est ça qui m'avait fasciné dans ce bouquin, malgré ses défauts. Et c'est pour moi la preuve des grands bouquins, c'est ça. C'est qu'ils survivent à tous les trucs que t'as envie de leur mettre de tacle dans la gueule en disant, mais mec, c'est, non, là, ça fait 30 pages que tu nous emmerdes. Ouais, mais oui, mais c'est d'accord, mais l'ensemble est tellement beau.
Tout à fait.
Que, voilà.
Même la fin,
que ça reste quand même. C'est ça. Et juste un dernier point, c'est que en dehors des parties de l'aspect autobiographique, j'ai trouvé que ce roman-là, entre les scènes un peu carrément gore et certains passages vraiment, vraiment effrayants, était mais vraiment très très bien décrit. J'avais les images en tête, je vivais les scènes, la scène où on la première fois où Sade rêve avec juste la main, avec Stark dans son dos et juste la main qui passe, je la voyais, je flippais, j'étais parler, j'ai encore les poils qui se lèvent là. Donc vraiment il y a vraiment une méthode de description et c'est très très visuel, très très marquant.
Ouais, et puis après je rejoins aussi Julien sur le fait que le livre est pas non plus grandiose et tout, mais il se lit bien. Et j'avais un autre truc à dire, oui, et j'ai beaucoup aimé le fait que on a beaucoup parlé du fait que c'était très intime et autobiographique, puisque il parle de tuer son pseudonyme, etc. Mais je sais pas si dans la partie importance du livre, vous en parlez, mais en fait, il tue pas dans le livre, il tue pas Bachman, il tue Stephen King.
Oui, un peu, ouais, c'est vrai. Ça, je l'ai avalé.
Ok.
Bah, quelque part, genre Stack, en fait, c'est celui qui sert d'exutoire à sa début, c'est celui qui écrit. Alors, au vu de ce que fait King habituellement, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais c'est celui qui écrit des horreurs qui se fait tuer quelque part.
Oui, et justement, c'est là où je me dis, est-ce que ce serait pas un moyen pour lui de dire qu'il aimerait être reconnu pour autre chose que ses romans d'horreur?
C'est encore le problème de Bachman, qui est les bouquins de Bachman, signés Bachman, sont tous des bouquins surnaturels et assez absents, en fait, comparé au King. Ça peut être de l'anticipation, comme Running Man, ça reste un monde très réaliste, finalement, à chaque fois. C'est de la dystopie, mais il y a pas le caractère pur horreur qu'il y a dans les King, et je suis assez d'accord. Il y a un truc à creuser autour de, finalement, qui est-ce qui tue qui dans les personnages.
Moi, pour moi, c'est King qui tue celui qui a fait Maximum Overdrive.
Pour moi, c'est plus en fait de ce qu'on comprend à la fin du roman, et surtout de ce qu'on sait de ce qui se passe pour Tad dans d'autres romans plus tard. Ça sent à la fin. Je vais pas spoiler. Ça sent à la fin. La question, c'est plutôt de se dire qu'il faut accepter cette part-là plutôt que ce soit l'une ou l'autre part qui essaye de se débarrasser de l'autre. C'est pas la solution. C'est il faut accepter qu'elle existe, que l'autre existe, et qu'on a les deux en nous, et puis et que, en fait, King, il a une citation qui est très connue et qui est très parlante, parce que je trouve qu'elle décrit très bien tout ce qui est décrit à chaque fois, où il dit que les monstres et les fantômes sont vivants, ils vivent à l'intérieur de nous, et parfois ils gagnent. Et en fait, c'est un truc qu'il applique à toutes ces histoires, qu'on l'a déjà dit, hein, les histoires, c'est pas une histoire de fantômes, de maisons hantées, de clowns. Une histoire, c'est une histoire de violence domestique, de petite fille qui se fait violenter par son père, qui se fait agresser, d'enfants qui se font bully ou harceler à l'école. C'est ça, les histoires, en fait. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour moi, le sujet, là, pour le coup, c'était plutôt qu'est-ce qui se passe si on n'accepte pas la part des ténèbres qu'on a en nous, en fait. On crée littéralement un monstre quand on essaye de tuer la part de monstre qu'il y a dans chacun.
Je vous propose qu'on avance, parce que sinon on va parler de tout le bouquin maintenant.
Ouais, j'ai une question avant, parce que Émeric, t'as commencé en citant le nom du traducteur, qui est Willem Olivier Desmond, qui est décédé il y a quelques années déjà, et qui, chez les fans de King, est très très apprécié parce qu'il faisait des très bonnes traductions. Et je me demandais, du coup, pour les personnes qui ont lu et ou relu en français, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont sauté aux yeux, comme on a pu avoir le souci avec d'autres romans traduits par d'autres personnes?
Alors, moi, j'en ai une, c'est une grosse coquille que j'ai notée dans mon résumé, donc je vous en parlerai. Okay. Mais c'est genre la coquille, tu te demandes comment elle est passée.
Et c'est une coquille, ouais, c'est pas un truc où tu te dis, il a traduit par-dessus la jambe, quoi.
Non, non, c'est juste un nom qui est pas au bon endroit, c'est...
Je me suis posé une question sur une expression qu'il a employée à un moment donné. C'est George Stark. Non, George. Oui, si, c'est ça.
Oui, Stark.
Stark qui emploie l'expression Colin Tampon. Mais la manière dont c'est tourné. Alors, je connaissais l'expression et tout ça, mais c'est la manière dont c'est tourné. Genre, tu vas pas me prendre pour un Colin Tampon, je sais plus. Ça m'a questionné. Je suis allé chercher la définition. Bon, peut-être, ça peut passer.
Il y a des expressions un peu vieillottes, mais pas en négatif,
là,
hein, disons.
Là, on tombe plutôt dans le côté générationnel et époque à laquelle ça a été traduit, écrit.
C'est ça.
Mais non, parce que, tu vois, pour moi, l'expression, c'est « je m'en fiche comme de Colin Tampon ». Mais
je la connaissais pas, cette expression.
C'est vrai?
Non, moi non plus. Hein.
Non.
Ah, mais je la connais de Brassens, c'est pour ça. Donc c'est un truc de vieux. Du coup, c'est un truc de vieux. Mais donc je la connaissais comme ça, et donc ne me prends pas pour un Colin Tampon. Je trouvais ça étrange, mais c'est cohérent. C'était les gamins ou les, j'allais dire les babaches, les personnes les personnes faibles d'esprit qui étaient mis en première ligne dans les guerres avec les tambours. Voilà.
Ok.
Et donc on s'en foutait, en fait, de ces gens-là. C'était c'était ceux qui servaient, qu'on estimait qui servaient pas à grand-chose et qu'on envoyait se faire buter en premier, en fait.
Voilà. Moi, j'ai juste une remarque. Je crois que je vous ai vu ou discuté de d'une expression qui est vers la, utilisée vers la fin pour un apôt.
Oui. Oui, la chanterelle.
Ah, le fameux, ouais, la chanterelle.
Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait pas utilisé apôt. Mais puisque.
Et il y a quoi en anglais comme terme, tu te souviens?
Bird color. C'est
ah
un
ouais, donc oui, un apôt.
Ouais. Alors moi, je suis arrivée à la conclusion que c'était quelque chose, enfin une expression qui devait être régionale au niveau de la chasse. Donc parce que il y a plusieurs sources justement. Chanterelle s'utilise pour plusieurs trucs au niveau de la chasse. Donc à mon avis, ça ressemble à un apôt, mais
après, mais on peut déjà se féliciter qu'il n'ait pas traduit par un sifflet à oiseau ou un appeleur à oiseau. Je pense qu'il y en a d'autres, ils auraient mis ça. Merci, William Olivier.
Une Google Trad, quoi.
Ouais, c'est ça.
On va commencer. Alors, pour rappel, pour notre invité, on a le droit de parler sans problème des bouquins qu'on a déjà traités, mais on ne spoile pas les bouquins dont on n'a pas encore parlé dans le podcast.
D'accord.
Donc, par exemple, t'as cité ça tant que tu veux, Shining tant que tu veux, Misery, on l'a jamais fait, par exemple.
D'accord, très bien.
Voilà.
Puis, genre, on ne parlera pas de bazar.
N'hésite pas à couper dans le résumé si tu as quelque chose à dire.
Parfait.
Oui, pareil, ouais. On avance et c'est nous qui... On demande pas la parole, on la prend.
D'accord.
Voilà. Bah écoute, Grand Poil, vas-y, c'est à toi.
Alors, la part des ténèbres. Le bouquin s'ouvre sur une excellente dédicace de King que je trouvais important de relire dès le départ. Donc il écrit « J'exprime toute ma reconnaissance à feu Richard Bachman pour son aide et la source d'inspiration qu'il fut pour moi. Jamais ce roman n'aurait vu le jour sans lui. » Donc, prologue. Tad Beaumont, grand échalas maladroit, a 11 ans lorsqu'il reçoit pour la première fois un prix et des compléments pour une de ses nouvelles. Au grand ravissement de sa mère, mais pas de son père qui s'en fout royalement et demande une nouvelle bibine. C'est aussi le début de ses premières migraines, catégorie tétanisante, toujours précédée d'un bruit étrange comme le pépiment de milliers d'oiseaux. En tout cas, c'est ce que le docteur lui dit, mais le narrateur nous prévient déjà que ça va pas être aussi simple. La veille d'Halloween, il fait une crise de convulsion devant le bus scolaire. Transporté en urgence, par un enchaînement de circonstances plutôt chanceuses, à l'hôpital, des radios montrent une forme de tumeur probablement bénigne. Son père, Glenn, qui est présent, se comporte comme un salaud. Il estime que ça risque de lui coûter trop cher, cette opération. Et à côté, sa femme Sheila, dont on comprend rapidement qu'il la bat, pleure silencieusement. La chirurgie exploratoire découvre des morceaux humains dans le cerveau de Sad. Je sais pas comment le prononcer à la française, Tad ou Sad à l'anglaise.
Alors, dans le film, ils disent Tad, mais je trouve ça très désagréable.
Oui, en anglais, ouais. Bah, c'est bizarre.
Donc, moi, j'ai dit Tad, mais c'est faux.
C'est le TH.
Ouais. Ouais, je vais dire Tad.
C'est toi qui décides.
On est en France, monsieur, c'est la France.
Ouais.
Très bien. Tu dis pas Thibaut.
C'est la France.
Thibaut.
Sinon, tu l'appelles Auguste ou tu l'appelles
Tadeus.
Simon.
Tadeus.
En tout cas, dans une scène qui est assez dégoûtante, le chirurgien ne se laisse pas démonter, enlève le tout et Sad se remettra de l'opération pour poursuivre une carrière bourgeonnante d'écrivain.
Alors, plus exactement, il découvre un œil et des dents.
Oui.
C'est ça, non?
Oui, c'est ça.
Oui.
Ah, et c'est quelque chose qui est réellement.
Je dis, Pomme, elle va être en train de cringer derrière son livre, là.
Ouais, parce que, alors moi, je me suis lancée dans ce bouquin sans savoir du tout de quoi ça parlait. J'ai arrêté de lire les quatrièmes de couverture depuis Joyland. Et puis, je le connaissais pas, ce livre. Donc, je me suis lancée dedans vraiment sans savoir. Alors, je me doutais qu'il y aurait un truc de, puis rien qu'avec la première phrase, la dédicace à Bachman, tu vois à peu près, mais vraiment sans savoir. Ni même, si c'était de l'horreur, du fantastique, de... Voilà, je suis partie comme ça. Et alors, ce premier chapitre, à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de lire? Quelle était la chose, là? Et ben...
T'as bien fait de pas regarder le film.
Et en fait...
Ouais, ouais.
Et en fait, cette partie-là, après, ben on s'en tape.
Ça a une importance, mais quand
franchement,
même.
Ça y serait pas, ça changerait strictement rien à l'histoire.
On va attendre 300 pages qu'il contacte le docteur qui est en train de faire sa rando là.
Okay. Il a contacté le docteur qui lui dit ah bah il s'est passé ça quand il était petit et après bah rien, on s'en fout.
Voilà.
Bah, c'est quand même important de poser la base.
Ouais, mais j'attendais.
Avant d'arriver à ces 300 pages.
J'attendais. Non, mais ces 300 pages. Dans 300 pages, ça sert à rien aussi ce qu'il va dire. Franchement, j'attendais tellement de ce truc. Et en fait, il le réexploite à aucun moment dans le bouquin. C'était une grosse déception.
Alors, pour le coup, on en parlera dans l'adaptation, mais ils s'en servent un petit peu plus.
Oui.
Ouais, il y a quelques petites différences. Alors, premier chapitre, du coup. Farce de cinglé. Régulièrement, les débuts de chapitre s'accompagnent d'un extrait d'un livre de George Stark, un peu comme du King sous stéroïde.
Oui.
D'ailleurs, c'était probablement le cas. On retrouve Tad, plus tard, marié, deux enfants. Sa femme, Liz, a l'air de supporter son mari dans ses projets d'écriture difficiles. Un concurrent ou une connaissance, clin d'œil, lecteur au départ, George, possiblement Stark, comme à chaque début de chapitre, lui n'a pas l'air d'avoir de soucis d'écriture. On découvre dans un magazine People que Tad et Liz ont mis en scène l'enterrement de George Stark, un type pas très sympa. Cette mise en scène intervient après que le poteau rose fut découvert par un certain Clawson, ce qui oblige Tad à révéler l'histoire au grand public. Cette mise en scène morbide déclenche un rire hystérique chez Tad, mais qu'il met en même temps mal à l'aise, comme s'il avait vraiment tué George, sa part des ténèbres. Donc là, c'est mentionné tel quel. C'est grâce à Liz qu'il a pris ce pseudonyme, suite à un syndrome de la page blanche après la publication de son premier roman sous son propre nom. Et pour trouver le nom, s'est inspiré d'un autre écrivain qui disait que son alter ego écrivait pendant les jours de pluie. Le niveau d'importance de ce détail-là m'échappe un peu. On passe pas mal de temps dans les pensées de Tad, et pendant ce temps-là, son corps a l'air d'agir de manière indépendante, piquant des crayons sur son bureau. On apprend que Stark s'est en quelque sorte réveillé au cours de l'écriture du premier roman, mettant en scène Alexis Machine.
Je me suis demandé si en VO il s'appelait Alexis Singh. Ou Alexis truc.
C'est bien machine. D'après les quatrièmes de couverture de George Stark, il aurait 39 ans, aurait séjourné plusieurs fois en prison et préfère écrire au crayon plutôt qu'à la machine. Tad a écrit 10 ans sous ce pseudo avant l'enterrement, ce qui lui permet de partir au sommet avant que Machine et George n'aient plus rien à dire. Liz, de son côté, est aussi soulagée de la fin de cette double identité, elle n'aimait pas du tout Stark. Donc on commence déjà à avoir un peu cette impression de séparation entre les deux au moment de l'écriture.
Ouais, et toute cette partie, pour le coup, quand on connaît un peu la vie de King, comme moi, sa plus grande fan, on reconnaît un peu le bonhomme, quoi. Mais en vrai, parce qu'on parle toujours de King, de ses problèmes de drogue et de machin, mais putain, sa femme, elle est toujours là, quoi. Sérieux, c'est...
Une sainte.
Non, pas une sainte, j'en sais rien, mais putain, quoi.
Après, elle lui a posé un ultimatum, hein, lui a dit t'arrêtes tes conneries ou je pars avec les gamins.
Encore heureux? Putain.
Ouais.
Mais non, mais je sais pas, voilà, là ça me revient parce qu'en plus là elle est mise en scène, Liz, Tabitha. Enfin, clairement c'est
ouais.
Tabitha.
Ouais.
Mais bon, voilà, tout le roman j'ai pensé à ça en fait, à Tabitha et à me dire mais putain, mais cette nana elle a vraiment vécu l'enfer quand même, je pense.
Ouais, c'est marrant, il le sait parce que toutes les interviews, tout le temps, il parle d'elle. Parce que déjà, ils sont toujours très amoureux et tout, mais il sait qu'il lui doit énormément entre Carrie qu'elle a sauvée de la poubelle et le fait qu'elle a corrigé plein de choses qui n'allaient pas à une époque dans ses romans et qu'elle l'ait aidé à tenir quand il s'effondrait.
Oui, puis elle est elle-même autrice et une sacrée autrice, donc je pense que il y a une complicité qui est non seulement leur histoire d'amour et puis ils ont aussi un respect d'écrivain à autrice ou de clairement.
Mais moi c'est marrant parce que en lisant ça, avant de lire les autres rubriques, je pensais que c'était totalement imaginé en fait. Pour moi c'était pas. Je voyais pas du tout King dire qu'il aimait pas son pseudonyme en fait. Donc moi j'étais, je me suis dit bah ok c'est inventé tu vois. Ouais, mais vraiment je pensais pas, j'ai vraiment pas fait de lien direct en me disant ah mais c'est King parce qu'il aime pas machin. Non, pour moi c'était vraiment inventé complètement quoi. Et je suis un peu tombée sur le cul quand justement je me suis dit bah non en fait c'était assez clairement inspiré quoi. Et ça m'a un peu bloqué dans le fait que j'ai aimé ou pas ce livre quoi.
Le côté dissocié entre les deux que t'arrivais pas à réconcilier quelque part.
Bah, disons que, ouais, moi, je pensais pas que c'était si proche de la vérité, en fait.
Hmm. Ok.
T'avances
Alors, c'est toi qui... Oui, j'ai cru que quelqu'un avait quelque chose d'autre à dire.
T'avances
Merci, maîtresse métronome. Chapitre suivant. Alors, j'ai pas noté les numéros de chapitre parce qu'ils en ont pas, donc c'était chiant. J'ai commencé à calculer, j'ai arrêté. Donc, j'ai gardé les noms. Désordre dans le ménage. Le soir même, cauchemar affreux avec George Stark en guest star macabre qui le pousse à visiter sa maison de Castle Rock. Tout ce que Tad y touche y tombe en morceaux. Même dans ses rêves, sa maladresse se transforme en pouvoir de cendre. Même Liz y est morte. Tad se réveille sur une promesse de George, il n'en a pas fini avec lui. C'est une scène particulièrement flippante où on ne voit jamais George, juste un bras de temps en temps qui passe au-dessus de l'épaule de Tad et on aperçoit une main qui n'a aucune ligne. Vraiment, cette scène, elle m'a marqué à vie. Chapitre suivant. Cimetière Blues. Début juin, Digger Holt, le responsable des risques de Castle Rock, fait sa tournée d'inspection du cimetière. Tout se déroule normalement jusqu'à ce qu'il remarque un grand trou au milieu de sa pelouse bien entretenue, là où il n'y a aucune tombe. Il se rappelle que c'est exactement l'emplacement où la fausse tombe de George Stark fut placée. Il ne comprend pas, le trou a l'air d'avoir été creusé de l'intérieur et des traces de mains et de pieds sur les bords, comme si quelqu'un en était sorti. Trace qu'il va suivre jusqu'à la sortie du cimetière, réussissant même à imaginer celui qui en est sorti. Il est balèze, ce petit digger. Le soir même, au bar, il évite le sujet avec ses collègues jusqu'à la mention d'un meurtre la veille. Rapport ou pas, il doit en parler au shérif Pangborn.
Moi, tout ce passage dans le cimetière qui est creusé de l'intérieur, etc., ça m'a fait penser à l'époque où je lisais Les chairs de poule. Et j'ai bien
ouais,
aimé.
Un peu, bah... Oui, puis c'est tellement évident ce qui est en train de se passer que tu connais pas la raison profonde, mais tu sais qui en est sorti, globalement, dès le départ.
Oui. Ouais, mais à ce moment-là, tu sais pas encore exactement quel angle King va choisir pour traiter le truc. Et ouais, franchement, voilà.
Le shérif Pangborn, quand même. Pas non, n'importe quel shérif.
Ouais, mais moi, je suis pas censé le connaître, le shérif Pangborn.
C'est vrai que c'est la première fois qu'on le croise.
On l'a mentionné dans Élévation, ouais. J'ai dit qu'il y avait une rue qui avait été renommée à son nom.
Exactement. Okay.
Et du coup, tout le monde m'a dit « Ah, ta gueule, c'est trop en avance, on sait pas qui c'est. Okay. »
Mais je me souviens, j'ai envoyé un message justement à Grand Poil en disant « Mais Pangborn, on en a déjà parlé, non ?» Il me dit « Ouais,
dit,
ouais,
fais
mais fais pas de recherche sur Internet.
» Oui, okay. Non, on n'en fait pas de recherche.
Chapitre suivant, mort au village. Le nouveau shérif est appelé sur la scène du meurtre d'Omer Gamache après que sa veuve ait signalé sa disparition. Celui-ci est en piteux état, complètement défiguré et identifié grâce à sa prothèse de jambe et ses dents en or éparpillées sur son menton. Un homme a été aperçu sur la route en provenance du cimetière par la fermière du coin, son allure étant dérangeante même de loin. Elle raconte tout ça à l'adjoint Norris en train de faire ses courses de légumes chez elle. Elle le verra, pris en autostop par Homer un peu après minuit. C'est elle qui remarquera la camionnette du pauvre Homer et conduira l'adjoint à la macabre découverte. Le cadavre sera découvert peu après dans la matinée par un jeune garçon au bord de la route, les mouches étant déjà en plein festin. Alan, qu'on rencontre pour la première fois, a l'air d'être un homme plutôt habitué à travailler correctement, un peu sec, alors que son adjoint a l'air plus empoté comme on pourrait l'attendre d'un flic d'un gentil petit coin paumé où il se passe pas grand-chose. Pendant ce temps-là, dans le Connecticut, un policier se paye une bonne flip en découvrant la camionnette d'Homer abandonnée dans un parking et poisseuse de sang séché. Chapitre suivant, meurtre en ville. Dobby Eberhardt est la propriétaire impressionnante de l'appartement de Clawson. Elle aime bien le petit Clawson car il a l'air d'apprécier lui aussi son écrivain préféré, George Stark. Il lui parle de son enquête sur Stark Beaumont, elle a essayé un de ses livres mais elle l'a pas aimé, et c'est grâce à ça qu'elle lui fait une fleur en acceptant plusieurs fois le paiement de son loyer en retard. Mais là, c'en est trop. L'enquête sur la double identité n'a pas abouti sur un joli pactole comme il espérait, et Dobby n'est pas dupe du manque de fonds systématique de Clawson. Mais surprise, la porte du studio n'est pas fermée, et une odeur étrange s'en dégage. La même que celle ressentie par le flic assassiné par le mystérieux homme précédemment. Clawson gît dans son appartement, massacré, la langue coupée et épinglée au mur, la bite en bouche et en lettres de sang sur le mur, les moineaux volent à nouveau.
Je peux raconter une anecdote personnelle?
C'est une anecdote.
Là, c'est là.
Sur les moineaux peur,
hein. Oui. Non.
Sur la bite en bouche. Okay.
Quand j'étais ado, je faisais des jeux de rôle. Comme beaucoup d'ados. Et avec une copine, quand on a commencé à devenir plus grande et à vouloir s'affirmer en tant que femme forte, dans tous les jeux de rôle qu'on a fait, il y avait toujours un moment où on allait en ville tuer des hommes pour leur couper leur bite et la mettre dans leur bouche. Voilà.
Ok. Ok.
Mais je l'ai fait dans des jeux de rôle, pas pour de vrai dans la vraie vie.
Oui, mais on veut, ne nous en dis pas plus, s'il te plaît.
Mais du coup, ça m'a fait marrer de lire ce passage parce que ça m'a rappelé ses bons souvenirs.
Ah, tellement de bons souvenirs.
Nos jeunes années quand on massacrait des gens là-bas.
Écoute, on avait les rébellions qu'on pouvait de la manière dont on pouvait. Écoute, voilà.
C'est ça.
Jouer à des jeux de rôle, c'est bien.
Je confirme.
Alors, Dobby finit par s'évanouir sous la pression. Elle a l'impression d'être dans une histoire de machine et que celui-ci a quitté l'appartement juste après qu'elle y soit entrée. Petit moment de frisson, on n'est pas sûr qu'il soit là ou pas. Chapitre suivant. Boulot de flic. C'est un jour comme un autre chez les Bonbons, lorsque la police débarque chez eux. Le récit suivant est un extrait du journal des événements tenu par Tad, un journal que sa femme n'aime pas, car on dirait qu'un observateur extérieur note tout sans passion sur la vie de Tad. On y apprend en préambule que Tad était déprimé de ne pouvoir avoir un nouveau livre après Dancer, qui est son précédent livre écrit sous son propre nom, et que Liz a en outre eu une fausse couche juste après. Donc la vie est pas très rose pour les Beaumont. Les policiers du coin où ils habitent, Ludlow, qui devrait vous parler, accompagnés de Pangborn de Castle Rock à 100 bornes de là, sont venus chercher Tad pour l'interroger sur le meurtre d'Omer Ganache. Étant un résident de Castle Rock, oui.
Donc Ludlow, c'est la ville où se passe cimetière.
Exact.
Voilà. Pour repréciser au cas où.
Mais j'étais pas sûr que tu l'aurais.
Mais quand même, d'abord je l'avais, puis après je suis allé vérifier. Et puis je pense à tous nos auditeurs, nos auditrices, qui peut-être n'avaient pas retenu. Ça se passe au même endroit que cimetière. Un charmant coin.
Ça n'a pas vu le tas
d'avoir envie d'y habiter. Étant un résident de Castle Rock, Pangborn a une attitude très fermée et il semble en possession d'informations qui incriminent gravement Tad. Celui-ci proteste et clame son innocence et demande plus de détails sur le lieu et l'heure pour pouvoir discuter alibi. Il a l'air sincère et convainc les policiers d'État là où Pangborn continue à être en colère. Un court conciliabule a lieu à l'extérieur entre flics pour décider s'ils peuvent lui donner ces détails ou non. Techniquement, il n'y a pas de mandat d'arrêt, donc Tad n'est pas pour le moment obligé et surtout pas très motivé à les suivre. Les policiers reviennent et demandent un alibi pour le soir du meurtre d'Homer. Tad et Liz sont soulagés car ils en ont effectivement un plutôt solide avec une soirée organisée chez eux avec beaucoup de monde et qui s'est finie tard dans la nuit. Pangborn, lui, par contre, refuse toujours de les croire sur parole, même si on sent que sa confiance s'effrite un tout petit peu. Et on comprend enfin les raisons de sa colère. Des empreintes parfaites de Tad ont été retrouvées sur les lieux du crime, et pendant cet échange, Tad a employé des expressions de son sale héros, Alexis Machine. Comme mentir un alibi, donc c'est des choses qu'on a retrouvées dans les entêtes de chapitre au départ. Et surtout, une attaque aussi soudaine que rapide du bruit des oiseaux intervient. On s'arrête là. Chapitre suivant, une petite visite de Pangborn. Le soir même, Pangborn est de retour, seul cette fois, et Liz l'accueille plutôt froidement. Tad, qui s'occupe d'essayer d'habiller Wendy, a l'air préoccupé. Par les accusations, mais aussi ce bruit dont il n'arrive pas à se souvenir. Quand est-ce qu'il l'a déjà entendu? Celui-ci s'est à nouveau manifesté dans l'après-midi, et il a perdu la notion du temps. À son retour, il a écrit en capital au crayon sur la feuille tirée de sa machine, « Les moineaux volent à nouveau ». Et le détail a un peu d'importance sur le fait que il écrit pas à la machine, mais vraiment au crayon, sur une feuille de son roman. Pangborn est revenu, non officiellement, avec un pack de 6 pour discuter des meurtres. Oui, car Clausen a été retrouvé, et Pangborn a besoin de l'aide de Tad pour démêler ce qui se passe. En apercevant les jumeaux, Alan pense à une théorie que Tad déroule sans mal, en faisant le parallèle avec son activité d'écrivain sous le nom de George Stark. On apprend aussi que lors de sa fausse couche, Liz attendait déjà des jumeaux. Et pour les preuves, ce sont surtout les empreintes trop parfaites qui font pencher la balance du côté du coup monté. Comme si quelqu'un fabriquait et laissait ses empreintes volontairement. Une bonne répartie de Tad brise la glace entre les deux et manque d'étouffer Pangborn en passant. Plaçant la soirée sur de meilleurs auspices que leur première rencontre. Le suspect fume des Pall Mall. Je sais pas comment. Pas
le
mal.
Les pale mail.
Pale mail.
Oui, c'est
des clopes. Des clopes.
Des
clopes. Ouais.
Des clopes, mais de la même marque que celle que Sad fumait il y a 7 ans. Il a aussi le même groupe sans. Je reviens de. J'ai prévenu que je.
J'ai l'impression qu'il est triste, du coup, tu vois.
Il est sad.
Il est sad.
J'ai prévenu que je sais pas faire le choix, donc je vais changer régulièrement. Alors, et de manière totalement inconsciente.
Dans mon boulot,
c'est
mon
pas
chef,
grave,
il aurait
grand
dit fade.
Fade.
Ouais, non. Ouais, les TH, il les dit feu. Tous.
Fais de la façon qui te met le plus à l'aise.
Merci.
Je te reprendrai à chaque fois, t'inquiète. Je suis là.
Prononce-le comme l'aurait prononcé Fofi.
Bah, tad, du coup.
Donc, le suspect, il fume les mêmes cigarettes que Sad il y a 7 ans, parce qu'il est devenu non-fumeur. Il a le même groupe sanguin, mais des cheveux blonds, ce qui pourrait aussi être falsifié malgré tout. Tout ça est bien étrange pour la police. Les deux meurtres semblent quand même affecter des personnes connues de Tad et choisir comme cible.
Alors,
pour...
Par contre, choisis, oui. C'est Tad ou Sad.
Non, il a dit qu'il ne voulait pas choisir. Mais ça peut te rassurer, dans le film, suivant les persos, ils disent Sad ou Tad, hein, donc tu peux.
Ouais, ils ont pas les mêmes, ils ont des problèmes d'accent aussi.
Sinon, tu dis Sad ou Stad.
On va pas y passer 10 minutes, s'il te plaît.
J'en suis capable.
Alan veut en apprendre plus sur Clawson et c'est Liz qui va prendre la main sur le récit. Chapitre suivant. L'invasion de l'orduroïde.
Alors, juste, c'est pas pour parler de Tad ou Sad. Sur tout ce passage, il y a plein de choses qui sont mises en place, il y a le mystère qui est installé, à ce moment-là, moi, j'étais encore à fond parce que, encore, pour l'instant, on sait pas, en fait, on sait pas où il va, on sait pas si c'est Tad qui est un psychopathe. En fait, à ce moment-là, je trouve, ou alors c'est peut-être moi qui m'ai lu, qu'on sait pas si King part sur un thriller très, très terre-à-terre. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a eu un dans mon couloir. Il s'est mis à pleuvoir et on a du linge dehors, donc mon copain vient de hurler.
À chaque fois que c'était ton chat qui miaulait.
Non,
à chaque fois que c'était un enfant
qui gueulait. Donc.
Toutes ces solutions vont lui faire bien plaisir.
Donc on ne sait pas encore à ce moment-là si King est en train d'écrire un roman, un thriller un peu terre à terre, où le héros, donc Tad, en fait, est soit. Genre un dédoublement de personnalité, il le sait pas, soit c'est vraiment un psychopathe qui met plein de trucs en place. Enfin, moi, je pensais qu'il allait partir dans un truc comme ça, j'étais à fond. En fait, j'espérais qu'il parte dans un truc comme ça.
Ouais, quand même.
Le mystère va être entretenu encore un petit
peu. Ouais, moi, je trouve pas tant que
ça. Et puis, finalement, ça sera pas ça.
Genre, les empreintes digitales, on sait qu'à cette époque-là, c'est quasiment impossible à faire. Enfin, c'est... Ouais, assez après, vite, non, quand même, on enlève la piste d'un copycat, en fait, ou d'un usurpateur.
Ouais, c'est le côté alibi costaud qui m'a plutôt fait dire que ce serait pas Tad qui serait à l'origine de tout ça.
Disons que le flic...
Ouais, en fait, il te met deux éléments incontestables. D'un côté, il te met l'élément incontestable des empreintes, et de l'autre, il te met 30 témoins, quoi.
Ouais.
Ouais, mais c'est pour ça que là, à ce moment-là... Je me suis dit, wow, dans quoi il nous amène, wow.
Ouais, puis comme le flic, il est très sceptique, donc il veut pas croire quoi que ce soit de surnaturel, il cherche des théories, quoi, pour trouver ça, donc il explore vraiment toutes les pistes possibles.
Est-ce que vous l'avez vu, alors, sauf ceux qui se connaissent, qui le connaissent bien, peut-être les autres, s'il y en a d'autres qui le connaissaient pas, ce flic, est-ce qu'à ce moment-là, vous l'avez, déjà, est-ce que vous vous êtes dit qu'il allait rester longtemps dans le bouquin? Et est-ce que vous l'avez vu comme un emmerdeur? Genre le flic qui va faire chier le héros?
On peut pas te répondre à la première question. Et dans mes souvenirs, il a le même nom, mais c'est pas trop le même personnage.
Quoi?
Je crois que t'as répondu dans le mauvais ordre.
Ouais, on dirait.
Ma première question, c'est est-ce que vous vous êtes dit... est-ce que vous pensiez que ce personnage d'entrée de jeu était un des personnages du bouquin ou est-ce que c'était un flic de passage? Et la deuxième question, c'était est-ce que à ce moment-là, vous l'avez vu plus comme un emmerdeur, le flic qui vient faire chier le héros,
non, il n'était pas de passage. Enfin, comment t'avais tourné ta question, je comprenais est-ce qu'il allait mourir ou pas, quoi. Donc ma réponse était
non.
Non,
non, c'était pas.
Parce qu'il est dans un autre bouquin. Et dans cet autre bouquin, c'est un Moi, je trouve que c'est non, pas le même clic.
Pas à l'autre... Non, mais tu réponds toujours pas à ma question. Moi, je te parle de ce bouquin-là.
Oui.
pour moi, dans ce bouquin-là, il était pas venu pour l'emmerder, mais on savait qu'il serait important parce qu'il vient de... Ça, c'est répété, il vient de Castle Rock, ils ont une maison de campagne là-bas, il va avoir un rôle à jouer dans l'affaire, plutôt que les deux flics de, d'État qui ne sont pas même pas nommés.
Donc voilà, donc tout ça pour dire que, du coup, ben moi, le, j'étais côté Pangborn qui pose ses questions, et moi aussi, je voulais des réponses à ces questions.
Mais c'est un peu bah justement c'est un peu le pendant du lecteur Pangborn pendant tout le truc en mode bah, qu'est-ce qui se passe comment c'est possible tout ça ça peut pas être surnaturel ça n'existe pas.
Ouais, à la première scène où il apparaît je me suis dit ce sera l'inspecteur Zenigata de Lupin 3 c'est-à-dire le mec qui va le poursuivre tout le long sans relâche jusqu'à ce qu'il craque. Et en fait j'étais très surpris quand ils sont devenus potes en une soirée
un peu trop
en faisant des blagues.
J'ai trouvé ça. Ouais, ça, j'ai eu du mal avec ça.
Après, c'est un truc assez propre à la culture américaine, ça. Le fait qu'ils passent une soirée effectivement à faire des vannes veut pas dire qu'ils deviennent potes. Hein. Ils passent une soirée à faire des vannes, mais ils peuvent s'oublier le lendemain. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez carnassier chez Pangborn tout de suite. On sent que lui, il s'en fout de savoir s'il trouve Tad sympa, s'il trouve sa femme sympa, s'il trouve les gamines, les jumelles sympas. En fait, il s'en fout. Lui, il est là pour trouver... C'est Dana Scully, quoi. Il a besoin de preuves.
Il est sceptique.
Ouais, je suis d'accord. J'ai eu exactement la même image de Dana Scully. Mmh. Tout à fait.
Donc si, pour lui, passer un moment avec Tad et fumer des clopes et boire des bières, c'est un moyen d'aller à la vérité, il va pas hésiter une seconde à s'en servir. Mais ça veut absolument pas... Enfin, moi, j'ai jamais... D'abord, je suis convaincu qu'Alan Pangborn n'aime pas Tad Beaumont. Et que ça dure tout le bouquin. Hein.
Ça sent tout le bouquin, c'est ce que j'allais dire.
Ouais. Il y a une hostilité entre les deux. Non. Il est désolé pour lui à cause de sa femme et de ses gosses, mais pas tellement pour Tad Beaumont en soi. Pour moi, il y a une hostilité entre les deux qui disparaît jamais vraiment.
Ah ben, tu vois,
ils se comprennent, mais il y a une hostilité.
Je suis contente que tu le présentes comme ça parce que je comprenais pas cette amitié soudaine sortie de nulle part.
Mais c'est très ricain, ça, le côté on passe, ok, on se fait un barbecue et puis on a un Français repart avec l'impression qu'il a trouvé son nouveau meilleur ami. Et en fait, mec, il a juste passé une soirée quoi, à boire des bières. Il y voit pas plus quoi.
Bon, après, je me dis, c'est peut-être aussi question de confinement. Moi, à l'heure actuelle, si j'ouvre ma porte à quelqu'un qui a des bières, c'est ultra exceptionnel et c'est mon meilleur ami ou ma meilleure amie quoi. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui fait que passer.
Ça n'aide pas à ressentir la chose. Je comprends. Alors du coup, on redonne les clés à Liz. Elle nous raconte l'histoire d'un homme mesquin qui voulait l'argent et la célébrité que lui apporterait la découverte de l'identité de George Stark pendant le récit. Oula, non. Je vais recommencer parce que j'ai oublié un point. C'est parti. Donc, Liz nous raconte l'histoire d'un homme mesquin qui voulait l'argent et la célébrité que lui apporterait la découverte de l'identité de George Stark. Pendant le récit, Tad prépare les biberons et ressent une envie de fumer pour la première fois depuis des années. Seul l'agent de Tad, Rick Cowley, était au courant de la double identité. L'éditeur des romans de Stark, Darwin Press, n'était sincèrement pas au courant, et ils ne purent donc pas aider l'orduroïde, qui dut faire sa petite enquête en appelant directement l'agent de Stark, Rick. Celui-ci ne l'aide pas, Clawson continue donc son enquête jusqu'à dégoter une informatrice qui lui permet de faire le rapprochement définitif entre les deux écrivains. Grâce à un petit détail de notes de droit d'auteur.
Alors, ça pour la petite histoire, c'est exactement comme ça que Steve Brown, le mec qui a vraiment réussi à débunker dans la vraie vie le vrai nom, enfin la double identité littéraire de King, c'est exactement comme ça qu'il a réussi à avoir sa preuve définitive.
Ce qui du coup, vu le sort réservé à Clawson, me fait dire que quand même il y avait un peu de rancœur côté King sur le fait qu'il se soit fait
démasquer. Ouais. Il a quand même il a pas dû aimer, ouais.
Clawson se met donc en planque devant une boîte postale utilisée par Stark Beaumont pour recevoir ses chèques et le grille lors d'une réception. Muni de quelques photos prises à ce moment-là, Clawson rentre chez lui et écrit une lettre à Tad avec l'ambition de lui montrer ses propres manuscrits, voire de décrocher une bourse d'assistante de sa part. Un chantage formulé de manière un peu nébuleuse par un étudiant en droit. Cette lettre fut un soulagement pour Tad qui voulait se débarrasser de Stark depuis un moment et lui permit de le faire en toute liberté et en profitant d'une bonne dose de pub en passant. Clawson furieux renvoie une lettre, peut-être la dernière de sa vie. Tout est confus, aucune raison valable pour ces meurtres, peut-être un fan de George Stark en définitive ou quelqu'un qui se prend pour Stark lui-même. Ça reste mince pour expliquer le meurtre d'Homer qui n'a peu de rapport avec tout ça. Ils se quittent donc plutôt bons amis, Alan étant heureux de rentrer chez lui car sa femme souffre de migraines, clin d'œil que personne ne comprendra. Il leur donne quand même une dernière info, pas diffusée à la presse. Le meurtrier a laissé derrière lui une phrase « Les moineaux volent de nouveau ». Tad fait semblant de ne pas connaître cette phrase.
Alors c'est très rigolo cette phrase, hors ce bouquin, parce que dans ce bouquin c'est pas rigolo du tout. C'est que je me suis rendu compte que ça fait partie des phrases des fans de King.
Ouais.
Genre tu l'as dit, l'autre l'a compris, on se connaît, on s'est compris, on sait de quoi on parle tous les deux.
C'est le film des motards.
C'est maçonnique.
C'est le password.
C'est les fans de King.
C'est exactement ça. Et du coup, ça me fait beaucoup rire. Là, ben, j'ai découvert ça là récemment avec ce bouquin.
On fait ça pour se reconnaître entre nous.
Elle a la même puissance que le travail sans loisir en Jacques Tristecire, quoi. C'est vraiment, oui, c'est vrai, c'est un signe de reconnaissance, quoi.
Tu le cries dans une foule et tu vois qui sont tes alliés.
C'est ça.
Ouais. Tous les mecs qui font piou 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 piou.
Ou alors t'as Alain Bougrain-Dubourg qui se retourne et qui dit ah bon mais bon, ça.
Mais c'est ça. Je connaissais ça sur Doctor Who et j'ai découvert ça sur King avec cette phrase. Voilà.
Chapitre suivant. Plus tard la même nuit. Donc le soir même, Tad fait une espèce de malaise. Liz est inquiète car elle a bien compris que la phrase signifie un truc et elle le regarde avec les mêmes yeux que lors de sa précédente dépression, qui s'est suivie d'une tentative de suicide. Tad explique alors qu'avant l'opération sur sa tumeur, les migraines étaient annoncées par un bruit particulier, des moineaux qui piaillent. Il emmène ensuite Liz dans son bureau pour lui montrer la raison de son mensonge au flic, en lui montrant son manuscrit barbouillé de la même phrase. Liz remarque qu'elle est écrite avec les crayons favoris de George et qu'il a même repris une expression de celui-ci, à nouveau mentir un alibi. Tad s'énerve de ses remarques, mais admet qu'il était dans une sorte de transe. Il décide de laisser là le sujet pour se coucher et essayer de dormir. Une fois au lit, Liz fait promettre à Tad de prendre rendez-vous chez le médecin, ce qu'il accepte plutôt pour la rassurer. Cette nuit-là, il refera à nouveau le cauchemar et se souviendra d'un détail troublant au vu de ce qu'on sait. Il a toujours imaginé Stark et Machine identiques jusqu'à la couleur de leurs cheveux, blonds. Chapitre suivant. Terminusville, tôt le lundi. Terminusville, je l'ai pas expliqué avant, mais c'est un nom qui est souvent utilisé par George Stark et Alexis Machine dans les petits extraits de romans que l'on voit. Le rendez-vous est donc pris chez le médecin et Tad va passer quelques examens dont il aura le résultat en fin de semaine. On le retrouve en train de nettoyer son bureau à l'université lorsqu'une nouvelle crise l'atteint, nouvelle transe, écriture automatique et reprise de conscience au bout de 5 minutes. Il ne comprend rien et surtout pas ce qu'il a écrit. Il décide de ne pas en parler à Liz pour l'instant, jouer l'autruche, il y a que ça devrait. Il fera disparaître le papier dans l'incinérateur et nous, pauvres lecteurs, on ne sait pas ce qu'il y a inscrit dessus. Chapitre suivant, Frangine L. Myriam Cowley rentre un jour chez elle et elle trouve la porte de son appartement déverrouillée. Quelque chose cloche et paf, elle se fait surprendre par un grand blond cambrioleur qui la met quasiment KO. Le chasseur la menace de son rasoir, mais il ne veut qu'une seule chose, qu'elle passe un coup de fil. Bizarre. La scène suivante est de l'ordre de la torture psy pour la pauvre Myriam face à ce tueur aux yeux fous, jouant du rasoir sur son nez à la moindre occasion.
C'est cette scène qui m'a fait dire que je regarderai pas le film, et t'as utilisé un gif qui reprend cette scène. Et rien que ce gif, je me suis dit, je verrai pas le film.
C'est loin d'être le plus dégueu.
Et pourtant, le film est moins graphique que ce que j'aurais imaginé, à part la scène finale,
surtout
vraiment.
Surtout pour du Romero.
Pour du Romero, il était très
moi, je m'attendais
sage.
À pire.
Et la scène finale que j'ai lue ce matin m'a fait dire, je ne verrai jamais ce film.
Oui, ouais, là, pour le coup, ça a bien fait plaisir. Tad décroche le téléphone en colère, comme s'il savait à l'avance que Stark allait l'appeler. Myriam hurle à s'en faire péter les cordes vocales et le tueur coupe court à la conversation. Et à Myriam. Il utilisera son sang pour barbouiller un message et commence à faire sa liste de courses macabres pour la suite. Rick Collet, le photographe de la pierre tombale et pour finir Tad. Chapitre suivant. Pure panique. On voit à la fin du coup de téléphone du point de vue de Tad, le combiné toujours en main, après le hurlement de Myriam. Il sait que c'est Stark, il avait écrit le nom de Myriam lors de sa transe, comme s'il avait vu par les yeux du tueur, ce qu'il pense être le cas.
Oui, puis c'est là justement qu'il avait écrit un peu tout ce qu'il avait vu. Donc il y avait Frangine, il y avait elle, il y avait Katz, enfin... Dans la version que j'ai, t'as vraiment une image où c'est écrit à la main. Et c'est peut-être pour ça que j'avais fait le rapprochement plus facile.
Ah, je l'avais pas ouais, dans mon voilà. e-book.
Ah bah si t'avais l'e-book, effectivement tu l'avais pas, mais dans l'édition France.
Là, dans certains cas, on a ces images là qui sont appliquées. On a eu le cas précédemment, mais là. Ouais.
Bah là, tu vois tout de suite en fait.
Ok. Merde.
Je te fais une photo, je l'envoie sur le Discord.
Merci. Donc il explique tout ça à Liz, paniqué, et il doit prévenir Rick qu'il est le prochain sur la liste. Tad vit un moment de confusion intense en pesant toutes ses options. Et finalement il se reprend, comprend que prévenir Rick serait un piège et décide d'appeler la seule autre personne qui pourrait l'aider, Alan Pangborn. Il rappelle Myriam et malheureusement la ligne est coupée, peu d'espoir qu'elle soit encore en vie. Panique pour récupérer le numéro du bureau du shérif, puis panique pour obtenir celui d'Alan de la part de son enjoint un peu empoté. Il joue enfin Alan et lui explique la situation. Le calme de Pangborn l'aide à se concentrer pendant que Liz est en train de défaillir à côté. Elle est pas bien. Après le coup de fil, Liz se demande si le tueur est George Stark ou Alexis Machine. Tad pense qu'ils sont les mêmes. Le couple reste assis en silence, ruminant et attendant impatiemment le coup de fil d'Alan, qui les surprend quand même. Celui-ci a transmis le message avec son efficacité habituelle pour ne pas éveiller les soupçons de la police et de Rick Cobley. Au téléphone, Alan insiste pour en savoir plus sur l'individu, et Tad lui parle des empreintes ayant deviné qu'elles provenaient du cimetière. Le rapprochement avec la photo de l'article fait tilt pour Alan, qui va vouloir trouver et protéger la photographe de cette photo. Bonne intuition. Mais aussi l'auteur de l'article, Phyllis Meyer et Mike Donaldson, dont on reparlera bientôt. Tad continue à penser qu'Alan ne sera pas prêt à le croire sur l'identité du tueur tant qu'ils n'auront pas parlé face à face. Il va cependant lui donner une description sommaire de l'homme, et en fait c'est une description ultra précise jusqu'à son caractère, sa voiture, etc. Même Tad ne sait pas d'où il tient tous ces détails, et ça effraie aussi Liz. Le cadavre de Myriam est retrouvé, Rick est averti, la photographe sous protection de la police. L'auteur de l'article est lui toujours dans le vent. Alan va donner rendez-vous à Tad le lendemain matin à Ludlow. La nuit ne sera pas bonne, mais ils ont au moins une surveillance policière devant chez eux. Donc je disais, chapitre suivant, chair à saucisse. Pendant ce temps-là, Stark chasse Donaldson. Celui-ci lui donne du fil à retordre et le fait remarquer par tout l'immeuble où il essaie de l'attraper. Il finit par le passer au fil du rasoir et en voulant sortir de l'immeuble, s'aperçoit de l'arrivée de l'ascenseur. Il se planque dans un coin et voit deux flics et un civil en sortir, paniqués devant le carnage qu'il a causé. Stark réussit à passer en fufu derrière les flics qui ne l'aperçoivent que lorsque les portes de l'ascenseur se referment. Il peut filer sans être inquiété.
En fufu.
C'est exactement ça, derrière une plante, tu sais.
Ouais, dans le film,
c'est exactement la même.
On se retrouve ensuite chez Phyllis Meyer, qui profite de la protection rapprochée des meilleurs éléments de la police de New York. Extrêmement et prudent. Les deux fut-fut se font avoir par Stark qui se fait passer pour un aveugle accidenté dans le couloir de l'immeuble. 4 balles de 45 à bout portant, bim. Au même moment, Tad rêve / vit la scène pendant qu'une dizaine de moineaux bien réels sont posés sur le rebord de sa fenêtre.
Est-ce que cette scène ne vous a pas fait penser à n'importe quel projet où la communication se fait pas bien? Genre où on oublie de prévenir ceux qui sont en bas de l'échelle de toutes les informations.
Est-ce que t'as une anecdote?
Alors, pas de cette manière-là, mais étant en bas de l'échelle alimentaire du projet sur lequel je travaille, je me suis un peu connue dans ces deux personnes. Dans certains cas.
Voilà, non, je comprends tout. Ce que tu veux dire. Je vois le manque de, je vois le problème de communication flagrant.
Genre qu'il y a une des personnes qui a l'info, et qu'à partir du moment où cette personne a l'info, bah, tout va bien. Elle s'en fout de le passer à tout le monde. Voilà. Ces deux personnes n'auraient pas dû mourir de cette manière s'ils avaient eu les informations qu'on attendait. Voilà, merci.
Après, il faut imaginer que l'information, elle est remontée et elle est redescendue. Donc là, c'est pire que du téléphone arabe. Tu vois, c'est... moi, je trouve pas étonnant, en fait. Ça montre aussi la complexité de la hiérarchie chez les flics. Et en plus, il y a un truc géographique, donc... Moi, c'est pas étonnant, en fait.
Ouais, puis mine de rien, on voit que Stark, de son côté, lui, il arrive à agir assez vite. Il enchaîne à ce moment-là les meurtres.
Ouais, en plus,
il est vraiment
balèze.
Très, très rapproché,
coup,
quoi.
Ouais.
Puis c'est une très bonne idée, le coup de l'aveugle.
Oui, ouais, j'avoue.
Mais oui.
Moi, si je devais buter deux flics, c'est exactement comme ça que je m'y prendrais. Enfin, vraiment,
ne faites pas ça chez vous.
On rappelle que le meurtre, c'est illégal.
Professionnel. Oui, c'est mal.
C'est pas moral et c'est illégal. Arrêtez.
On poursuit avec Stark qui en profite pour loger une balle dans le crâne de Phyllis et repart joyeusement en sifflotant d'où il est venu. Il jette même l'arme du crime parmi les cadavres. Vraiment, il en a rien à foutre de laisser des traces. On retrouve ensuite Rick Collet, dévasté suite à l'identification du cadavre de son ex. Le téléphone sonne et c'est Stark qui vient lui mettre la pression. Rick finit par se décider à parler du coup de fil à la police qui l'emmène au commissariat, pendant que son téléphone sera placé sur écoute. 2 heures plus tard, ils rentrent chez Rick, pensant trouver leur collègue au travail, mais non, boum ! Porte piégée et vaporisation du pauvre Rick. Stark a laissé 2 messages punaisés sur les têtes des cadavres des mecs des télécoms.
Ouais, pareil, ça fait partie des scènes où moi j'ai tourné les pages les unes après les autres assez rapidement en me disant mais est-ce que celui-là il va s'en sortir et il fait partie de l'histoire? Est-ce que celui-là il va s'en sortir et il fait partie de l'histoire? Est-ce que... Puis il arrive un moment tu te dis mais qui fait partie de l'histoire?
Ouais, il y a un gros passage où ils se terminent tous en hamburger, là, c'est assez violent.
Et plus ça avance et moins il en reste.
Ah bah, ça nettoie.
Moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'arrivé à ce moment-là, tu sens le rythme qui s'accélère. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il va raconter derrière? Qu'est-ce qui va se passer en plus?
C'est pas habituel chez King, ces espèces de meurtres d'un seul coup, de monter en puissance extrêmement rapide. Où ça, voilà, il a mis du temps à installer les personnages, qui est l'agent, etc. Et là, boum, 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 boum. C'est même dans Game of Thrones, ils vont pas aussi vite, quoi.
Sauf pendant le Red Wedding.
Oui, là, d'accord.
Alors,
on passe au... pas spoilé encore.
J'ai rien spoilé.
À chaque épisode, il faut savoir, Padré, à chaque épisode, on spoil quelque chose dont
on spoil un truc.
Oui, c'est ça.
Mais on pose des pièges,
ça
on pose des pièges.
Ça a commencé il y a 2 ans avec Phèdre, qui va rester le grand drame de ce podcast.
On a spoilé Phèdre dans Cimetière.
Pendant Cimetière, ouais. Non, c'est bien, on a fait Game of Thrones.
Mais on n'a pas vraiment spoilé, là. On a juste dit qu'il y avait beaucoup de morts dans Game of Thrones. C'est pas non plus...
Oui, il y a un certain épisode. Grande surprise, ouais, en effet.
Pour Titanic, ça va ou on peut en parler?
C'est compliqué.
Il y avait de la place. Alors... sur la plaque, sur la porte.
Ah non, c'est bon, ça suffit avec cette porte. Hein.
Le trauma.
Il y avait de la place, bordel.
Livre suivant, on a dit. Stark prend les commandes. Et titre de chapitre juste après, Stark incrédule. Alors, ça m'a étonné parce que je me souviens pas que le début du livre, enfin du roman, commence par un intitulé de livre, comme on voit là. Un peu étrange. Léger retour en arrière, Alan raconte au Beaumont la boucherie du soir, sauf Rick qui n'est pas encore mort, et même Alan appelle le tueur Stark, et pourtant il ne veut pas comprendre ou croire quand Tad lui dit que c'est effectivement George Stark qui tue tout le monde. Liz avoue son soulagement lorsque le personnage est mort, qu'elle le trouvait de pire en pire et que ça aurait pu leur coûter leur mariage. Ce n'était vraiment pas un type très sympa.
La litote de l'année, ouais.
Tad explique donc à Alan tout ce qu'il a vécu depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, incluant les trans. Le flic n'y croit pas, questionne Liz sur ce qu'il s'est passé pour pouvoir se laisser une place au doute. Tad décrit ensuite George Stark comme un locataire gênant mais payant dans sa tête. Il rapporte en faisant un peu trop de bruit de temps en temps, ce qui explique qu'il reportait sa disparition depuis le premier livre. Alan se sent acculé, forcé d'admettre ses explications surnaturelles. Les Beaumont perdent un peu patience devant le faisceau de preuves qu'ils ne mentent pas alors que Alan continue à résister. Tad, ancien alcoolique, était quand même légèrement différent lorsqu'il écrivait pour Stark, plus sombre, plus agité, et une fois les romans terminés, le besoin d'exorciser le personnage était très fort, c'est-à-dire qu'il se prenait une bonne biture et il passait à autre chose.
Ne faites pas ça chez vous.
Ça exorcise pas grand-chose.
Mais c'est ça aux professionnels.
La discussion se termine avec l'arrivée des 2 techniciens pour mettre le téléphone sur écoute, et peu après son départ, Alan apprend la mort de Rick et prévient les Beaumont. Il repasse les voir et se décide à discuter avec le docteur Hume, qui a opéré Tad étant plus jeune. Chapitre suivant. George Stark au bout du fil. Le FBI passe pour un interrogatoire cordial lorsque le téléphone se met à sonner. Tad sait de qui il s'agit avant même de décrocher, comme si le téléphone achevait une liaison entre deux. George appelle pour donner des nouvelles de sa série de meurtres qu'il avoue avoir terminé pour venger Tad. Celui-ci sait qu'il ment et que sa liste comporte encore quelques noms très personnels. George en profite pour lancer les enquêteurs à l'écoute sur de fausses pistes d'hôpital psychiatrique, il n'est pas George Stark, etc. Tad n'arrive pas à réagir comme s'il était dans la tête du tueur, comprenant sa logique. Il le surprend quand même en lui demandant s'il entend les oiseaux, mais George ne comprend pas cette phrase et a l'air vrai, sincèrement surpris. Stark raccroche brusquement et Alan sonne dans la foulée. Il a l'air excité par sa visite au chirurgien mais pas encore prêt à en parler. Il les rappellera peu après pour prévenir que Stark a téléphoné d'une gare de train, Penn Station, avec une visite en prévision. Mais grâce au coup de fil, ils vont pouvoir obtenir l'empreinte vocale unique de Stark pour réussir à dédouaner complètement Beaumont. Ça va marcher. Alan reprend ses démarches pour contacter le chirurgien, lui laisse un message et il recevra aussi entre-temps les empreintes vocales quasiment parfaitement identiques à celles de Tad. La différence est que celles de Stark sont froides et calmes et celles de Tad présentent une légère différence lorsqu'il est énervé et ces deux petites différences permettent aux gens extérieurs de se maintenir dans l'illusion qu'il s'agit de deux personnes différentes.
Après, je sais pas si tu l'as écrit, mais une des théories qui est quand même intéressante, là, c'est de dire qu'il aurait préenregistré et lancé le truc sur un téléphone public.
Oui, c'est justement... En fait, il s'amuse tous les deux un peu à dérouler cette théorie avec, justement, Alan qui y a pensé et Tad qui déroule la théorie comme s'il l'avait écrit lui-même.
C'est ça.
Donc ça, Alan reste toujours sceptique sur l'identité de George. De son côté, Tad est prêt à réécrire un roman d'Alexis Machine si ça peut ne serait-ce que ralentir Stark. Le retour de Pangborn est tardif chez lui, mais il prend quand même le temps de contacter le shérif du comté où habite le chirurgien et il en réveille sa femme Annie. Celle-ci s'inquiète du temps passé chez les Beaumont et pas avec elle. Donc le fameux médecin est en vacances au parc Yellowstone en faire du camping. Alan pourra donc lui faire passer un message le lendemain, s'il est toujours vivant. Ce dont il n'est pas sûr, et nous non plus. De même, il veut avoir une explication rationnelle à tout ça. Au fond de lui, il commence à douter. Deux jours plus tard, George rappelle Tad pendant ses courses, au magasin même où il est.
Je tiens à signaler que c'est à partir de là que j'ai eu du mal à re-rentrer dans le bouquin. Voilà.
Tu l'as posé sur un petit passage à vide.
Je pense que c'est important pour nos auditeurs qu'ils le sachent.
Ok.
Donc, il s'ensuit un bras de fer entre les deux et un ultimatum pour que Tad commence à écrire un nouveau livre, mais celui-ci refuse et malgré leur similitude, George n'a pas l'air totalement maître de ses mouvements. Il ne sait rien des oiseaux et ne se souvient pas des messages laissés en lettres de sang sur les cadavres à leur sujet. Chapitre suivant. Wendy prend un gadin. Tad passe les deux jours suivants à errer dans la maison, dérangeant Liz tout le temps, mais aussi à son bureau, tenté par l'écriture du roman. Il a quand même peur qu'une fusion entre les deux personnalités puisse en résulter avec George qui finirait aux commandes de son corps. Dans un moment d'inattention, Wendy échappe à la vigilance de Tad et tombe de la troisième marche alors qu'il cherche à la rattraper sans succès. C'est d'ailleurs là la petite partie traduction où dans le roman il est écrit que Stark essaie de l'attraper, ce qui est un peu étrange. Ça vous a pas choqué? Au moment où Wendy tombe dans les escaliers, dans le roman il y a marqué que c'est Stark qui essaye de la rattraper. Pas Tad ou...
Ah ouais,
j'ai
pas du tout capté.
Ouais. Eh ben non plus, j'avais pas capté. Ça sent presque le bug, ça.
Oui.
Alors c'est sur un e-book, des fois ils ont pu se foirer, c'est possible que les corrections repassent pas aussi bien. J'avais pas le bouquin physique pour relire.
C'est pas tout à fait une coquille, ça quand même. Hein. C'est un peu comme l'histoire du 2 novembre, enfin de la date dans le fléau.
Ouais, après, c'est pas étonnant que ce soit volontairement une volonté de King, parce qu'on sent aussi que elle se rapproche ou elle retrouve des choses chez Stark qu'elle a trouvées avant chez son mari et qu'elle
aimait. Ouais, mais elle l'a pas encore vu à Stark. C'est Tad.
Non, mais elle sent quand même que les deux vont ensemble. Elle aussi, elle croit au phénomène un peu surnaturel qui a donné vie à George.
Je dirais que c'est dans la même veine, ouais. C'est peut-être pas une coquille. C'est pas.
J'en étais pas sûr. C'était vraiment. En fait, le truc, c'est que derrière, il rejoue pas sur cette partie-là du tout. Il aurait pu insister. Donc, c'est vraiment sorti de nulle part, ce Stark.
Bravo, inspecteur Poil.
Mais ça, c'est le genre de détail que tu vois quand tu dois prendre des putains de notes parce que t'essaies de comprendre la cohérence des trucs.
C'est vrai. Le soir même, les parents constatent que les deux jumeaux ont le même bleu à l'endroit où Wendy a chuté. Cela donne un début de piste à Tad sur la signification des oiseaux. Mais pour nous, pauvres lecteurs, que dalle. Chapitre suivant. Écriture automatique. Le lendemain soir, Tad a l'air de prendre une décision. Il va tenter quelque chose et pour ça, il a besoin des crayons attitrés de Stark, sa moitié de ténèbres comme il l'appelle. Et là, c'est la deuxième couille de traduction que je vois. Le bouquin s'appelle littéralement La part des ténèbres, The Dark Half. Il devait y avoir écrit The Dark Half dans le bouquin et il a écrit sa moitié de ténèbres. Je trouve ça très très con. Donc il va se mettre à jouer à un étrange jeu de questions-réponses avec lui-même pour en apprendre un peu plus sur ce qui le touche, et qui a l'air de s'amplifier vu qu'il n'a pas vu les deux premiers meurtres, contrairement au suivant. Donc ça, c'est des parties qu'on va retrouver plusieurs fois, ce jeu de questions-réponses qui est... Ça m'a rappelé un peu le côté journal de Tad, où il... Comme s'il y avait quelqu'un d'extérieur qui analysait un peu sa vie.
Ah oui,
c'est vraiment étrange ces passages-là.
Ce truc du journal, je l'ai complètement zappé de mon esprit. Parce qu'il le fait vraiment beaucoup au début, mais après, il s'en occupe plus trop, non?
Alors, le journal, ils l'ont mentionné qu'une seule fois. C'est vraiment parce que dans le résumé, je refais le parallèle à l'instant. Là, parce que le jeu de questions-réponses, ça me paraît être quand même quelque chose de très froid à faire avec soi-même.
Bah, disons que c'est vraiment l'écriture automatique, c'est-à-dire tu laisses venir les pensées, en fait. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le journal, en fait, c'est deux choses différentes.
Ok.
Moi, ça m'a rappelé Phasmophobia et la table de Ouija.
Bah, c'est un peu le même principe, hein, l'écriture automatique.
C'est vraiment une transe. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est... Ouais, effectivement.
C'est un état limite, en fait. C'est vraiment un moment où c'est pas facile à faire. Hein. Faut vraiment beaucoup de drogue.
Tu peux sans drogue, mais...
Ne faites pas ça chez vous.
Non.
Alors, sans
Arrêtez
drogue,
de
tu
tuer
peux.
Des policiers et...
donc, à la fin de ce petit échange de questions-réponses, la conclusion s'impose. Ils sont jumeaux, eux aussi, comme Wendy et William. Donc, il va se mettre ensuite au travail avec un stylo de George. Il veut tenter cette expérience d'écriture automatique, mais il est déconcentré par des moineaux. Peu d'abord sur son rebord de fenêtre, puis de plus en plus nombreux jusqu'à remplir toutes les fenêtres de la maison. Etad est pris de convulsions dans le même temps qu'il se met à écrire à la façon de Stark. Il reprendra conscience au moment de l'envol des moineaux avec le sentiment d'avoir réussi son exercice. Et là, il contemple le compte-rendu de l'assassinat de Myriam, tout son bras droit est engourdi comme s'il ne lui appartenait plus. Il a accédé aux souvenirs de George. La connexion établie a l'air vraiment forte et Tad essaye d'obtenir encore plus d'infos sur là où se trouve Stark et pour cela, il sent qu'il lui suffit de reposer le crayon sur la feuille pour qu'il perde à nouveau son bras et que l'écriture coule de lui. Donc dans les informations qu'il obtient, il voit la maison de son rêve, celle de Stark, celle où Stark serait, où il serait né la première fois qu'il a écrit à la main et non à la machine, et c'est là, probablement leur maison d'été à Castle Rock. À la question suivante, pourquoi il tient tant à écrire un nouveau livre, Stark répond par d'autres questions, et à la fin prend le contrôle du bras de Tad complètement et lui plante son crayon dans l'autre main. Oups, faudrait pas réveiller les enfants et ils lisent maintenant.
Non, franchement, ça doit faire mal sa mère. Hein.
Non, mais, oui.
Mais il était bien taillé.
Dans un king, évidemment que ça fait mal.
Mais peut-être
qu'il y a quelqu'un qui sait écrire la
pansement
douleur,
et... Ah oui, bah...
Vivement Misery, hein. Alors ça, pour le coup, la description de la douleur...
Ah, putain, je pense que Pomme, elle va tourner de l'œil. Hein.
Ouais.
Donc on a droit à une petite pause pansement et opiacé dans la salle de bain. Tad s'est bien fait piéger et n'est pas prêt de recommencer. Il confirme cependant la réalité des moineaux auprès des flics en faction devant sa maison. Ils ont vu un vol de plusieurs centaines de moineaux. Ça commence à vraiment à en faire beaucoup. Et de la même façon, il constate que les oiseaux ont chié partout sur sa maison et il y a même deux petits cadavres qui traînent autour. Et par contre, leur provenance est toujours un mystère. Et donc il file au pieu pour essayer de trouver quelques heures de sommeil un peu agité. Chapitre suivant, Stark fait un achat. Alors, il revient justement à la conscience avec des souvenirs brouillés de la nuit précédente et un bic planté dans la main. Donc c'est le type de stylo qu'affectionne plutôt Sade et non sa marque favorite. C'est la douleur qui lui a permis de couper la connexion avec Tad. Et donc on constate que George veut essayer de devenir indépendant en pouvant lui-même écrire des histoires, mais qu'il n'arrive à pas écrire grand-chose de plus que son propre nom. Que ce soit au bic, même à la machine, il ne peut pas écrire. Au prix d'un intense combat interne, il arrive enfin à écrire une phrase de lui-même, une phrase cohérente, ce qui lui permet de reprendre le contrôle et de guider la main de Tad au travers de la sienne à se poignarder. Et là, c'est le réveil réel pour les deux. Donc on était bien dans son esprit sur ce petit passage.
Oui, et pas dans Harry Potter. Hein.
Et pas dans Harry Potter. Il relâche son emprise sur Tad, il ne peut pas encore le tuer. Et malgré une perte de cohésion mentale, le corps de Stark a l'air capable de se régénérer. Un peu d'eau courante et la blessure se referme. Au cours de ses 2 semaines de vie, Stark a commencé à se putréfier sur pied. Il a recours au maquillage maintenant pour pouvoir sortir dans la rue. Et il est certain que si Stad... Il est certain que si Tad arrive à reprendre son écriture, le processus s'inversera. Il espère aussi apprendre assez vite à écrire lui-même pour ne pas avoir à motiver Tad trop longtemps. Et c'est pour ça qu'il va sortir faire des emplettes de ses stylos favoris. Et il passe sans remarquer à côté de 3 cadavres de moineaux. Donc il ne les remarque toujours pas. J'entends un bruit, j'entends une voix.
J'entends une voix aussi.
On est justement en train d'en discuter.
C'est chez Emric.
C'est l'audio. L'audiobook.
Ah putain, mais comment ça parasite?
Ben, on l'entend.
On l'entend en tout cas.
On
n'a
pas beaucoup, hein.
Pardon.
Tu vérifiais s'il dit Stark.
Ouais, j'essayais, mais c'est vraiment.
Ben, j'ai regardé moi sur les deux versions que j'ai de bouquins, effectivement, il y a écrit Stark. J'ai essayé de relire le passage pour voir. Si...
C'est quel moment?
C'est dans le chapitre qui s'appelle Wendy prend un gadin.
C'est quel passage, quelle phrase?
Bon Dieu, dit Tad entre ses dents. Il bondit sur ses pieds dans un craquement d'articulation au moment où il la vit faire un pas en avant et lâcher le barreau. Non, Wendy, pas ça. Ah non, c'est plus bas. Le fauteuil se renversa et Tad s'étala par terre. Wendy bascula en avant côté descente avec un petit couinement surpris. Son corps tourna légèrement sur lui-même dans sa chute. À genoux, Stark tendit les bras pour la rattraper, mais il lui manquait presque un mètre.
C'est une faute. C'est Tad. Ok.
Ah. Oui, ça paraît logique. Parce que du coup, j'ai essayé de voir si dans le passage, si dans le truc d'avant, genre il est dans ses pensées, il a l'impression d'être connecté, mais pas du tout.
C'était vraiment, ouais, c'est pour ça que ça me semblait plutôt être une erreur.
Oh, premier sur. On est précis dans ce podcast, on est précis.
Chapitre suivant. Délai expiré. Malgré la fin du délai fixé par Stark, Tad se rend à l'université. Liz est dévastée, mais il fait ça pour elle et les enfants, pour les garder loin du danger potentiel.
Alors du coup, est-ce que c'est dans cette université-là qui bossait le père de cimetière? J'oublie son nom.
Bah sûrement.
Ah bah oui, parce que ça doit être la même université, ouais, à Ludlow.
Est-ce qu'ils se sont croisés? Est-ce que c'était la même époque?
On demandera à Emily.
Les deux ont été écrits à peu près au même moment, les livres, donc il y a moyen.
Oui, c'est possible.
Après, il n'y a pas de lien évident de mémoire.
Cimetière.
Non, mais posons les vraies questions.
On aura la réponse dans lors de la place de l'œuvre. On va continuer.
Ouais, 83, il l'a publié, donc il se peut qu'il soit croisé.
Ah, c'est beau. Le monde est petit, moi je vous le dis, le monde est petit.
Bah, surtout dans le même.
Pourtant, le SK Universe est vaste.
Ouais, ça tourne souvent.
C'est ce qu'on veut nous faire croire. Hein.
Oui, Ludlow, Castle Rock, Bangor,
Derry,
Salem,
et Gilead. Et voilà.
Donc, malgré l'inspiration qui est là, Tad ne veut pas écrire le roman. Il préfère mettre George en colère, peut-être pour qu'il commette une erreur, et il veut renouer ce contact de manière intime. Sur un téléphone qui n'est pas sur écoute. Et surtout, plus en tenant un contact en tentant un contact psychique qui lui a déjà coûté cher sur sa main. Du côté d'Alan, à Castle Rock, c'est une semaine agitée typique de ce début d'été. Profitant d'un moment de calme, il se décide à rejoindre le chirurgien à la retraite Camper pour en apprendre plus sur la première opération de Beaumont. En parallèle, Tad arrive à l'université et essaye de se débarrasser de sa protection policière. Ça rate. Comme quoi, des donuts et un café, ça suffit pas. Croisant un de ses collègues, Rowley de Lesseps, que j'appellerai Rowley par la suite, on va pas s'embêter, Tad en profite pour se renseigner sur une quelconque signification mystique aux moineaux. Son collègue qui donne des conférences sur le folklore va se renseigner. Dans son bureau, oui.
Quand il fait son étalage de tout ce qui se passe dans sa ville, j'ai confondu Castle Rock et Derry. Parce que je me suis dit, putain, autant de trucs, pas noirs, mais violents qui se passent dans une si petite ville, c'est forcément qu'il y a une... C'est parce qu'il y a le mal qui sommeille dans la ville, quoi.
Revient, ouais.
Ah, mais les deux prennent cher, hein. En vrai, Castle Rock ou Derry, les deux se valent.
Surtout que tu vois le lien de Pangborn avec plusieurs des romans de King, donc c'est. Donc, lui aussi, ouais. Il va subir.
Mettra Max Boulbil, tu vas prendre. Enfin,
tu vas prendre.
J'y pensais, ouais.
Donc dans son bureau, il arrive enfin à se dépêtrer des flics qui ne peuvent résister à la promesse d'une petite tasse de café quand même. Et c'est justement, ça va être Rolly qui surprend Tad au lieu du téléphone, une personne cherche à le joindre sur sa ligne. Donc, il commence à devenir un peu nerveux et son collègue le sent bien. Il se rend du coup dans le bureau de Rolly. C'est bien George au téléphone avec une espèce de voix éraillée. Il comprend, Tad comprend qu'il tombe effectivement en morceaux, mais Stark réitère ses menaces pour qu'il se mette à écrire. Sinon, et clique, il raccroche. Tad continue à tisser sa toile de mensonges envers les policiers et Rolly comme s'il ne pouvait plus s'en empêcher. Cependant, Rolly a grillé tous ses mensonges mais joue le jeu jusqu'à pouvoir lui parler seul à seul des moineaux. Donc dans certaines mythologies, ce sont des psychopompes, des guides des âmes perdues à la surface des morts. À nouveau, seul dans son bureau, le besoin d'écrire devient impérieux. À l'extérieur, des hordes de moineaux sont témoins de sa lutte intérieure. Et physique, la blessure se réveillant salement pour cette occasion. La transe finit par l'emporter et il met en route la machine à écrire. Ce qui en sort, un message de George. Il laisse entendre à Tad qu'il tient Liz et les jumeaux et qu'il ne doit en parler à personne. En sortant du bureau avec les flics, il avise une cabine et décide d'appeler chez lui. C'est bien Stark qui décroche, il a tué les flics en faction et lui passe brièvement une Liz apeurée. George va leur donner rendez-vous seul à leur maison de vacances à Castle Rock. Tout le monde sera présent à la petite fête, et il a hâte d'écrire la meilleure aventure d'Alexis Machine jamais produite. Le code employé par Liz pour donner ce lieu de rendez-vous, Tante Martha, n'est pas qu'un indice sur le lieu, mais sur la volonté de Liz. Il faut que Tad tue George, et c'est Liz la pacifiste au grand cœur qui lui a demandé. On le quitte en plein dilemme sur comment font ses compagnies aux deux flics, en particulier avant qu'ils apprennent que leurs collègues chez lui sont morts. Chapitre suivant. Stark prend les commandes. On retrouve George juste avant son arrivée chez les Beaumont, engoncé dans un par-dessus, des bandages partout et en pleine putréfaction. Sous sa peau, pas de chair humaine, juste une espèce de masse informe et sombre qui pue. Avant de passer à l'action devant la maison de son frère, il est pris d'une bouffée de haine pour celui-ci. De quel droit refuse-t-il de lui donner une vie ? Redonner même une vie. Réitérant le principe de l'aveugle, Stark enlève ses bandages et s'avance, tout pelé, vers les flics, qui, surpris et horrifiés, essayent de l'aider avant de se faire salement égorger.
Alors, tu vois, ce chapitre, à partir du moment où j'ai compris qu'on allait avoir en détail ce qui vient juste d'être dit dans le chapitre d'avant, je l'ai lu tellement en diagonale, je pense que j'ai lu en... J'ai jamais lu aussi vite de ma vie.
C'était vraiment pas un chic type.
C'était vraiment pas un chic... Ah bah là en plus, il découpe bien, là. Ah, on a tous les détails bien.
Ouais. Non, mais en plus je vois l'intérêt de ce chapitre, mais c'était chiant. Enfin, il y a pas de.
Bah, tu.
Bon, on a compris qu'il est là, qu'il a les gamins et sa femme et qu'ils vont se barrer.
Ouais, mais tu vois, il a pas souvent eu jusque là des chapitres où c'est lui où c'est Stark où on est dans sa tête.
Ouais, mais c'était bien.
Bah, sa tête, c'est pas très propre dedans, ça c'est sûr.
Non, c'est pire que chez moi, mais. Non, ouais, typiquement, ce chapitre-là m'a fait chier. Parce que je vois pourquoi il l'a écrit, notamment de son rapport avec les jumeaux, je pense que tu vas en parler, montre à quel point il est proche de Tad, à quel point c'est le même, en fait. Puisque même les enfants ne font pas trop la différence entre George Stark et leur père. Non, c'était, pour moi, il était inutile, ce chapitre. Ou mal amené, ou j'en sais rien, mais...
Non, ouais. Mais je peux comprendre le côté. Enfin, ça peut
ou
être
alors,
chiant des fois de le voir deux
dire,
fois.
Ou alors, fallait pas nous dire dans le chapitre d'avant qu'il avait. Enfin, fallait pas nous donner l'info dans le chapitre d'avant, quoi.
Ouais, mais là, l'info, c'était de comment ça s'est passé. C'est plutôt le... C'est un peu une préparation paiement. On sait ce qui... on sait comment ça a fini, mais on ne sait pas ce qui s'est passé exactement.
Ouais, oui, oui, mais oui, c'est bien ça. On est d'accord.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant de voir les trucs deux fois, mais c'est deux points de vue, donc je vois pas comment on pourrait faire d'autres, en vrai.
Et puis c'est vraiment deux points de vue bien différents, pour le coup.
Ouais. Bah, ah ouais, on va pas le faire.
Tu vois,
mais
par exemple,
si tu le fais
tous
pas,
ces trucs de les jumeaux qui sont proches de Stark de la même manière qu'ils sont proches de Tad, par exemple, bah, ça aurait pu être montré dans une scène qui se passe après, au moment où ils partent dans la voiture, j'en sais rien. Mais pas exactement la scène qu'on sait déjà ce qui se passe et comment ça se passe et comment ça se finit.
Okay.
Bon, voilà.
Ok.
Mais quand j'ai lu ce chapitre, j'ai dit ça, j'en parlerai.
Merci d'être intervenu.
C'est chose faite.
Ton travail est accompli. Comme le massacre de Georges.
Ils sont d'accord.
Il se dirige donc vers la maison, ne prêtant pas attention aux moineaux, morts et vivants, qui sont à présent très proches de lui. Il surprend Lise en rentrant et elle manque de perdre la raison en voyant cette face immonde. Une courte course-poursuite et il l'attrape. Il la tripote à moitié pendant qu'elle se débat. Et il lui parle de ses plans pour Tad. Au loin, Lise détecte un son magnifique, libre d'un envol d'oiseaux. George aussi l'a entendu, mais ne comprend pas. Et petit détail, Stark l'appelle Beth. Parce que Beth en français, c'est pas ouf. Et non Lise, il trouve que ça lui va mieux.
Je crois que Urd, elle a un petit truc à nous raconter à ce sujet.
Oui, c'est en regardant le film, en fait, que je me suis rendu compte que son prénom était Elisabeth. Et que donc, Beth et Lise, bah, c'était pour Elisabeth.
Voilà. Ouais,
j'avais un peu honte, mais...
On a peut-être dû avoir son nom complet une fois au début, mais je suis même pas sûr.
Ouais, je pense
que pour un lecteur américain, c'est Liz, c'est le diminutif d'Elisabeth. En fait,
voilà,
c'est
obvious.
Ouais. Ils donnent deux surnoms possibles pour le même prénom, en fait.
Ouais, mais c'est, ouais, effectivement, c'est avec les surnoms américains, moi je capte pas tout de suite, quoi. Comme genre Bob et Robert, ça fait pas longtemps que je sais que c'est le même prénom.
Oui,
mais donc, c'est ça. Mais je pense que c'est exactement ça, ouais.
Et encore, ouais. Jack et John.
Ouais.
Jack et John, c'est compliqué, ouais.
Pourquoi donner un surnom à un nom qui a d'une syllabe?
Ils sont américains, faut pas chercher.
Et puis un diminutif qui n'a strictement rien à voir.
Ouais.
À part la première lettre. Mais du coup, moi je me suis rendu compte que Tad et Georges n'utilisaient pas le même diminutif quand toi t'as fait cette réflexion, Urd. J'avais pas fait gaffe qu'il était, enfin, qu'il y avait Lise pour l'un et Bess pour l'autre.
Ah, pourtant, il le dit texto à ce moment-là.
Oui, mais comme. Enfin, moi j'avais capté que c'était Elisabeth, enfin que c'était des diminutifs, et du coup j'avais pas fait gaffe que l'un employait l'un et que l'autre employait l'autre. Mais non, mais je l'ai lu en diagonale ce chapitre.
Et ça se voit
ce
un
bouquin,
peu. Du coup.
Ouais. cette dernière moitié de bouquin.
J'ai pas tout lu en diagonale dans cette dernière moitié de bouquin.
Alors, George la libère pour qu'elle puisse aller préparer les jumeaux au départ pour Castle Rock, le temps qu'il passe le fameux coup de fil, et qu'ensuite il en reçoive un aussi. Pendant la préparation des enfants, Lise camoufle un ciseau dans sa culotte, et là j'ai du mal à voir l'image de comment elle fait, c'est décrit, j'ai rien compris. Elle prend ensuite part à la scène que nous avons décrite juste avant entre Stark et Tad.
Alors, c'est un tout petit ciseau, c'est un ciseau de couturière,
c'est
faut voir, c'est vraiment très petit.
Ouais, je vois à quoi ça ressemble et comment elle le planque,
sur le côté, tu sais.
C'est pas très important.
Genre, imagine, t'as un slip et tu, comme les billets, c'est chez les stripteaseuses, tu sais.
Ah!
Voilà, je crois que c'est l'exemple le plus parlant que je pouvais utiliser.
Ok, je vois. Donc George prend en otage Wendy le temps de planquer les cadavres et la voiture de flic au grand désarroi de Lise. En même temps, de manière perturbante, il fait presque preuve de tendresse avec elle, adoptant des attitudes de Tad pour la rassurer. Et les jumeaux lui rendent, de manière globale, les deux jumeaux lui rendent ça tout le long. Ils ont pas peur de George. Une fois les préparatifs terminés, Stark vole la voiture de leur voisin et toute la petite famille embarque pour Castle Rock. Nouveau livre, l'apparition des psychopompes. Et chapitre Tad en cavale.
Est-ce qu'on peut en parler de ce mot?
De quoi?
Est-ce qu'on peut en parler de ce mot?
Si tu veux.
Psychopompe?
Ouais.
C'est un Pokémon, c'est ça?
Non, hein.
Non, c'est un terme qui existe vraiment.
Ouais, c'est un nom d'oiseau, ouais.
J'en doute pas.
C'est un truc.
Non, c'est pas un vrai nom d'oiseau.
Mythologie grecque, c'est.
Non, mythologique,
oui.
C'est dans quasiment toutes les...
D'ailleurs, on a l'explication dans le livre.
Ouais, au travers de l'anthropologue de l'universitaire, là. Mais c'est un terme, effectivement. C'est, voilà, c'est du pur grec, hein. Pompeo, c'est portée, et psycho, c'est l'âme. Donc, c'est un grand classique de, c'est en fait ceux qui accompagnent les morts sur le, souvent sur la transition entre la vie et la mort. C'est le rôle de Caron, vous savez, le type dans sa barque, là, qui fait traverser le Styx. C'est un psychopompe. C'est, voilà, c'est ce, le boulot des psychopompes, c'est vraiment ça. C'est faire passer de la vie à la mort.
Parce qu'avec sa rame, il fait un mouvement un peu comme les Shadok.
Ouais, exactement. Et d'ailleurs, effectivement, comme les Shadok, il n'arrête pas. Hein.
Ah ben non, là, il est pas... Il a du boulot.
Mais il y a plein d'animaux qui ont ça. Il y a les corbeaux, il y a... C'est souvent des oiseaux, d'ailleurs.
Et mais, oui, et les chevaux.
Ouais, et les
dans
chevaux,
dans les autres
ouais.
mythologies.
Bah, beaucoup dans, les, dans la mythologie viking, ouais. Mais c'est... Oui. c'est t'as aussi... Bah, ouais, t'as parfois des animaux marins aussi qui jouent ce rôle.
Oui. Et pour les fans de manga, les Shinigami sont des psychopompes. Voilà. Ouais.
Est-ce que Pomme, tu as une anecdote?
Absolument, mais je vous la raconterai plus tard. C'est pas très intéressant. Enfin, c'est pas qu'elle soit moins intéressante que ce que je dis d'habitude, c'est toujours c'est quand même un petit truc, un petit... Voilà, mais...
Un petit teasing pour un épisode hors série.
On n'a pas de grand poil.
Qu'est-ce que tu dis?
On a perdu grand poil.
Je suis là, je l'avais mis en mute le temps de boire un coup.
Ah, ok.
Donc, on retrouve Tad dans sa voiture en plein jeu de questions-réponses avec lui-même pour savoir qui a fait venir les moineaux et qui les contrôle. Celui qui sait, se répond-il. Et oui, c'est bien lui qui est à l'origine de Georges le mort-vivant et donc des moineaux psychopompes. L'occasion de fausser compagnie arrive assez rapidement, aux flics arrive assez rapidement, et il les perd après un carrefour un peu précipité. Il revient planquer sa bagnole et va jusqu'à l'abîmer pour qu'on ne la retrouve pas. Tout le long, il est épié par des masses de moineaux. Après un rapide check-up que sa radio mentale est libre, il appelle Rolly pour lui emprunter sa voiture et celui-ci accepte contre promesse de tout se faire raconter quand ce sera terminé. Il arrive dans une espèce de vieille coccinelle bien déglinguée. Il a quand même pensé à faire quelques emplettes pour Tad pour qu'il puisse passer incognito. Et c'est là qu'il lui offre un autre objet, une chanterelle. Donc le fameux apo dont on a discuté au départ, et qu'il a fallu que j'aille vérifier aussi, parce que je ne connaissais pas le terme. Je me suis dit, ça y est, le vieux beatnik lui ramène un truc psychédélique.
Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est un champignon. Tu fais, mais qu'est-ce que tu fais avec un champignon?
Pose ce champignon sur un trip.
Ben, ouais, le champignon, c'est Star mal. Qui a passé dans l'au-delà.
Ouais. Oui. Il s'est trompé, c'était pas un bon.
C'est ça.
Et pendant ce temps-là, on a quand même 10 000 moineaux qui les observent. Et Rolly les voit aussi, ce qui confirme qu'ils sont vraiment réels.
Donc, et ça doit faire flipper de ouf.
Moi, c'est
pas si vous faites...
Bonjour Hitchcock. Hein.
Ouais, je sais pas si vous êtes traumatisé des oiseaux d'Hitchcock. Moi, je le suis.
Complètement.
Et
C'est un film d'horreur et c'est personne. Enfin, oui, c'est un film d'horreur, les oiseaux.
Ah oui.
Ouais. Du coup, vous avez dû suer un peu tous les deux sur la scène finale.
Ouais. Moi, je préfère être enfermé avec
j'ai pas beaucoup d'amour pour les piafs et cette scène-là, c'est violent l'idée des oiseaux qui te regardent.
Je pense que je préfère être dans une pièce avec 10 000 serpents ou 10 000 araignées que 10 000 oiseaux, quoi.
Ah ouais. Je comprends.
Alors,
je sais pas.
Dans tous les cas, ça fait beaucoup. Hein.
Moi, je préfère les serpents, hein, mais bon.
Là, je préfère les serpents aussi.
Ah non,
enfin, les oiseaux, ça fait.
Non, oh non, oh. Oh, là, j'ai des scènes d'Indiana Jones, du coup. Oh. Ah. Là, comme ça, je préfère les oiseaux. Après, peut-être une fois dedans, je me dirais non, c'était peut-être mieux pas des oiseaux, mais.
En fait, faudrait tester. Hein. Je vois que ça.
Les oiseaux, ça griffe et avec leur bec, ça t'arrache les yeux, quoi.
Non, mais
un serpent.
Bah, tu te roules en boule.
Et puis ça te chie dessus, surtout, ça n'arrête pas de te chier dessus.
Le serpent, il veut juste te crever.
C'est pas super classe de mourir enterré dans des guano, quoi.
Donc, pour finir le chapitre, Tad envoie les moineaux vers George Stark et il se barre avec la vieille coccinelle. Chapitre 2. Appel du shérif Pangborn. Chapitre suivant, deux appels du shérif Pangborn. Pendant ce temps, Alan reçoit un coup de fil du docteur Pritchard. C'est celui-ci qui va raconter l'opération et l'absorption. Alan en sait maintenant plus que Tad sur lui-même. Un incident étrange au réveil de Tad à l'hôpital. Il me manque de la ponctuation. Donc le docteur va lui raconter un autre incident étrange qui a eu lieu au réveil de Tad. L'hôpital a littéralement été attaqué par des oiseaux, des moineaux, ce qui poursuit la connexion entre les deux hommes dans l'esprit d'Alan. Un deuxième coup de fil s'enchaîne. Fuzzy, propriétaire d'une grange pour les estivants, a vu une voiture sortir de son garage. Une Toronado noire. C'est la voiture qui était décrite depuis le départ comme étant celle de George Stark.
Pendant tout le truc, j'ai lu une Tornado noire, et là, j'ai lu Toronado noire, et je me suis dit, bon, ils ont fait une faute de frappe.
Alors, je serais curieuse de savoir la vérité, parce que dans le film, ils disent bien une Tornado, mais comme j'ai des connaissances
Dans le film, ils disent Toronado aussi.
Ah, alors j'ai mal compris, parce que j'ai compris Tornado, moi, dans le...
Parle un peu vite.
En x2, ça ressemble à Tornado, mais c'est bien Toronado.
Puisque là...
Vous voyez la gueule que ça a, une Toronado?
Pas du tout.
Oui.
Mais c'est pas noir. Du tout, moi, mes connaissances en voiture sont de moins 1000, donc...
Ah oui, ok.
C'est une vieille bagnole hein, au moment du livre, au moment de l'intrigue, et c'est une bagnole qui est... Ça ressemble un peu à une Mustang, hein. C'est vraiment une voiture avec un très très long capot coupé à l'arrière. C'est une voiture qui incarne l'espèce de rêve auto-américain, quoi. C'est vraiment la bagnole avec laquelle on fonce avec les flics au cul, quoi. C'est vraiment la bagnole...
La bagnole de Kéké.
Une Oldsmobile, la Toronado. Et c'est une très très belle bagnole. Ouais.
Ah oui, il y a Emmerich qui vient de mettre une photo. Ah bah c'est à peu près ce que j'avais en tête, tiens. Très bien.
Ouais.
Oui, c'est une seule car.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Tu sens que c'est fait pour être très rapide, très puissant, quoi. Avec les pneus, avec la bande blanche sur le côté, quoi.
Comme on vient de passer la partie où Alan apprend l'histoire du jumeau dans le cerveau, là, est-ce que maintenant on peut dire que ça ne sert à rien?
Non, toujours pas.
À quel moment on peut le dire?
Enfin, je comprends pas toujours pas pourquoi tu dis que ça ne sert à rien. Bon, après, ne serait-ce que parce que c'est bien d'avoir des petits détails gore de temps en temps.
Non, mais en fait, je trouve que ça pose l'ambiance. Ça apporte strictement rien à l'histoire. On dirait que ça va amener un truc, et en fait, ça ne sert à rien dans l'histoire. Ça ne sert à rien dans l'histoire.
Presque. Ça sert juste. Pas l'histoire du fœtus mort dans le cerveau, mais l'histoire des moineaux. C'est ça, en fait, qui va juste servir dans l'histoire, puisque Pangborn va se rendre compte qu'il y a un truc avec les oiseaux, et que Tad le voit et pas George. Et c'est...
Moi, je trouve qu'il y a un truc, ça sert à Alan Pangborn pour se raccrocher au réel en se disant qu'il y a une explication vaguement rationnelle.
C'est vrai aussi. C'est vrai que toute cette partie du livre, il va dire... Là, il y en a un petit peu trop pour moi. Laissez-moi digérer là, parce que
c'est ce que lit. Hein. Laissez-moi un bout de réalité à quoi me raccrocher, quoi.
J'étais super déçu. Je pensais que ça allait être beaucoup plus exploité. Le livre commence par ça, donc je pensais vraiment que ça allait être au centre de l'histoire.
Je pense que c'est juste pour dire que c'est pas simplement une question de double personnalité, mais bien que c'est un fantôme.
Parce qu'il a été
en quelque sorte tué dans son cerveau dès le départ,
c'est ça.
Ouais. C'est ce qui est dit après, mais ça fait partie des points qui me font dire que il a voulu tout exploiter, il a pas su faire de choix. C'est l'impression que ça me donne, en fait, qu'il avait plein d'idées pour ce bouquin et qu'à un moment donné, de choisir un chemin, il a dit rien à foutre, je mets tout.
Je crois que c'est aussi une manière de dire que Tad a déjà tué une créature vivante, en fait. Et qu'il l'a dévoré, c'est quand même ultra violent. Hein, ça devrait faire de Tad le méchant, quoi. Et je trouve que ça apporte une ambiguïté assez tôt à Beaumont. À un moment où, quand on le voit d'abord, c'est quand même le gentil écrivain dans sa petite maison un peu paumée dans son monde avec sa gamine, ses deux gamins parfaits. T'as envie de lui mettre des tartes tellement il est parfait, quoi. Et là, le côté... Il a quand même bouffé son jumeau dans l'utérus de leur mère, quoi. Donc, je trouve que ça donne un petit côté déviant
Que... Ouais, mais comme le chirurgien explique que non, qu'il l'a pas bouffé, que ça arrive assez. Alors souvent, il dit souvent dans le bouquin, je suis allé chercher sur internet, c'est pas non plus un coup sur deux. Hein,
souvent, il dit, il dit trois fois.
En fait, il explique tellement que c'est un phénomène naturel et puis qu'on peut pas dire que Tad y soit pour quelque chose que peut-être. Enfin, je sais pas.
Mais c'est ouais, mais je suis de la part du chirurgien, c'est normal. De la part du chirurgien, c'est normal qu'il ait cette réaction aussi parce que lui, pour lui, il rationalise, il sait pas ce qui va arriver derrière.
C'est ça. Et Pangborn, ça lui sert à se dire il y a une racine au départ qui est vaguement biologique, quoi. Qui n'est pas de la pure magie.
Pour moi, c'est une façon élégante d'enlever la piste psychiatrique double personnalité qui serait nulle, en fait.
Il y a peut-être un peu de ça.
Qui est évoqué un peu en gag dans le livre et dans le film. Et justement, ce serait moins intéressant si c'était ça, en fait. Enfin, de mon point de vue, en tout cas.
Ah ouais, ok.
Donc autant Fuzzy ne la connaît pas, autant un signal d'alarme s'allume immédiatement chez le shérif. La réalisation de l'identité du conducteur faite, Alan passe un coup de fil à Tad, et il est accueilli par les flics locaux qui ont constaté la mort de leur collègue, et soupçonnent Tad, ce qui paraît logique. Hein. Surtout qu'il leur est faussé compagnie en cours de route. Alan continue à déduire l'emploi du temps théorique de Tad, et conclut qu'il ne peut avoir fait le trajet aussi rapidement. Il ne veut toujours pas y croire, mais George Stark continue à prendre une existence de plus en plus réelle à ses yeux. Et du coup, il va se décider à aller vérifier la maison des Beaumont au bord du lac, tout seul. Ce que lui-même se dit, c'est une connerie.
C'est toujours une connerie, hein.
C'est toujours une connerie d'y aller seul. Hein.
D'y aller seul.
Sur une aire d'autoroute proche de chez Fuzzy, il remarque une Volvo inconnue. Personne ne sait qui l'a conduit. Alan trouve des lingettes bébés et la voiture trafiquée pour démarrer sans clé. Une boule au ventre se forme. Du coup, je me demande si la tornado est apparue dans la réalité de comme Stark ou s'il en a trouvé une ailleurs. Il se retient à nouveau d'appeler du renfort au cas où Stark serait à l'écoute et reprend la route du lac. Chapitre suivant. La venue des moineaux. Comme s'il prenait des munitions, Tad s'arrête en chemin à acheter des crayons Bérol, donc c'est sa fameuse marque préférée. On retrouve Liz et Stark en train d'ouvrir la maison d'été. Celui-ci ne tarit pas de parole sur sa future collaboration avec Tad, et le plus horrible, c'est que Liz trouve même que le livre pourrait être bien. Et soudainement, l'attitude de Stark change. Il sent l'arrivée de quelqu'un d'autre, et ce n'est pas Tad. Ce n'est pas Tad. Tu vois, j'ai hésité entre Tad et Tad, t'as assez entendu.
Ouais, ce n'est pas Tad.
Alors, c'est le moment où il a quand même une espèce d'ouïe super-humaine et qu'on l'a pas trop décrit je l'ai pas trop décrit pendant le résumé, mais Stark, c'est pas juste un être humain, il est plus rapide, il est plus fort qu'un humain normal.
Quelques pouvoirs surnaturels, ouais.
Ouais, c'est un héros de roman, quoi. Il est plus vif qu'un être humain, ouais.
Et même, il y a des passages où il est écrit que, enfin, en gros, la pièce, elle tombe toujours du bon côté pour lui.
Oui, il a beaucoup de chance. Oui.
Alors, Stark ligote les mains de Beth avec du Chatterton et le découpe avec les ciseaux qu'il arrache à sa culotte. Il savait depuis le départ qu'ils y étaient. Des ciseaux. Et c'est Pangborn que l'on retrouve à quelques centaines de mètres de la maison, accompagné
on
de.
On n'a même pas signalé que c'était un point culotte. Qu'il y a quand même un point culotte dans ce bouquin.
C'est vrai.
C'est d'ailleurs la deuxième fois.
Mais il faut pas hésiter, Urd. Il faut pas hésiter. Pas j'avoue, sur des j'avoue. Choses comme ça, c'est important.
Sur les basiques.
Quand elle planque les ciseaux.
Mais oui, mais je viens de calculer qu'on n'a pas dit point culotte à ce moment-là. C'est important. Excusez-moi.
Ok, donc Pangborn est pas loin de la maison. Il est accompagné de milliers de moineaux, silencieux, posés tout autour de la maison avec une limite vraiment physique, une ligne droite qui trace un espace autour de la maison. Donc là, je sens Julien et Padre qui commencent à suer un peu. Là. Son approche discrète est brutalement interrompue par Stark qui lui pointe un pistolet sur la tempe. Donc il l'a bien gaulé. Alan est amené dans la maison et en repassant, les moineaux semblent tous être partis. Il remarque aussi l'absence de plis et de lignes dans la main de Stark.
Ouais, on retrouve et ça, Liz et les...
Ouais, ça pour le coup, c'est juste pour le rendre un peu moins humain, je pense, mais ça n'a pas d'importance réelle.
C'est
ouais,
enfin... pour montrer qu'il se dégrade, parce que...
C'est ce non, que j'allais dire, là, enfin... il est...
Ben, si, parce qu'en fait, il a pu laisser les empreintes qu'il avait, puisqu'il avait les mêmes empreintes que Fad. Mais du coup, maintenant, il a les mains toutes lisses, ça veut dire qu'il est en train de perdre sa substance, sa réalité.
Ouais, mais ce qui est bizarre, voilà, c'est que les mains lisses sont décrites dès le premier rêve de Beaumont avec
Il parle que des lignes de la paume.
Pour moi, c'est vraiment juste
du destin.
La main,
pas, la ligne de vie, pas des doigts, ouais.
Ah, ouais, c'est sous-entendu, il a pas vécu.
Mais c'est ça.
Ah, ben voilà, putain, le pas de ligne de vie.
Si ça se trouve, il a pas de nombril. Mais l'histoire, on dit
quoi? Et on aimerait. Et ça, ça serait intéressant.
Il s'appelle Kyle.
J'ai pas le.
Kyle, une série sur un mec qui n'a pas de nombril.
Oui.
Parce qu'il a grandi dans un pod.
Ah oui,
ça me dit rien.
C'est un peu vieux.
C'était un truc sur M6.
Ouais, c'est pas jeune ça.
Ah, mais c'est pas Roswell ou un truc comme ça?
Non.
C'était
non.
Kyle XY.
Kyle XY. Ouais, ah, oui, d'accord. Ouais. Là, on est dans les années 2003.
Ouais, début année 2000, ouais.
Ouais, c'est ça. Après, c'est-à-dire, après c'est Roswell, l'époque. C'est
ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de ne pas faire le point boomer. Voilà, sachez-le.
Non, mais on a toujours des petits rêves boomer, écoute.
Oh, boomer,
où j'ai commencé à vivre seul, mais où j'avais pas encore assez d'argent pour me payer la télé, internet et tout le bordel. Donc je connais pas.
Alors, j'en étais où? Il retrouve donc Liz et les jumeaux et regrette de plus en plus sa venue en solo, tu m'étonnes. Une mort certaine l'attend au bout de cette rencontre.
Ah, d'ailleurs, il dit « Je ne reverrai jamais ma femme ».
C'est vrai que là, on se dit qu'il va crever, quoi. Parce que, comme on a l'habitude de King qui annonce toujours quand les mecs vont vraiment crever.
Bon, mais d'habitude, tu vois, c'est le narrateur qui l'annonce, c'est pas le personnage lui-même. Donc, pendant qu'Alan et Stark téléphonent à la police de Castle Rock pour les rassurer, Liz prépare le terrain et un poignard à l'intention de Stark. Elle sent qu'il faut éviter absolument la rencontre avec Tad. George lui-même a laissé entendre plusieurs fois qu'il pourrait y avoir une sorte de transfert entre les deux, pour lui donner la possibilité d'écrire par lui-même, et ça sent pas bon du tout pour Tad. Après, le coup de fil à repas rapide, et on entend la coccinelle qui arrive avec Tad. Chapitre suivant, Steel Machine. Donc, l'écrivain est accueilli par des milliers de moineaux autour de la route, et même sur la route. Alors qu'il reprend le chemin...
Ça fait bien que je place une rêve chanson.
C'est bien, c'est important.
Donc les moineaux s'écartent toujours juste assez pour laisser un passage à la voiture, ni plus ni moins, et le passage se referme derrière lui comme s'il pénétrait dans un autre monde.
Et là,
franchement,
là,
toute
là,
cette scène, moi je l'ai dans la tête et je l'adore.
Ah ouais, non, là c'est horrible.
Donc la traversée met à rude épreuve l'esprit de Tad, c'est cauchemardesque, et à quelques mètres de sa maison, les oiseaux ne sont plus là, respectant une espèce de ligne invisible. Et c'est le fameux face-à-face entre les deux hommes, si semblable et pourtant si différent. Et George ne voit toujours pas les milliers de moineaux. Après une promesse de collaboration, Tad est invité dans la maison et il y retrouve toute sa famille et Alan, qui a d'ailleurs bien changé d'opinion et qui balance sans autre fioriture les explications du docteur Pritchard sur l'origine de Stark. En gardant toujours pour lui l'épisode de l'attaque des moineaux sur l'hôpital, au cas où une espèce d'intuition de flic. La collaboration entre Tad et Stark va avoir lieu, et il en profite pour s'assurer que Liz n'a pas prévu un plan dément contre Stark. Elle finit par lâcher le morceau au sujet du couteau sous le divan, et devra aller s'en débarrasser dehors. Ce faisant, ils manquent tous d'attirer l'attention de Stark sur les moineaux à l'extérieur. Donc il y a un petit instant de tension. Les deux jumeaux ont l'air de s'entendre... Alors les deux jumeaux, pour le coup, je les ai appelés comme ça, c'est George et Tad, ont l'air de s'entendre sur leur envie de reprendre... C'est pas Wendy et William qui se sont dit subitement « Oh là là, Lyon, on va se mettre à écrire des trucs !» Donc ils ont l'air plutôt d'accord sur leur envie de reprendre l'écriture des aventures de Machine, ce qui terrifie Liz au possible. Ils se rendent tous les deux dans le bureau de Tad pour la suite. Ils vont s'installer côte à côte pour écrire ensemble, et à ce moment-là, avec chacun des enfants sur les genoux. La prémonition de Liz est au plus fort. Stark veut voler la vie de Tad, mais celui-ci continue à faire preuve de calme et de confiance dans ce qu'il est en train de faire. Comme des vases communicants, le rituel de l'écriture semble important pour ce qui va se jouer. Tout le monde est prié de sortir, sauf les deux paires de jumeaux Stark. Tout le monde est prié de sortir, sauf les deux paires de jumeaux. Stark sort qu'il y a quelque chose qui pourrait mal se passer, mais Tad continue à garder son calme et maintient le cap. Liz est toujours au comble de la flip. Liz et Alan sortent du bureau au milieu d'un monde recouvert de moineaux. Liz a peur des changements qu'elle a sentis en Tad, mais et de son amour pour la noirceur et la liberté de Stark.
Alors que moi j'aurais flippé d'avoir plein de moineaux chez moi, mais c'est un problème.
Ouais, mais non, parce que les moineaux ils vont se barrer alors que son mari il va rester.
Bon, ouais, enfin, c'est pas toi qui va nettoyer après. Hein.
Écoute, je trouve qu'ils ont une technique qui est plutôt efficace.
Oui, à la fin ils vont bien nettoyer, ouais.
Mais moi c'est à ce moment-là, quand on parle de la noirceur justement de Tad, et tout ça, que tout d'un coup dans ma tête, il y a un truc qui a fait tilt de me dire « Ah mais là, en fait, il parle plus de Bachman, il parle de la drogue et de l'alcool. »
Ah ouais ?
Voilà.
Enfin, ça fait partie de... Pour moi, ça fait partie de Stark, en fait.
Enfin, pour moi, c'est un peu un tout. J'ai pas vraiment séparé le pseudonyme de la drogue et l'alcool, en fait.
Moi, pour moi, là, c'était... Enfin, je sais pas à quel moment dans le bouquin... Ça passe de l'un à l'autre. Je sais pas si c'est très clair dès le début, mais moi, c'est vraiment sur cette scène de fin et de noirceur et tout ça, où je me suis dit, non, ouais, là, en fait, ça parle plus de son arrêt de la drogue et donc de la personne qui pouvait être sous drogue versus la personne qui n'est pas sous drogue que du réel pseudonyme, que Bachman n'était pas une bête noire pour lui, a priori, quand même.
Oui.
Pas autant que ça, en tout cas.
Ouais.
Voilà.
Non, carrément. Donc, chapitre suivant. Les moineaux volent de nouveau. Retour au bureau, Tad débute l'écriture du nouveau Alexis Machine. L'écriture semble couler de lui et il s'autorise même une cigarette et un verre à l'étonnement de George. Stark finit par prendre un crayon et se lance dans l'écriture. D'abord laborieusement, puis de plus en plus facilement. Cela affecte Tad physiquement, mais il l'encourage quand même, donc il commence à prendre des blessures là où, au contraire, Stark guérit au fur et à mesure. Celle-ci laisse à désirer de plus en plus, le mot moineau apparaissant vraiment de plus en plus souvent sans que Stark s'en rende compte ni qu'il voit les moineaux autour de la maison. Ça devient vraiment totalement incohérent au fur et à mesure de...
C'est drôle à lire. Ouais. Il y a les schtroumpfs.
Donc, Tad va profiter de la concentration de Stark sur ses écrits pour lui-même pouvoir inscrire les derniers mots, ceux qui devraient lui permettre de retrouver sa liberté. Les moineaux volent de nouveau. Et dans la foulée, il utilise la chanterelle, la peau de Rolly, comme un appôt à moineaux. Ce que c'est. La peau fonctionne et se détruit en même temps. Alors là, j'ai eu du mal à avoir l'image en tête de la peau qui a l'air d'être en verre, qui pète à la gueule en même temps qu'il appelle les moineaux. Les moineaux décollent dans un
du
bruit
coup,
rappelant
l'explosion. En fait, c'était peut-être pour de vrai un champignon.
Peut-être.
Et on n'a rien compris.
Non, c'était peut-être
un appôt sculpté dans un champignon.
Moi, je pense que c'est un appôt en verre, même si je... Je savais pas que ça existait, mais à mon avis, ça doit être quelque chose comme ça.
Ouais, c'est possible. Donc, en entendant ce bruit d'explosion, Stark commence à avoir peur, mais il ne comprend pas vraiment ce qu'est en train de faire Tad, donc, parce qu'il n'a toujours pas grillé les moineaux. Le claquement de la chanterelle a réveillé les deux jumeaux les plus jeunes, ce qui alarme Liz, qui veut aller les retrouver malgré les milliers de moineaux qui attaquent la maison et finissent par s'y engouffrer. Alan arrive à la rattraper et à la garder avec lui, hors de portée du flux de moineaux qui se précipite vers le bureau. Mais cette scène... Stark en panique se fait poignarder par Tad, qui prend les choses en main. Mais il a toujours son revolver, et maintenant un crayon pointu qu'il tourne tous les deux vers les jumeaux. En bas, Liz essaye toujours d'échapper à Alan pour retrouver ses enfants. Celui-ci arrive à récupérer une couverture pour les protéger au prix de multiples prises de bec. Il se dirige vers le bureau et arrive au bas de l'escalier. Une détonation de revolver retentit, et les jumeaux hurlent de plus belle. Dans le bureau, Tad arrive à dévier la balle destinée aux jumeaux, mais se fait planter un crayon dans l'épaule, et Stark sort son rasoir. Le bruit des oiseaux est assourdissant autour d'eux. Liz et Alan à l'extérieur se retrouvent bloqués par un mur vraiment littéral de moineaux. Ça va, Julien ?
Oh non.
Dans le bureau, Stark en position de force voit la porte s'ouvrir et le flot de moineaux se déverser sur lui. Il panique, hurle qu'il ne veut pas y retourner. Son escorte de psychopompe est pourtant là, prête à le picorer jusqu'en enfer. Tad et les jumeaux, eux, ne sont pas attaqués. La seule cible est vraiment, vraiment, vraiment George. Les oiseaux vont finir par s'envoler avec Stark lorsque celui-ci aura été suffisamment allégé. Je vous laisse imaginer. C'est une vision de cauchemar pour Tad qui assiste à la scène du picorage. Il
oh
ne
ouais,
verra
putain,
pas la...
Je veux pas voir le film.
C'est ah ben horrible non. Et drôle à la fois.
Ouais, mais ouais, franchement, c'est le seul truc vraiment dégueu du film.
C'est des effets spéciaux pratiques.
Ah oui, non, moi je parlais dans le livre, pour le coup. Ah. C'est horrible parce que la peur des oiseaux, mais c'est drôle.
Parce qu'il l'a bien mérité. Parce
qu'on dit jamais non à un bon écarissage, quoi.
il verra quand même pas la disparition finale de Stark, préférant protéger ses enfants de son corps. Alan et Liz, eux, par contre, verront la forme noire de Stark emportée à l'extérieur par les moineaux, se débattant de plus en plus fort, le flot d'oiseaux se concentrant sur lui jusqu'à ce qu'il disparaisse. Un dernier moineau resté dans le bureau, blessera Tad après la disparition, comme un avertissement à être prudent pour la suite de sa carrière et de sa vie.
Moi, je me suis dit, il lui a picoré le dernier vestige de Stark qui restait en lui.
Ah, tu crois qu'il lui restait un petit bout ?
Enfin, vu qu'il avait encore sa migraine et qu'il arrivait à ouvrir son œil intérieur, je me suis dit, en fait, le chirurgien, il a loupé le deuxième œil. Et, et là, le moineau a symboliquement a attrapé l'œil intérieur et lui a enlevé.
Mmh. Ouais, peut-être, ça marche aussi. Mmh. Épilogue. Il s'ouvre pour une fois sur un chapitre de livre de Tad et pas de George. Toute la famille et Alan se retrouvent à l'extérieur de la maison, constatant les dégâts. Elle a pris très très cher. Alan a l'air d'être le plus éprouvé, redoutant le retour de Tad et son ultime complicité avec son jumeau. Tad et Alan prennent ensuite un peu de temps pour piéger la Tornado et la transformer en incendie ambulant pour faire disparaître la maison des Beaumont, purifier et brûler les preuves du passage de Stark. The end.
Non.
Ah.
Moi, je n'ai rien compris au truc des chaussettes.
Bah, ça n'allume feu.
Ça fait une mèche.
Ouais.
Ça fait une mèche.
Il a fait une mèche pour mettre dans le réservoir.
C'est ça.
Et pour atteindre l'essence et faire brûler la bagnole.
C'est
tout. Je suis pas sûr que ça marche.
Non, ça marche pas. Mais
sur une Oldsmobile de 1966, peut-être.
Elle va pas exploser, mais pour foutre le feu à l'essence, ça suffit.
Ça fait un cocktail Molotov de la taille d'une voiture.
Donc ça fout le feu, effectivement. Je sais pas si ça explose. Ça, j'ai des doutes.
Non, explose. Alors, sauf en théorie, ça explose que si ton réservoir il a pas trop d'essence et que justement il a plus de gaz, il a des vapeurs d'essence qui sont très inflammables. Sinon, effectivement, ça brûle.
Après, la maison, elle a peut-être le gaz.
Ouais.
Alors, le gaz, il est après dans les bonbonnes.
Il en parle plusieurs fois. Il le signale plusieurs fois, les bonbonnes de gaz et tout ça.
Mais ça, c'est après, ouais.
Ah.
Non, mais même avant, à un moment donné, il dit, pendant qu'ils se font tous attaquer, justement, par les moineaux, là, qui sont en train de tout péter, il dit que, il y a un truc fugace qui lui passe en tête au sujet des bonbonnes de gaz, mais qu'il arrive pas à accrocher l'idée, puis que de toute façon, là, il a autre chose à penser. Donc, en fait, c'était une préparation paiement.
Bien vu, inspecteur Pomme.
On dirait que Steven est un écrivain qui a de la bouteille. Et qui...
Comme quoi, je l'ai lu le bouquin. On peut pas dire que, hein, voilà.
Non, mais très bien. On n'a jamais mis en doute ta capacité de lecture.
Enfin, pas devant toi, mais.
Non, ma capacité de lecture, ma capacité à lire tellement en diagonale que j'ai rien compris à l'histoire. Oui, et des fois, c'est vrai. Je peux pas dire le contraire. Mais ça, je l'ai lu ce matin en plus, donc ou cette nuit d'ailleurs, je l'ai lu cette nuit.
Ah oui, donc oui, c'était vraiment sur la fin. Et ben voilà.
3h, 3h30. Ouais.
Je vais vous abandonner, hein, j'en ai assez, là c'est bon.
Bravo Grand Poil.
Oui, salut, merci pour ce résumé.
Merci Grand Poil.
Merci.
Alors notre invité a eu un problème technique, donc du coup on l'a perdu en cours de route. Donc c'est pour ça que là vous l'entendrez pas sur la fin de l'épisode.
Promis, c'est pas moi, un mec qui cite le fléau. Je ne lui veux que du bien.
Je dis
ça pour les prochains invités.
On le réinvitera ou on essaiera qu'il nous enregistre des petits avis sur le film et tout.
Ouais, on verra.
On verra comment on va faire.
Bon alors du coup, pour ceux qui restent, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à tout ce qu'a pu dire Grand Poil ?
Non.
De manière générale.
Moi non plus, c'est bon.
Non, là.
C'est bon, toi, t'as
la solution.
J'ai quelque chose à rajouter.
Oui.
Ah, vas-y.
Le Roi Steven est un podcast de la Belle Podcut. Vous pouvez retrouver la Belle Podcut sur podcut.studio et tous les autres podcasts. Et n'hésitez pas à, si ça vous plaît, à donner un peu d'argent au Patreon, patreon.com/podcut.
Merci beaucoup, Emeric, pour ce point. Et je propose du coup de passer très vite au point suivant, c'est-à-dire l'importance du livre dans la bibliographie. Non, on l'a déjà fait, le point culotte. Ou peut-être l'importance du point culotte dans la bibliographie de l'univers de King. Émilie, c'est à toi.
Alors, pour comprendre la genèse de la part des ténèbres, il faut d'abord s'intéresser à la naissance et à la mort de Richard Bachman, le pseudonyme de King. Donc, dans la deuxième moitié des années 70, King, il a créé Richard Bachman, un pseudonyme qu'il utilise parce qu'à l'époque, on lui refusait de publier plus d'un livre par an, et donc il en a profité pour se dire qu'il testerait bien ses talents, voir si ses histoires fonctionnent uniquement grâce à son nom ou pas. Donc, il dote son pseudonyme d'une biographie et d'une photo, biographie où on apprend notamment qu'on a retiré à Bachman une tumeur au cerveau. Donc là, peut-être que Pomme, on a une explication un petit peu de ça ne sert pas tant, enfin ça sert peut-être pas le récit, le début de la part des ténèbres, mais en tout cas ça sert toutes les connexions que King fait avec son pseudonyme à lui.
Oh ouais, bah ça rajoute de l'eau à mon moulin de il avait plein d'idées, plein d'envies et il a pas su choisir, il a tout mis.
Oui, arrête, il y a que de la bière dans ton moulin.
Mais il y a toutes les bières et des fois faut choisir, il ne faut
pas. En tout cas, il tourne. Donc il publie en tout 4 livres sous le nom de Richard Bachman, Rage, Marche ou Crève, Chantier et Running Man. Donc plusieurs rumeurs rapprochent Bachman de King pendant longtemps, et lui il répond en disant qu'ils sont allés à l'école ensemble et qu'ils sont restés en contact, et que même en plus ils vivraient pas loin de chez lui.
Je fais le point, Roy Steven, allez écouter, vous pouvez aller écouter Marche ou Crève, ouais. Et Running Man, nous les avons déjà traités.
Et Rage.
Et Rage, ben oui, on a commencé. Oui, on a commencé par Rage, absolument. Je l'avoue. Ça.
Enfin, j'avais pas oublié qu'on avait fait. Ouais.
Allez.
Sauf qu'en 84, la première édition de La peau sur les os sort aux États-Unis et Steve Brown, qui est libraire à Washington, il dévore sa copie reçue en avance et il en ressort convaincu que c'est Stephen King parce que La peau sur les os est sortie sous le nom de Bachman. Donc il se rend à la bibliothèque du Congrès et il consulte les historiques de publication de Bachman. Il découvre que le dépôt de dossier du manuscrit de Rage, donc le premier Bachman qui a été publié en 77, est au nom de King. Donc il écrit à King et à sa maison d'édition pour leur dire qu'il a découvert le poteau rose. King y réfléchit quelques jours et lui accorde finalement un entretien exclusif pour le Washington Post pour pouvoir révéler la vérité. King y finira quand même par tuer Bachman d'un cancer du pseudonyme doublé d'une forme rare de schizonomie. Donc en plus il s'en amuse un petit peu. Il le tue en 85, l'année d'après. Et il publiera quand même des romans post-mortem, soi-disant des documents de travail retrouvés par sa femme. Mais King, il est quand même frustré et plein de rancœur d'avoir été découvert, et il exploite cette frustration dans La part des ténèbres. En fait, le postulat de départ, c'est, et c'est ce qu'on disait un peu en début de podcast, et si Richard Bachman refusait de mourir? S'il se matérialisait pour réclamer d'autres romans, et si Bachman avait eu plus de succès que King, et si King ne s'était jamais débarrassé de ses addictions? À ce moment, King, il a déjà en tête une histoire qu'il ferait jouer avec les doubles personnalités. En fait, il a lu dans un journal des histoires de jumeaux en partie absorbées par l'autre dans l'utérus, et il assemble tout ça pour faire une histoire qui lui semble plus cohérente, en créant un personnage qui pourrait être le fantôme d'un jumeau qui n'a pas réellement existé. D'ailleurs, ce roman, on dit qu'il avait eu envie de le sortir comme coécrit avec Bachman, et ce sera le dernier de sa longue période d'addiction à l'alcool et à la cocaïne, mais ça je vais y revenir un peu plus tard. Oui, parce que ma chronique est un peu longue. Mais c'est comme ça, je me suis fait plaisir sur celle-là.
T'étais jalouse que Grand Poil y parle autant, et toi, c'est ça.
Bah, quitte à ce que tu parles pas autant et aller jusqu'au bout, quoi, tu vois.
C'est ça.
Parce que c'est en me rendant compte à quel point il était important, je me suis dit, il y a trop de choses à dire. Tant pis, les gens, ils feront comme Emmerich, ils écouteront en x2.
Il y a trop de gens qui l'aiment.
Mais tu ne le vois pas. Donc, La part des ténèbres, Emmerich l'a dit, il publie en 89 en VO sous le nom de The Dark Half et en 90 en VF. Au-delà du genre de l'horreur, ce qui transpire dans cette histoire, c'est la passion de l'identité humaine. En fait, il établit des liens entre la passion humaine et le folklore surnaturel, et ça rejoint la discussion qu'on avait un peu tout à l'heure, parce que comme souvent chez King, le fantastique, c'est une métaphore psychologique. Le plus terrifiant de tous les monstres, c'est l'esprit. C'est un thème majeur chez King, et c'est un thème majeur dans La part des ténèbres. Et dans ce livre, on a souvent relevé que le style, il est simple mais très incarné, et que le plus important de ce qui se passe, c'est à l'intérieur des personnages. C'est l'horreur intérieure qui prime sur l'horreur extérieure, qui au final n'est qu'une métaphore, je l'ai déjà dit. Donc si c'est pas clair, je vais me répéter encore. Donc, Beaumont, il reflète profondément la personnalité de King. En fait, il y intègre des éléments très personnels comme les migraines que lui, il avait quand il était enfant et que ses grosses lunettes ne soulageaient pas. Il intègre aussi un certain dilemme moral avec les effets pervers de la célébrité. Il expérimente lui-même à ce moment, puisqu'avec ses succès à Hollywood, il est sombré dans l'alcool et dans la cocaïne. Bachman, il est aussi proche de Stark par le nom, parce qu'ils viennent tous les deux du même pseudonyme de Richard Stark, qui était le pseudonyme de Donald Westlake. En fait, King, il avait un roman de Donald Westlake qui avait écrit sous le nom de Richard Stark sur son bureau quand son éditeur l'a appelé pour avoir un nom sous lequel publier Rage. Et donc, il y avait à la radio une chanson de Bachman Turner Overdrive qui passait. Donc, il a associé les deux noms pour faire Richard Bachman. Et il prend le nom de famille de Richard Stark pour son personnage de George Stark.
Il écrit des meilleurs romans que d'anecdotes. Voilà.
C'est un peu complexe, mais en gros, c'est ce que dit Pomme, c'est il a eu plein d'idées, il a tout lié, George Stark, il l'a lié même par le nom à Richard Bachman, quoi. C'est impossible à nier,
on dirait
tous les liens qu'il a fait.
Le flic de Usual Suspect qui se rend compte de qui est Kaiser Soze, quoi.
Oui, ouais, un petit peu, ouais. Et en plus, il a vraiment poussé le vice parce que quand son pseudonyme est révélé, King, il a 39 ans. Et 39 ans, c'est l'âge de Tad Beaumont dans La Part des Ténèbres.
Mmh.
Et en plus, il a dédié son roman à Richard Bachman. Ça, Grand Paul l'a relevé en début de résumé.
King, il a été prof à la fac?
Ouais,
oui.
Okay. Il était enseignant à l'université, ouais. Université du Maine. Pendant longtemps, pendant très longtemps. Là, il a arrêté, il continue à faire des fois des conférences, et il a une chaire universitaire à son nom à l'Université du Maine.
Non, mais
il est en plus là-bas...
Tu t'imagines, t'arrives là en septembre, tu prends ton emploi du temps, « Ah, t'as qui comme prof, toi ? Oh, moi, j'ai Stephen King. » Oh non. Qui ?
En plus, là-bas, lui et Tabitha, ils sont en train de rénover leur maison gothique du Maine, là, pour en faire ils vont en faire plusieurs trucs, mais notamment accueillir les archives. Mais toutes ces archives, tous ces manuscrits et tout, ils sont stockés pour l'instant à l'Université du Maine. Donc, il a un lien très fort, en plus, avec... ça se sent, quand tu regardes des interviews ou des conférences, que c'était un prof et que c'était un très bon prof. En plus, c'est un très bon orateur, il explique très bien les choses. Et donc, sur les connexions entre Beaumont et King, ils poussent encore le vice parce qu'ils ont tous les deux la même addiction. Et parce que cette époque, King, il commence à en finir avec l'alcool et à la cocaïne. Et d'ailleurs, ça sera son dernier roman non sobre, parce qu'après celui-ci, il va finir de sevrer, et ça va être tellement difficile pour lui qu'il va rien publier du tout pendant un an.
Wow.
Sachant que là encore, à plus de 70 ans, il fait toujours au moins 3 parutions par an. Là, il sort rien pendant un an, quoi. Donc, c'est un roman qui combine sa profonde compréhension du genre fantastique et horrifique avec sa capacité à employer des thèmes émotionnels tirés de sa propre expérience. Et du coup, ce roman, c'est presque une rédemption, parce que là où King finira par s'en sortir, puisque c'est le livre de son sevrage, Tad, il gagne contre Stark, mais il perd son roman, il perd une partie de sa créativité, et il perd peut-être sa femme, parce que Liz, on sent qu'elle a des affinités avec Stark, et des doutes sur Tad. La fin est sombre, on l'a dit, on sent que Tad va peut-être sombrer.
Attends, Liz, elle a des affinités avec Stark?
Un petit peu, non?
À la fin, vite fait, parce qu'elle commence à se dire que ça pourrait être, que le bouquin pourrait être bien, mais c'est tout, hein. Pas vraiment plus.
Franchement, parce que elle est tout le temps, en fait, elle est tout le temps apeurée, énervée, en colère.
Pour moi, c'est plutôt les jumeaux qui ont des affinités avec Stark plus que Liz.
Et les jumeaux qui n'ont pas peur aussi.
D'ailleurs, Alan dit que pour lui, les jumeaux, il y aura pas de problème entre les jumeaux et Tad, mais que entre Liz et Tad, c'est une autre question. Ça, c'est tu le dis.
Oui. Ça, par contre, ça.
Mais par rapport à Stark, vraiment.
Rien par rapport à Stark. Ok, il me semblait avoir vu.
Les auditeurs, vous en pensez quoi? Dites-nous votre avis. Appelez-nous.
Je retire.
Au 8-2-1-2-1.
Donc la fin est sombre, on sent que Tad il va peut-être sombrer puisqu'en plus il annonce qu'une fois débarrassé de Stark il va boire un coup alors qu'il est sobre depuis des années, donc c'est pas bon signe.
Ouais, on aura des nouvelles
en plus. Ouais, après la clope, si c'est que la clope ça va, s'il reboit un verre c'est le début de la fin, il s'en relèvera pas quoi. Et on aura des nouvelles de lui et de sa famille dans d'autres romans de King plus tard, notamment dans Bazar et dans Sagdos, et je ne dirai rien de plus. King y parle du double maléfique dans la pure tradition gothique. En fait, le côté obscur, c'est une entité usurpatrice vampirique. Beaumont, il ne boit que quand il écrit sous le nom de Stark, donc il est sadique et démoniaque sous l'influence de l'alcool. Un peu comme Jack Torrance dans Shining, où les fantômes de l'hôtel le fournissent en alcool pour libérer ses démons intérieurs. C'est un récit sur la création, sur les idées qui sont soufflées par une deuxième personne. L'idée, c'est, et si Stark naît quand on l'enterre fictivement, c'est peut-être parce qu'il a été refoulé. Est-ce qu'il faut pas l'accepter et un peu embrasser sa part d'ombre, comme on l'a déjà dit un peu en début de résumé. Le thème du double chez King, il l'effleure aussi un peu dans l'Outsider, avec une entité qui prend l'apparence de gens pour en tuer d'autres. Et là, je ne spoile pas, hein, c'est le point de départ. Ou dans La Tour Sombre, on le voit au fur et à mesure de notre lecture et notre lecture, avec ses nombreux univers peuplés de doubles, où les personnages ont des versions d'eux différentes, dans des univers plus ou moins semblables. Là, ce que King il essaye d'explorer, c'est le pouvoir que les œuvres peuvent avoir sur leur créateur. Dans ce cas, l'auteur se retrouve face à sa création, qui est aussi une partie de lui, mais il la rejette, sauf qu'une œuvre ne quitte jamais vraiment son créateur, parce que l'auteur y met trop de lui-même dans sa création, ce serait un peu comme une amputation. Le thème de l'auteur, et notamment de l'auteur tourmenté, il est récurrent chez King, on le croise beaucoup, on l'a vu dans Shining, dans les Tommy Knockers, dans Misery, dans Salem, dans Vue imprenable sur Jardin secret, on l'a déjà cité. King, il continue à faire ce qu'il fait de mieux, il écrit uniquement sur ce qu'il connaît, et l'écrivain tourmenté, c'est un sujet qu'il a beaucoup travaillé, on dira. Et sinon, côté connexion, on y retrouve donc Alan Pangborn, qui joue un rôle important notamment dans Bazar. On a la ville de Ludlow, on l'a dit, Grand Poil l'a relevé, qu'on trouve dans Cimetière. Et on a la ville de Derry aussi qui est mentionnée, qui est la ville dans laquelle se passent notamment les événements de Sa, Insomnie, Dreamcatcher et encore plein d'autres histoires. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on laisse la parole à Julien? Non, personne? Non, vous êtes sûr? Hein, on laisse la parole à Julien.
Oui, lui, il va nous parler.
Julien,
d'un film.
Est-ce que tu vas nous faire une échelle de Carrie?
Oui.
Ah, alors vas-y, tu peux parler. À toi.
Allez.
Pour les adaptations du livre.
Bon, je vous en ai pas fait des tartines. Hein. j'ai été sobre parce que bon, je voyais que mes collègues étaient très bavards. Je me suis dit on va pas faire un épisode de 5 heures.
Alors moi j'en ai des tartines sur l'adaptation. Donc tout ce que tu vas pas dire, je vais le dire.
Ah bah tu vas le dire parce que à part vous faire une petite introduction Wikipédia et puis après vous faire le classement, je vais pas dire grand chose. Donc
moi j'ai une question avant que tu commences. C'est qui l'a vu?
Moi.
Oui.
Donc bah, Julien,
tout le monde, je crois.
Grand Poil,
moi.
Grand Poil,
ouais, moi aussi.
Ouais, bon, tout le monde sauf moi. Ok, d'accord.
Donc, La Part des Ténèbres est un film de George A. Romero qui est sorti en 1993 ou 1993. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Romero et King, ils sont potes. Donc, le mec, il va pas non plus saloper son livre. Ça, c'est plutôt bien. Prends ça, Stanley, je le dirai à chaque fois.
Et ils sont potes sur une impulsion de Warner, en plus. C'est Warner qui dit à George Romero, « Hey, il y a un mec qui vient de sortir un truc sur les vampires, tu devrais aller le rencontrer. »
Alors, George Romero, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le monsieur zombie du cinéma. Mmh. C'est lui qui a fait la saga des zombies, avec tout ce qui est la XXX des morts vivants. La nuit, le jour... le retour.
L'aube des morts vivants.
L'aube, le territoire. Non, le territoire des morts.
Ils l'ont appelé zombie en français.
Le goûter, la collation.
Et c'est quelqu'un qui, du coup, est connu. Il a aussi fait Night Riders, qui n'a rien à voir, qui est des gens qui s'affrontent, qui font des joutes médiévales sur des motos.
Et dedans, dans le public, en train de pique-niquer, on y voit Steven et Tabitha. C'est son tout premier caméo à King. C'est la toute première collaboration de Romero et King, du coup. Où là, en plus, la séquence est drôle, elle est sur YouTube, il a vraiment... c'est un beatnik, quoi. C'est vraiment très drôle. Il ressemble à rien, c'est vraiment génial.
Alors, l'histoire entre
entre Roméo et Juliette, entre Romero et King.
C'est beau ce que tu vas nous dire.
Ouais, elle ne s'est pas créée au niveau de ce film puisque il aurait dû réaliser Cimetière, mais il n'a pas été content. Donc du coup, je crois que c'est que la Warner coupe son scénario. Et je crois que même avant, il y avait un autre film sur lequel il était, une autre adaptation.
Ouais, il y en a eu deux. Il y a eu quand ils se sont rencontrés, ils ont parlé du fléau, mais ce que voulait faire Romero coûtait trop cher. Et en 83, il y a eu Charlie.
Ok.
Et après, en effet, j'ai toute la liste la longue liste des échecs.
Rendez-vous manqués.
Ouais, 9 en tout, quand même, hein. C'est pas rien. Et ouais, il y a eu Charlie avant Cimetière.
Et ce qui est important aussi de noter, c'est que c'est produit par Orion Pictures, qui est une société qui va faire faillite plus ou moins pendant le tournage du film. Ce qui fait que je crois que le film, il est tourné en 89 ou 90, mais il sort qu'en 93. Voilà. Au niveau de la distribution, moi, je ne connaissais aucun des acteurs et des actrices qu'on voit à l'écran. Donc, le héros principal...
T'as pas reconnu le shérif ?
Non.
T'as pas regardé The Walking Dead ?
Si. C'est qui dans The Walking Dead ?
C'est Merle.
J'ai pas tout vu.
Il est dans la première saison. Hein. Il est dans
c'est le frère épisodes. De Daryl.
Ah bah non.
Dans les Gardiens de la Galaxie. Dans les Gardiens de la Galaxie.
Ah oui,
ouais,
oui
lui,
là
lui
je le reconnais.
Connu,
ouais.
Quand même. Ouais.
Dans et tous bah, les films non. de James Gunn d'ailleurs.
Ah oui,
je ne l'avais pas reconnu. Ouais. Alors que j'aime beaucoup Cliffhanger. Comme quoi. Donc, mais lui, c'est pas le héros. Le héros, c'est Timothy Hutton. Donc, qui joue Tad et qui joue George. Il joue les deux. Ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de plans où les deux ne sont pas... On voit pas la face des deux personnages, on va dire, sans lunettes ou sans bandeau.
Et chapeau bas au maquillage, accessoiriste et tout ça. Enfin,
oui.
Coiffeur.
Parce que c'est...
J'ai mis du temps à comprendre que c'était le même.
Oui.
Exactement.
Quand même.
Ouais, non, non. La première fois on voit George, je capte pas du tout que c'est le même acteur.
La première fois, ouais.
On a donc Timothy Hutton, j'ai vu qu'il avait joué dans une série d'horreur, La Maison Hantée ou La Maison d'à Côté, un truc comme ça. J'ai lu aussi qu'il avait été bien casse-couille pendant le tournage. Il avait demandé deux caravanes, une pour George et une pour Tad.
Ah, c'est un méthode acteur, lui.
Ouais, c'est ça, ouais. Il y en a qui ont dit qu'il était relou et il y a d'autres qui ont dit que c'est, en effet, c'est une méthode pour apprendre, quoi. Mais il s'aimait pas trop avec Romero, en plus, tous les deux. Mm.
Et ça,
il est plutôt pas mal dans le film. C'est pas exceptionnel, bah, mais la différence entre les deux est marquée.
C'est le seul qui joue. De toute façon. bon, sachez qu'il est marié à Aurore Giscard d'Estaing, qui est la nièce éloignée de Valérie Giscard d'Estaing.
Mais non.
Comme quoi, hein, on en apprend tous les jours. Sinon, on a Amy Madigan qui joue Liz. Elle est pas très connue, si ce n'est que c'est la femme de Ed Harris.
Ah ouais.
Qui lui jouera du coup le shérif Alan Oakburn dans un autre film.
Ouais.
Et donc oui, c'est Michael Rooker qui joue le shérif. Voilà pour la fiche technique. Est-ce que vous voulez que je rentre dans le classement et après, Émilie, tu sors ton savoir ? Comment tu veux que je fasse ?
Oui, fais ton classement.
Alors, je rappelle que l'échelle des adaptations de Carrie note les films selon, en toute objectivité, sur trois critères : le respect de l'œuvre, le respect de l'ambiance et le divertissement du film. Sur le respect de l'œuvre, j'ai mis une note de 6 sur 10. Alors, donc déjà, comme j'ai dit, son pote, on sait qu'il va pas non plus pisser sur le roman. Donc, je trouve qu'on a plutôt bien le gros de l'histoire, on a les enjeux principaux, on a la plupart des scènes obligatoires. Il y a des trucs qui sont raccourcis ou mélangés, mais ça ne choque pas.
Ouais, il y a quelques personnages qui sont, bah, c'est le photographe qui se fait tuer en premier, Omer Ganache, on le connaît pas. J'aurais mis plus que 6 sur 10 quand même sur la finalité.
Ouais, moi j'aurais mis un peu plus aussi.
Oh là là.
Mais c'est ton échelle de Carrie.
Bah attends, on va pas se laisser faire non plus.
Le truc c'est que grâce au film, je me suis rendu compte quand même que le livre était long.
Oui.
Parce qu'il manque pratiquement rien et le film, il fait même pas 2 heures et il y a pratiquement tout.
C'est ça.
Donc, quand même, ça veut dire quelque chose. Et pourquoi je n'ai pas mis une note plus grande? Bon, déjà, il y a le shérif qui est absent et Liz qui sert à rien. C'est vraiment Ted contre George, hein, le film. C'est axé sur ces deux-là. Et je trouve qu'il manque 2 trucs importants du roman. Il manque tout le côté autobiographique de King. C'est-à-dire, si tu sais pas que c'est une adaptation de King, tu passes vraiment à côté de ce truc-là. Et je trouve que on t'explique jamais le lien qui unit Tad et George. Tu vois, genre à la fin, bon, ben quand il y a, je vais appeler ça ce transfert d'énergie vitale entre les deux. Dans le livre, on t'explique pourquoi, etc., qui tombe en lambeau, parce qu'il faut qu'il écrive des livres, c'est comme ça qu'il vit, etc. Là, c'est juste écrire un livre et t'as le maquillage qui fait que tu vois que Tad vieillit.
Mais c'est pas des choses qu'il pourrait expliquer, ou alors ça ferait vraiment trop d'exposition
textuelle, bah,
ou par des dialogues, quoi. ça me choque pas la façon dont ils l'ont fait dans le film.
Et bah, moi, ça me choque. J'ai trouvé que c'était, je vais aller du coup sur divertissement. J'ai mis 7 sur 10. Mais c'est un bon, c'est un moyen plus bon film, quoi. C'est une bonne adaptation. Mais je trouve que c'est un film ultra paresseux, en fait. Romero, voilà, c'est un mec qui a fait des films qui sont quand même avec une tension qui est bien plus palpable. Regardez, La Nuit, le premier, c'est La Nuit des Morts Vivants, je crois.
Ouais.
Qui est un film de 68, 58, je sais plus.
Ah, et puis tourné avec zéro moyen.
Mmh. Ouais, bah, c'est ouf, quoi.
C'est un film qui est vachement à part chez Romero parce qu'en plus il fait, non seulement il fait des films d'horreur qui sont normalement plutôt type zombie, mais en plus il y a toujours beaucoup de messages en mode critique sociale, critique du consumérisme, du militarisme, et là il y a rien de tout ça en fait.
Il a été bridé par je ne sais pas quoi qui fait qu'il n'a pas sorti, je pense, ce qu'il voulait.
Alors, un peu par Orion Pictures, parce que comme l'a dit Julien, ils étaient pas super potes et qu'il avait déjà eu des problèmes avec Orion Pictures sur Incident de parcours, mais aussi parce que c'est une époque où Romero, il cherchait un peu à montrer aussi de quoi il était capable autrement, et en plus, c'est son pote, il a envie d'adapter son pote, ils ont déjà fait Creepshow ensemble, il a déjà loupé plein d'adaptations, donc je pense qu'en plus, il tient vraiment à l'adapter, et que La Part des Ténèbres, c'est une façon pour lui d'extérioriser ses pulsions sombres. Je crois qu'il l'avait dit dans une interview, en fait, il arrive à s'identifier à l'histoire en tant que créateur.
Ok. Moi, je le trouve énormément sur la retenue, en fait, dans ce film. Et c'est pour ça que je dis paresseux, c'est sûrement pas le bon terme, mais c'est service minimum. Voilà.
Ouais, il aurait pu faire
plus, il tente quelques petites idées, genre la scène dans le couloir avec le mec qui sort de l'ascenseur, là où on nous fait comprendre qu'il est dans le noir, mais il met des couleurs un peu psychédéliques, c'est plutôt bien fait.
Ouais.
Mais à part ça, ouais, c'est vrai que le tout le reste est assez plat, assez classique.
Après, le film manque pas de rythme, pour le coup. C'est pour ça qu'en termes de, c'est un bon film, ça se regarde.
Mais il est pas mal, ouais.
Alors aussi pour respect de l'œuvre, un truc que j'ai oublié de citer, c'est la fin, qui est un petit peu abrupte, puisque le.
Il n'y a pas d'épilogue.
Ah non, il y a pas d'épilogue, non. C'est en gros les oiseaux déchiquetent George.
Il l'emmène et puis
il l'emmène et générique. J'étais en mode, attends, non, il a pas fait ça quand même.
Si, non, si. Mais il y avait plus budget pour le feu et attends, t'as vu la scène de fin là? Bon, déjà avec le squelette.
Ouais, il aurait fallu soit brûler la maison pour de vrai, soit brûler une maquette et faire une maquette. Bah, peut-être qu'ils avaient plus le temps.
Mais ouais, non.
Ça coûte des sous quand même de faire une maquette assez propre.
Mm. Attends, dans Les Enfants du Maïs, ils en font des feux, hein. Ils n'avaient pas de budget non plus.
Non, mais là, il n'y en avait plus. Parce que, je te dis, déjà, les oiseaux, la scène de fin aussi, il y a un truc dans le ciel, là, diabolique.
J'ai
ça a dû coûter cher.
T'as tout à fait raison. Parce que j'ai lu que, donc, les oiseaux, je crois qu'ils en ont, apprivoiser, c'est un bien grand mot, mais ils en ont utilisé 4500.
Ouais, 4500 à 5
c'est vrai.
Ouais. Et ils nécessitaient 45 kilos de graines et 19 litres d'eau par jour. Sans parler de la quantité de guano qu'il fallait nettoyer, quoi.
Et, ouais. Et en plus, ils en ont rajouté numériquement, et le film, quand même, date du début des années 90. Il date d'avant Jurassic Park. Donc, je trouve que, pour le coup, et ça va dans mon respect de l'ambiance où j'ai mis 8, parce que là, j'ai été généreux, je trouve que l'ambiance est bien respectée. Je trouve que le film est très bien dans son jus des années 90, mais pas, c'est pas comme les adaptations qu'on a vues sur M6, quoi. Exactement. Mm. C'est pas comme Le Fléau ou les Topic Knockers quand on le fera. Et même s'il est léger sur, on va dire, tout l'aspect gore graphique, Romero, il y a quand même la scène de l'opération avec l'œil dans le cerveau qui est plutôt drôle. Ainsi que...
Pour une intro, ça te pose... Justement, c'est presque dommage parce que cette intro te pose le côté tu... Oh putain, ils vont aller jusqu'au bout et au final, pas plus.
Oui, il y a 3 scènes qui sont vraiment dégueux, quoi. Alors que tu commences comme ça et tu t'attends à plus sale, quoi.
J'ai été déçu, moi, par la scène de l'opération. Je pensais qu'il serait allé vraiment dans le réalisme... Enfin, dans plus de réalisme sur l'œil. Que ça aurait été vraiment un œil et pas cette espèce de truc un peu voilé.
Oh, c'est quand même bien dégueulasse.
Oui, hein. C'est bien dégueulasse. Mais je pensais, tu vois, dans le bouquin, c'est dit vraiment un œil qui le regarde, qui s'ouvre et qui le regarde. Mmh. Et là, tu vois, l'œil, on pourrait croire qu'il est aveugle, puisqu'il a une espèce de voile dessus. Je pensais qu'il serait parti sur un truc un peu plus réaliste, peut-être qu'il voulait faire un truc plus effrayant.
Ok, ouais, voilà. Peut-être. La scène de l'affrontement final, elle est cool, clairement. Et effectivement, la scène du couloir avec les jeux de lumière, elle est cool. Et dernier point, je trouve qu'il ferait un très bon homme en noir.
Ouais. George Stark, ouais. Il fait un bon Walking Dude aussi.
Un bon Randall Flagg, ouais. Ouf.
Ce qui fait que, avec la note de 21 sur 30, ce qui est pas mal, il se retrouve à la 5e place, c'est-à-dire en dessous de Carrie la Vengeance et l'épisode 2 de la saison 5 de Glee, qui sont juste au-dessus, et au-dessus de Salem de 1979. Voilà. Il est plutôt bien placé. Est-ce que Minnie, t'as d'autres trucs à rajouter sur le film ?
Non, t'as dit pas mal de choses. Moi, je voulais juste revenir sur la collaboration Romero et King, quand même, parce qu'il y a... je vais pas faire la liste des 9 adaptations qui ont jamais été menées à bout, mais La Part des Ténèbres, c'est pas leur premier projet ensemble, parce qu'en premier, on a quand même Creepshow, qui est un film d'anthologie à sketch, d'horreur un peu humoristique, qui ont marqué parce qu'ils sont dans la pure tradition des contes de la crypte et tout, et aujourd'hui il y a une série Creepshow qui reprend exactement les codes du film Creepshow, et qui est très très appréciée des fans en plus. Et entre Creepshow et La Part des Ténèbres, il y a eu d'autres collaborations indirectes entre King et Romero. En fait, en 84, Romero, il a créé et produit la série Les Histoires de l'Autre Monde, dont un épisode est une adaptation de Machine Divine à traitement de texte de King. En 87, pour Creepshow 2, Romero, il écrit le scénario de l'adaptation de la nouvelle Le Radeau de King. Toujours pour la série Histoire de l'autre monde, Romero, il réalise l'épisode Désolé, bon numéro, dont le script original est de King. Et Romero, il a adapté la nouvelle Un chat d'enfer pour le grand écran dans le film Histoire de l'autre monde, qui est considéré comme un Creepshow 3. Voilà. Et puis parce qu'ils sont copains, King, il a dédié en 2006 son roman cellulaire à Romero parce que c'est son roman qui se rapproche le plus d'une histoire de zombies. Et en 2007, il fait un caméo vocal dans le film Chronique des morts-vivants de son copain Romero. Donc voilà, ouais, ils ont. En fait, c'est Warner a déclenché la rencontre juste pour se faire de l'argent. Et derrière, il y a quand même deux gars qui sont vraiment beaucoup aimés humainement et qui vont essayer de collaborer autant que faire se peut ensemble, sachant que Romero, c'est assez compliqué de collaborer avec lui parce qu'il, enfin surtout quand on est producteur, parce qu'il fait comme il a envie de faire, quoi. C'est ce qui explique la longue liste d'échecs d'adaptation de King, mais même la longue liste d'échecs tout court dans la biographie de Romero, parce qu'il veut faire avec le budget qu'il veut et comme il veut. Et d'ailleurs, t'as parlé de la fin. Et la fin, ils l'ont changé. En fait, ils voulaient le faire emporter par les oiseaux, mais Orion Pictures, ils trouvaient que c'était trop trop biblique, donc il fallait qu'il soit déchiqueté avant, donc ils l'ont déchiqueté.
Ok.
Voilà.
Bon, ça choque pas.
Non, ça choque pas, c'est assez proche du roman en plus. Donc,
tu vois, dans ce que tu dis, adapter le fléau, Romero, ouais. Adapter cimetière, ouais. Par contre, dans les livres là que j'ai, je vais le citer d'ailleurs, d'après une histoire de Stephen King, anthologie de Stephen King à l'écran, de Mathieu Rostac et François Coe, il est dit qu'il aurait pu adapter Marche ou crève.
Oui, là, en 87,
non.
Ouais.
Mais non, pas Romero.
Alors même si c'est pas forcément un truc gore, c'est en plein dans ce qu'il fait d'habitude justement sur la critique sociale. Là, il aurait été à fond dans son élément.
Non, mais il nous aurait mis des zombies.
Non, je pense pas. Il est capable d'un peu de retenue des fois.
C'est, il y a pire parce que le dernier. Je vais faire la liste, allez, je la fais. Il y a le premier projet, c'était le Fléau. Après, c'était Charlie. Cimetière, il a travaillé dessus en 83 et en 86. L'Acadiaque de Dolan en 87. Poste de nuit en 87 aussi. Marche ou crève, il a travaillé dessus en 87 et en 88. Ça, à la fin des années 80. Mais les studios, ils ont pas voulu qu'il fasse aussi long et aussi gore que ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont filé le bébé
ouais,
à Tommy Lee Wallace.
Cool.
Ouais. Ron Master, entre 98 et 2006, il a travaillé plusieurs fois dessus. Et La Petite Fille qui aimait Tom Gordon, entre 99 et 2004. Mais ça, a priori, la veuve de Romero, elle essaye de récupérer le projet. Mais s'il y a un truc où tu vois pas Romero, c'est La Petite Fille qui aimait Tom Gordon, quoi. Plus que Marche ou crève pour moi.
Ouais, là, c'est plus étrange.
Tu l'as peut-être pas lu, mais...
Je l'ai pas lu.
Ouais. Oui, là, je vois moins. En effet, Marche ou crève, ouais, le côté critique sociale... Ok, mais...
Ok, voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Ils lui ont mis un taux de fidélité de 90%. Sympa.
Et le film sort en édition collector chez ESC Éditions au moment où on sort cet épisode, le 26 mai.
Est-ce qu'on retrouvera un membre de ce podcast dedans?
Alors oui, d'ailleurs, il se peut que ce soit un peu redondant si vous écoutez ce podcast. Et notamment ma chronique et tout ce que je viens de dire sur l'adaptation.
D'ailleurs, si vous pouvez, auditeurice, nous donner le jeu des 7 différences entre la chronique d'Emily dans le DVD et dans ce podcast, vous pourrez gagner un porte-clés.
Oui, en plus, alors ça tombe très bien parce que pour être totalement transparente avec nos auditeurs, vu que je sors d'un déménagement, j'ai pas eu à bosser parce que j'ai repris exactement ce que j'avais préparé pour le tournage du DVD. C'est très bien tombé.
C'est-à-dire qu'Emily, elle relit pas les livres, elle ne réécrit pas ses chroniques. Hein.
Tu sais, je fais comme les profs de maths qui ressortent les mêmes copies, les mêmes interros tous les ans aux élèves. C'est fini.
J'ai eu un prof qui faisait une rotation sur 2-3 ans. Il avait quand même fait un truc, pas qu'on s'en rende compte.
Une année sur 3, quoi, ouais.
Sauf pour les gens qui triplent.
Mm. Ouais. Bien. Est-ce que tu as fini, Julien?
Oui.
Très bien. Alors, Urde,
oui.
Ça va être à toi.
Oui,
t'es
prête? Je suis prête.
Fais-nous rêver.
Je vous l'avoue, il m'a été difficile de trouver une histoire à vous raconter, une théorie à inventer pour cette œuvre. J'ai puisé dans mes ressources, j'ai lu le boulot de mes camarades, j'ai plongé dans mes grimoires et même pris des notes illisibles de mon écriture du lundi. J'ai finalement décidé que je prendrais le parti des moineaux, représenté par le roi moineau. Alors, spoiler alert, ça va aller dans beaucoup de sens de ce qu'on a déjà dit. Lorsque Tad et son frère jumeau étaient encore des fœtus, comme on le sait, Tad engloba son... Je recommence. Lorsque Tad et son frère jumeau étaient encore des fœtus, on le sait, Tad engloba son doublon. Mais Stark, appelons-le ainsi pour se simplifier la vie, laissa une partie de lui en son frère. Et c'est alors que le roi moineau décida de veiller sur lui, comme le ferait un guide, un ange gardien ou autre animal totem. Comme lui, Stark était une créature soi-disant du diable, une erreur qui n'aurait pas dû continuer à vivre et être punie. Quand Tad puisait dans ses ressources d'écrivain, c'est l'esprit de Stark qui le nourrissait. Dès le début, le vrai écrivain est bel et bien Stark, car, il faut l'avouer, ne plus avoir de corps aide à imaginer des histoires. Surtout celles où l'on est très fort et qu'on s'en fiche de se buter le foie et les poumons à faire le pompier bourré. Et le roi Moineau ne voulait pas que Tad l'oublie, et tentait de rappeler à chaque fois l'existence du vrai artiste dans son esprit. Lorsque Tad entendait les moineaux, c'était son vrai talent d'écrivain qui s'exprimait. Alors, quand les médecins enlevèrent la « tumeur » de son esprit, le roi Moineau essaya de sauver Stark pour qu'il ne meure pas. Et c'est ce qu'il se passa. Son esprit, à défaut de ses organes, resta dans celui de Tad. Mais ce dernier lutta des années durant pour ne pas l'entendre, jusqu'au jour où le syndrome de la page blanche libéra enfin la créativité de Stark. Il pouvait vivre à travers les livres de Tad, à défaut de vivre tout court. Et ce n'est pas l'enterrement factice qui le tua, au contraire, il se sentit d'autant plus fort. Alors le roi Moineau lui proposa un vrai corps pour écrire ses propres histoires. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Tad, au lieu d'accepter la présence de Stark et de lui passer le flambeau qui lui revenait de droit, ne se laissa pas faire. On ne peut pas lui en vouloir après tout. Stark était fidèle à sa création préférée, le terrible Alexis Machine. Le roi Moineau tenta de persuader Tad d'accepter de relayer son talent, mais rien n'y fit. Stark ne pouvait garder sa forme empruntée au roi Moineau sans pouvoir écrire, sans se nourrir des phrases et des pages. Alors le roi Moineau décida qu'il était temps pour Stark de partir et lui reprit son corps à coups de bec et de griffes de son armée. Ils le dépecèrent pour emmener son esprit vers un au-delà, lui offrir une vraie mort. Car après tout, c'est le boulot d'un gardien de guider son disciple pour cette étape. Ce que je ne sais pas, c'est où Stark a été emmené. Dans l'esprit de Tad, il s'agissait d'un enfer qu'une pourriture telle que lui méritait. Mais j'aime penser que le roi Moineau l'a emmené ailleurs, où il pourrait enfin se reposer et ne plus devoir lutter. D'ailleurs, tant que les histoires d'Alexis Machine seront lues, Stark ne sera pas vraiment mort, il continuera d'exister dans l'esprit des gens. Avec ou sans Tad, qui aura peut-être fait une très grande erreur. Et c'est bien là que l'histoire et la réflexion nous emmènent. Faut-il accepter sa part d'ombre ou la renier? Si vous ne connaissez pas la réponse, et moi non plus d'ailleurs, peut-être que le roi Moineau viendra à vous un jour pour vous y aider. Après tout, c'est son job et on peut supposer qu'il a une tonne de taf. Bisous.
Je pense qu'il a beaucoup de boulot, ouais.
Est-ce que le roi Moineau a plus de boulot que le père Noël?
Oui.
Gloire au
roi. Je crois qu'il y a plus de moineaux que d'elfes.
Je vous propose qu'on enchaîne du coup, qu'on passe aux questions des auditeurs. Alors, les questions des auditeurs. Et on commence par le Discord de Podcut. On vous a dit que vous pouviez nous rejoindre sur le Discord de Podcut.
Mais où trouve-t-on le lien du Discord de Podcut?
Alors, on trouve le lien à plusieurs endroits, sais-tu? On le trouve dans le détail de l'épisode, il suffit d'aller voir, et on le trouve aussi dans les bios de nos trois réseaux sociaux. Donc, Facebook, Twitter et Instagram. Facile, il suffit de cliquer sur le lien.
Ou sur podcut.studio.
On peut aussi le trouver sur podcut.studio, qui est le site de notre cher label Podcut. Alors, les questions. Et ça commence par Cypher S qui dit... Alors, on va essayer de répondre rapidement parce que ça fait déjà 3 heures qu'on enregistre. Cypher qui nous demande, question pub, quels sont vos podcasts préférés à l'exception du roi?
Ouais, en ce moment, je suis sur... Alors après, ça dépend de préféré. Il y en a que je loupe jamais, mais parce qu'ils m'apportent des trucs pro, genre le Super Daily, qui est un podcast sur la communication et les réseaux sociaux. Mais en ce moment, j'attends toujours avec impatience la nouvelle sortie de Amy, qui a un podcast de Slate sur Friends. Ça sort tous les vendredis. C'est mon podcast du moment.
Une personne qui a vu, une personne qui n'a pas vu, c'est ça?
Ouais, exactement. Ouais, j'en écoute plein, mais c'est une amie qui fait découvrir à sa meilleure amie Friends. Et il y en a une qui connaît par cœur et l'autre que j'ai jamais vu. Et c'est vraiment cool, parce que j'adore la série.
Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, à proposer, à...
Eh ben moi, sachez que je n'écoute quasiment pas de podcast. Voilà, ça c'est
très
fait.
Bon.
J'aime beaucoup Planet Money de NPR, un podcast en anglais sur l'économie.
Très bon. très 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 instructif.
Mmh. Avec un
j'aime
anglais
bien la cassette du même
pas...
aussi.
Avec un anglais pas très compliqué à comprendre.
C'est par contre, c'est blindé de pub.
Ouais, bon, bah ça.
Ouais, mais c'est vachement plus blindé que d'autres. Il y en a deux pubs en plein milieu et souvent une pub au début et une à la fin.
Bah, tu crois que c'est facile de faire venir des économistes ? Ils coûtent cher. Ils connaissent le métier. Ils connaissent la valeur de l'argent.
C'est la radio nationale publique américaine. Ils pourraient faire comme France Info et ne pas mettre de pub.
Alors, est-ce que quelqu'un d'autre...
Oui, moi je rajouterais un truc qui n'est pas forcément purement un podcast et qui peut se consommer sur Twitch en direct ou en replay. C'est Game of Roll, un actuel play d'un univers médiéval fantastique par Fibre Tigre de qualité. Ouais.
Moi, j'en aurais plein, mais je vais en choisir que deux. Alors d'abord, il y a un podcast de Slate qui s'appelle Le Système, qui parle de la prison, et qui interview une personne qui est en prison, qui interview une personne qui travaille en prison, une surveillante, et une éducatrice qui accompagne les gens à la sortie de la prison, et aussi la sœur du prisonnier. Donc c'est un peu pour voir ces différentes personnes... qui apportent leur témoignage et leur avis sur la prison en France à l'heure actuelle. Et puis, c'est un peu de l'autopromo, mais la dernière fiction de Podcut Fiction. Alors, au moment où sort cet épisode, c'est la dernière fiction en date, je crois. Bref, celle qui est sortie tout au long du mois d'avril, qui s'appelle Quelque chose, qui est en 4 épisodes. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vous la recommande.
Tu dis ça parce que t'es dedans.
Eh ben, même pas. J'y serai pas, ben je l'aimerai pareil.
Alors moi, je suis pas dedans, et en plus, je l'aime beaucoup, et pourtant,
moi,
je suis pas très fiction.
J'y suis genre 3 secondes au début de chaque épisode. C'est vraiment pas... On peut pas dire... Toi aussi, tu y es d'ailleurs.
Ouais, mais toi, t'as pris le plus gros cachet.
Pardon, t'as été payé ? Faut que je parle...
Faut que t'écoutes le podcast sur l'économie, oui.
Oui, je crois que... Voilà. Grand poil ? Tu veux dire quelque chose?
Pour sortir les grands noms classiques, je recommanderais une fiction audio en anglais qui s'appelle The Amelia Podcast. C'est vraiment très très drôle, c'est pas trop compliqué à comprendre. C'est sur une agence qui se charge de faire disparaître, de simuler la mort des gens. C'est vraiment à mourir de rire.
Ok, allez, question suivante. Juju Pink, qui vient juste d'arriver sur le Discord de Podcut d'ailleurs.
Vous saviez qu'on a un Discord ?
Alors, elle nous demande « Monsieur King a tendance à martyriser ses personnages écrivains. Misery, Shining, La Part des Ténèbres, Histoire de Lysée, Sagdos, etc. Est-ce que vous l'aviez remarqué ?» C'est une question facile, ça se répond par oui ou par non, je pense.
Oui,
bah oui, c'est l'écrivain tourmenté dont on a parlé déjà, ouais, chez King.
Ouais, okay. Ouais.
Donc, c'est Juju, tu avais bien remarqué toi aussi.
Bien vu, bien vu.
Alors, sur Twitter, on a Kerr de Fille qui demande « Quelle est la meilleure chose à grignoter devant une adaptation d'un livre de Stephen King ?»
Des bébés carottes.
T'es sûr de garder, ça dépend de ce que tu lis.
Des M&M's.
Ouais, les M&M's, c'est safe.
Moi, je dirais des Abba.
Grignoter. Un petit sachet d'Abba, quoi.
Il y a
normal.
Un petit...
Le problème des M&M's,
des rognons, un petit doigt de beau.
Ça peut tâcher les doigts et ça fait des traces sur le papier.
Mais tu prends une mini fourchette.
Non, mais c'est une adaptation, d'une adaptation.
Ah, devant une adaptation.
Oui.
Bah, des chips. T'entends ?
Non, mais non, non.
C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips.
De la Wish.
Bah oui, c'est tout ce que ça me fait, ouais.
Bah non, on gagnote de la Wish, alors, de la Wish Lorraine.
Ça fait moins de bruit, la Wish.
Donc, Gvo Théan, Magic Corui. Sur une échelle littéraire de Ferrand à Pratchett, donc ça c'est sur Twitter toujours, où placez-vous Stephen King ?
Bah, au-dessus.
Alors déjà Ferrand, c'est qui ?
Ouais, je ne sais pas qui est Ferrand.
Ferrand.
J'ai cherché, j'ai vu un écrivain français que je ne connais pas, je n'ai aucune idée de ce qu'il a fait. Donc je pense que c'est le bas de l'échelle.
Oui, je suppose. Après, je suppose que tout le monde ne serait pas d'accord sur cette échelle, mais je ne sais pas le placer.
Olivier Ferrand, le ministre de la
fantaisie.
Bah après, au niveau littéraire, King, on peut pas dire qu'il est méga haut, mais c'est pas là sa force. Non. Contrairement à Pratchett.
Ça dépend
et...
des bouquins.
Ah non, mais Pratchett, c'est pas non plus de la grande littérature.
J'ai jamais
je pense
lu
que c'est
Pratchett.
Plutôt en termes de rapport à, enfin, que, qu'on, de rapport qu'on a chacun. Pour le coup, King et Pratchett, c'est des auteurs que moi je mettrais au même niveau. Ils ont des points communs. Ils ont pris des routes différentes pour raconter des histoires un peu identiques. Dans le cas de Pratchett, en fait, il dénonce souvent des situations absurdes, mais en poussant la situation absurde au maximum, là où King va se servir de l'horreur pour faire passer ses messages.
Mmh, je suis assez d'accord.
Comment il s'appelle ? Pratchett a été décrit comme, en fait, un homme en colère, ce qu'on ne ressent pas forcément dans ses bouquins, là où King serait plutôt un homme réaliste. Il dénonce au travers du gore, mais quelque chose de plus réaliste que ce qu'a voulu... Que ce que voulait exprimer Pratchett.
Padre Pio tout à l'heure nous disait qu'ils avaient beaucoup de points communs alors qu'au final ils ont jamais collaboré. Qu'a priori ils se connaissaient même peut-être pas.
Ouais, c'est possible, c'est bien possible.
Bon, donc on sait pas trop le classer. Au-dessus. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire.
Pareil, au même niveau.
Alors, hello à l'équipe. Donc ça, c'est Cyril de Rouge. Hello à l'équipe. Parmi toutes les histoires se déroulant à Castle Rock, laquelle est votre préférée ? Bon enregistrement. Oh. Merci, Cyril. Je sais pas, on en a vu d'autres, nous ?
Pas encore.
À Castle Rock ?
Pas, pas ouais. beaucoup,
Mais j'aime
hein.
beaucoup Bazar, moi.
Ouais.
Élévation, on a fait Élévation, quand même.
Ah, on a vu... Élévation, c'est à Castle Rock ?
Je sais plus si c'est à Castle Rock ou si ça mentionne Castle Rock.
Non, c'est à Castle Rock, parce que la course est courte. Hein. Ok.
Eh ben, alors Élévation, sans hésitation. Mais j'en ai lu que deux.
Non,
donc,
clairement
pas
Élévation, faut pas déconner. et non, celui-là, c'est pas le meilleur.
Mm. Ok.
Non, moi, je reste sur Bazar.
Et puis, on a Lilou82, Ancient Mariner, qui nous a envoyé des messages sur Twitter pour nous dire des choses gentilles. Et merci beaucoup. Facebook. On accélère, désolé, on fait un peu vite, mais on va aller dormir, il est demain. Alors, sur Facebook, on a Émilie Châteauneau qui... Oh putain, j'ai pas copié la question en entier.
En gros, elle dit que ça l'a marqué au point de continuer à lire du King.
C'est tout ?
Non,
c'est tout. Il n'y a pas de question ?
Non, il n'y a pas de question.
Donc, il manque la suite. Bon, très bien.
Ok. Alors, elle, on va lui dire merci.
Bah, du coup, on peut faire la question maintenant, mais est-ce que c'est un bon King pour commencer ?
Bah, c'est un peu ce que demande Hugo. Il dit que c'est le seul qu'il a laissé tomber avant la fin avec Joyland. Et est-ce qu'il a eu tort ? Moi, je préfère largement La Part des Ténèbres à Joyland, mais je l'aurais pas poussé jusqu'au bout si j'avais pas été obligé.
Non, moi, je pense que c'est un King à lire en ayant lu quelques King de styles différents. Pour avoir une petite idée de King en tant qu'écrivain, pour pouvoir avoir un petit peu le sous-texte de La Part des Ténèbres.
Je pense aussi c'est un King qui est important qui est plus intéressant à lire quand tu connais un peu la vie de King.
Exactement.
Je suis d'accord.
Écoutez ma chronique et allez lire La Part des Ténèbres. On va faire ça dans ça. Je vais peut-être signer des préfaces maintenant. Je vais appeler le livre de poche. Je vais leur dire j'ai préfacé.
Non mais même. Enfin, pour comprendre le truc, est-ce que vaut mieux pas avoir lu un King et un Bachman avant de lire celui-là ?
Oui, si carrément.
Oui. Ouais, carrément.
C'est pas forcément, mais oui.
Pour moi, faut pas commencer par celui-là. En tout cas.
Au minimum.
Non, on va pas commencer.
Pierre Ferré qui demande « Bonjour à toute l'équipe, bien bonjour à toi. Vu que La Part des Ténèbres parle de double littéraire, quel est votre Bachman préféré ?» Et interdiction de répondre « Bachman et Robin ».
Plus sain pour cette blague. D'ailleurs,
non, moi, j'en ai lu que deux. Ah non, j'en ai lu trois. Oh.
Il me semble que Emily a dit « Batman » à un moment de sa chronique.
Oui.
Et
oui,
j'ai entendu Grand Poil rire.
Oui, où elle a dit un Batman.
C'est possible, j'ai entendu un Batman aussi, oui, que ça m'a...
Je confie. Ouais, en plus, j'avais peur sur les Romero, j'ai peut-être lâché un Romeo aussi.
Un gros Romero ? Oh, mais donc.
Moi, c'est Marche ou Crève,
c'est
mais j'ai... Ouais, mais on l'a pas encore lu. Donc moi, c'est sur Running Man, Marche ou Crève et Rage, c'est Marche ou Crève, mais ça se joue quand même à pas beaucoup, j'ai beaucoup aimé les trois.
Moi, c'est Blaze en post-mortem, qui est le dernier, d'ailleurs, de Richard Bachman.
J'ai toujours pas lu Blaze.
Ah là là.
Vivement qu'on le fasse.
Ah ouais, j'ai trop hâte.
Eh bah, moi, c'est La peau sur les os, de ceux que j'ai lus, je pense.
Ok. Ok.
Je sais pas, j'hésite entre Rage et Marche ou Crève. On n'est pas les
mêmes. Bah, Marche ou Rage.
Ou Rage ou Crève
de Rage.
Marche ou Crève de Rage.
Sur Instagram, il y a Kay Morrigan qui est présente à toutes les questions des auditeurs. Je pense que on la retrouve dans tous les épisodes. Donc il dit bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien, contente d'écouter cet épisode. Je trouve La part des ténèbres sous-cotée. Pour avoir déjà fait un avis dessus, j'ai constaté qu'il n'était pas hyper connu malgré sa qualité. Enfin bref, désolé de me disperser, ça devient long. Voici ma question. Si Stephen King avait été démasqué,
N'avait pas été démasqué.
Et oui, parce que du coup, sinon ça veut rien dire. Si Stephen King n'avait pas été démasqué, quel livre aurait-il publié sous son pseudonyme d'après vous? Prenez bien soin de vous et bonne continuation, vous assurez.
Ah déjà, donc,
un qu'il a sorti. Oui.
Je trouve qu'il a raison de dire que La part des ténèbres est... il n'est pas sous côté, mais il est inconnu.
Ouais.
J'ai l'impression que.
Oui, je suis assez d'accord. Oui.
Pour un truc adapté par Romero, ouais. Ouais, ouais, c'est clair.
Parce que tu vois, on dit que Christine, tout le monde l'aurait oublié si ça avait pas été adapté, mais là, pour le coup, ça a été adapté et personne ne le connaît quand même.
Mm.
Alors, lequel aurait pu être adapté, enfin, aurait pu être signé du nom de Bachman
au lieu
d'être signé du nom de King?
Mais je crois que, il me semble que Misery, il avait commencé à l'écrire pour le sortir en tant que Bachman. Et finalement,
ah ouais, ouais. Ah, c'est marrant.
Et ce truc de l'écrivain dit... tourmenté, de ouais, ouais. Je décris la douleur, je sais pas trop fantastique, c'est pas fantastique du tout, ça pourrait être un Bachman.
Tu vois, moi j'aurais bien vu genre Jesse.
Aussi,
parce que
ouais.
C'est très ancré dans le réel par rapport à ce qui se fait d'habitude, ce qu'il fait d'habitude.
Ouais.
Et bah, moi j'aurais mis La ligne verte.
Ah ouais.
Dans le sens où c'est pas trop fantastique.
C'est peut-être pas assez virulent pour du Bachman. Mmh.
Ça c'est sûr. Bon, y a une souris qui meurt.
Ouais.
Oh, mais on spoil pas les livres qu'on n'a pas fait.
En plus, c'est pas vrai.
Bon, je sais pas, moi. Là, comme ça. Il me semble qu'il y a pas longtemps, on en a fait un où on a dit, ah, ça aurait pu être un Bachman, mais j'arrive pas à retrouver.
Bah, Élévation, non?
Bah, et pourquoi pas? Oui, Élévation, pourquoi pas? Il y a certes un côté fantastique, mais comme il y a tout ce truc autour de la maladie, c'est quand même. Pourquoi pas? Bon, si vous avez un avis sur cette question, on a bien envie de savoir. Ensuite, c'est Sid971, salutations à la cour du roi, je vous écoute depuis tellement longtemps et si souvent que j'ai l'impression de vous connaître. Je voulais poser une question sur le livre, mais je suis actuellement à la page 26.
Bon courage.
Une prochaine fois sûrement. Ma question... enfin, me direz-vous, quels sont vos hobbies quand vous ne travaillez pas, ne lisez pas Steven, ne préparez pas ces podcasts que nous aimons tant écouter? Si je peux me permettre, votre équipe est bien équilibrée, vous vous complétez et j'adore les disputes, Julien versus Pomme, longue vie au roi et à sa
cour. On est d'accord.
Bon, il va falloir trouver des livres qui divisent, là, ça va pas, on est en train de décevoir tout le monde.
Alors, moi, du coup, quand je travaille pas, que je lis pas du Stephen King et que je bosse pas sur un podcast, je dors parce que faut dormir des fois.
Mais
ou je mange avec mon amoureux. Voilà. C'est un peu, en ce moment, c'est un peu ça. Hein. C'est soit je mange, soit je dors. Voilà.
Moi, c'est les jeux vidéo, des fois avec les gens du podcast, justement, quand on a envie de se faire peur ou de jouer aux Vikings.
Ouais, oui. Ben, sachez-le, ils font des trucs entre eux et Hurd et moi, on est mis de côté. On n'est jamais con.
Ah non, moi, c'est, je viens pas.
Mon
énergie à l'élevage de chat ninja. Je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois. Sachez-le.
Et sinon, les jeux de société.
Et les jeux de société aussi.
On est à fond sur Aeon's End et c'est vachement bien.
Les hobbies, en hobby, oui, il y a les jeux vidéo. Il y avait les concerts quand on pouvait avoir des concerts. Il y a du dessin un petit peu. Est-ce que le sport c'est un hobby? Je sais pas. Est-ce que Stephen King France c'est un hobby? Je sais pas.
Oui.
Il y a plein de trucs à côté du roi.
Tant que ça paye pas ton salaire, c'est un hobby, hein.
Non, là, ça paye pas mon salaire, en effet.
Okay. Les jeux et le sport, surtout en ce moment.
Ouais, mais toi, tu prépares des gros trucs. En plus, tu vas pas courir pour dire que t'as fait quelque chose, quoi.
Certes. Je cours pour préparer des courses.
Ouais, des grosses courses, quoi. On prépare pas les mêmes courses.
Alors, si tout le monde a fait le tour, tout le monde a dit ce qu'il voulait dire. Emeric, il aime bien faire du pain, il l'a pas dit.
Oui.
C'est vrai.
Les mecs qui cuisinent.
J'aime bien faire fermenter des trucs.
Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je fermente.
C'est tout à fait normal, ne prenez pas peur. N'appelez pas les flics tout de suite.
Non, mais je fais fermenter des trucs Lego. Allez pas me faire une réputation. Je suis pas de...
Des gens.
Je suis pas un bootlegger. Je suis pas dans la forêt faire du mou et ensuite le distiller.
Ça tirait bien.
Je ne suis pas en salopette, chemise à carreaux avec une grosse barbe et un chapeau.
Très bien.
Et tu fais pas ça la nuit.
Oh, tu sais, maintenant, ils font ça deux jours.
C'est vrai.
Ils font même des émissions de télé-réalité où ils sont suivis. Et,
Oui, j'avais vu.
Ils font des deals chelous et illégaux en caméra cachée.
C'est ça.
Ça a l'air bizarre.
Allez, dernière salve de questions qui viennent du Discord de SKF, de Stephen King France. Minka qui nous demande si vous aviez un pseudo maléfique, lequel serait-il? Bah, c'est Pomme.
Moi, ce serait Petit Imberbe et il empêcherait les gens de dormir. Je vais à la maison.
C'est ton fils, en fait.
Aucune idée.
Julien, Aymeric, un avis?
Moi, je suis déjà mon double diabolique. Pas besoin de pseudo.
Je ne sais pas. J'en avais un sur un truc en ligne là où tu dois associer le nom de famille de ta mère avec le nom de ton premier animal de compagnie.
Ah, ça fait Moon Moon. Pardon.
ça fait pas ton pseudo d'acteur porno, ça.
Ça marche aussi.
Ouais. Oui.
Ton pseudo, oui, ça marche. Mais du coup, je n'en ai pas.
Genre ton deuxième prénom et le prénom de ton premier animal de compagnie. Ça fait ton pseudo de star du porno. Bref.
J'ai pas de pseudo bénéfique, donc ce serait Urd. Mon pseudo maléfique, c'est l'actuel comme Pomme, en fait.
Ouais, c'est ça.
Je suis fatiguée,
c'est rassurant,
mais...
ça, tout ça. Hein.
Mais voilà.
Alors... Dead Hunter, si vous aviez l'occasion de laisser agir le Hyde qui se cache en vous, qu'aimeriez-vous faire?
Peut-être quelques rotules.
Faire le tour de France des cassages de genoux.
Ah, c'est venu de bon cœur.
En fait,
couler une terrasse en béton.
Mais c'est une très bonne question parce que c'est...
Grand Paul, il faut vraiment qu'on en parle. Ça va plus là. J'avais pas entendu sa réponse.
Mais oui, mais il dort plus, qu'est-ce que tu veux? Il comprend aussi.
Ah, heureusement qu'on fait pas un samedi derrière, je supporterai pas.
Pardon. Moi j'ai une anecdote perso pour répondre à cette question. fallait pas la poser.
Oh, je suis fatiguée.
C'est que t'avais pas fini de répondre en plus, Émilie, désolée.
Non, je t'en prie.
Vas-y, fini.
Je sais pas, je disais quoi.
Que t'allais péter des rotules.
T'allais péter des rotules.
Oui, non, que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que le sujet de King, c'est de savoir si on accepte ou pas la part des ténèbres qui est en nous, et que Romero l'a adapté parce qu'il avait des pulsions qu'il avait besoin d'extérioriser. Et moi, j'ai tout le temps ce truc où je me dis, si je me retenais pas, la personne en face de moi, je lui arracherais la tête. Et du coup, j'anticipe à la question d'après. Je dis, le sport a sauvé mon caractère à vouloir sauter à la jugulaire des gens, et où je suis beaucoup moins agressif que ce que j'ai pu être. Mais,
merci le sport. Hein, mais
mais ouais, moi, péter quelques rotules, je suis sûre que ça fait du bien.
Et ben moi, quand j'étais ado, j'ai découvert Les Liaisons Dangereuses, le livre. Et je rêvais d'être comme...
Damien.
Ah putain, j'ai perdu son nom. La nana. Hein?
Ah, l'Anna, non. Parce que Valmont, c'est le...
Eh ben, pas Valmont, Merteuil. Je rêvais d'être comme Merteuil dans le sens où... pas pour le plaisir de faire du mal aux gens, mais je rêvais d'en avoir rien à faire, de savoir ce que pourraient ressentir les gens si moi, ça me faisait plaisir.
Égoïsme, quoi.
Et que je prenais... Parce que je faisais... Enfin, j'avais toujours peur de blesser quelqu'un, de machin, de truc, et du coup, voilà. Et donc je rêvais de juste pouvoir faire des choses comme j'en avais envie, quand j'en avais envie, et d'en avoir rien à secouer, de savoir si ça blesserait quelqu'un ou pas. Ouais. Voilà. Donc c'était un peu ça, je pense, à l'époque, ma part maléfique.
L'empathie, c'est fatigant. Hein.
Et du coup, je réponds à la question de ça. Oh, mais Cypher, elle a posé deux questions, dis donc. Un sur SKF et un sur le Discord de Podcut. Bref, je réponds à sa deuxième question. Est-ce que vous vivez en harmonie avec votre part de sombre ? Oui, je vis tout à fait en harmonie avec cette part sombre-là. Parce que ben, ça fait partie de moi d'essayer de prendre en compte les gens.
D'accord que Pomme, elle répond toute seule à la question et elle enchaîne sur l'autre question.
Émilie a fait la même chose.
On sent qu'elle allait se coucher là.
Émilie a fait la même chose. Et là, et t'as rien dit quand c'était Émilie.
Pressé.
Non, j'ai pas dit que je passais à la deuxième question, j'ai dit que j'anticipais la deuxième question.
Ouais, donc j'ai répondu.
Oui, du coup, j'y ai répondu.
Bon.
Mais je peux.
Mais vas-y, Julien, on t'écoute. Réponds aux deux questions de Dead Hunter et de Cypher.
À qui tu parles ?
Julien. J'ai dit
je sais
Julien.
Pas.
Ah, pardon, j'ai pas entendu. il est en PLS, gros poil. Non, moi, le hide, je laisse déjà... 1, 2, 3. Le hide, je laisse déjà agir parfois quand j'en ai besoin. Donc, je vis très bien en harmonie avec ma part sombre, il n'y a pas de problème.
Mais tu ne tues pas des gens comme George Stark, par exemple ?
Non. Mais quand j'ai envie...
Oh, c'était pas trop convaincant, ça.
Non, mais son Death Note est très rempli.
Non, pas moi, j'embauche des gens, quoi.
Pas moi directement, non. Avec l'argent, on peut faire pas mal de choses.
Avec
non,
le podcast monnaie qu'on nous donne au Patreon. Vous savez qu'on a un Patreon.
Si vous voulez pas que votre nom soit sur les Death Note, donnez le Patreon. Non, mais généralement, ce que je fais quand j'ai ce genre de choses, c'est qu'au lieu de le laisser partir, je vais m'isoler dans un coin et je fais un truc pendant 2-3 heures, loin de tout et de tout le monde.
C'est un bon moyen. Tout.
Ouais. Ah, moi aussi, je me coupe des gens.
Moi, je coupe des gens.
Ça
mais...
prend 2-3 heures à faire ça.
J'ai pensé tellement fort. Urne, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter, toi aussi?
Non, je crois pas.
Que fais-tu?
Bah, je regarde des explosions, je crois.
Est-ce que tu te contentes de les regarder?
Ah ouais, ça
c'est
me
la
suffit.
Poubelle.
Pour le reste, il y a les médicaments, donc c'est bon.
Il est tard.
Aymeric, quelque chose à rajouter ?
Moi, en fait, quand j'ai l'occasion de laisser agir le hide, ou même pour vivre en harmonie avec ma part sombre, je déchire des feuilles de papier.
Toi, t'as investi dans du bitcoin argentin. Hein.
Très bien. Allez, dernière question. Ogra. Faut-il se construire un alias pour écrire différemment, pour laisser s'exprimer sa part sombre ? Pensez-vous que c'est ce que Stephen King a fait en optant pour l'un ou l'autre de ses alias, Richard Bachman ou Emma Green ? Je vous propose d'aller écouter notre épisode sur Emma Green qui date d'avril 2019. 2020 ? Non, 2019.
Ah non, 2019, t'as raison, ouais.
Sûr et certain. Alors, allez l'écouter.
Je répondrai que non, mais parce qu'on sait que King l'a fait dans l'optique de publier plus.
Oui, c'était pour des raisons marketing.
Et
mais ça
voilà.
Peut aider certaines personnes.
Ça peut aider, mais moi je dirais non.
Bah, moi je dis que oui, ça peut aider, clairement. Alors, pas que je cache ma vraie identité, mais je sais pas si je ferais du podcast sous mon nom-prénom. Sous mon vrai nom-prénom, par exemple.
Faudrait poser la question à Marie Shelley.
Absolument. Peut-être pour... Oui.
Allons lui demander.
Allons lui demander.
Qui est l'autrice de
Frankenstein.
Du monstre de Frankenstein.
La créature de Frankenstein.
La créature.
Non, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Ça, le titre.
Ça, le titre complet, ouais.
Ok, on a fait le tour. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ?
Oui, on va remercier Padre Pio, qui a dû nous quitter un peu précipitamment au cours d'émission. Donc merci Padre Pio d'être venu parler de ta passion pour Stephen King avec nous. On va rappeler à nos auditeurs qu'on peut te retrouver sur Twitter, @PadrePio, PADRE_PIO, si je ne me trompe pas, j'espère. Et voilà, merci encore, et tu reviens quand tu veux.
Mais oui, on trouvera bien un autre livre à traiter ensemble. On en a pour encore un petit moment avec Stephen King.
Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt. Merci.
Et merci Padre Pio de nous avoir rejoints pour cet épisode et on espère te revoir une autre fois pour un nouveau livre de ton choix.
On n'a même pas besoin de faire la pub parce qu'on a déjà tout dit durant l'épisode.
Il faut qu'on se corporate et qu'on fasse la pub comme on a dit qu'on la ferait.
Vas-y, on t'écoute.
Bon, ben moi, je déco. Hein.
Laura Steven est un podcast du label Podcut. Vous pourrez trouver tous les podcasts du label Podcut sur le podcut.studio. Et nous avons aussi un Patreon si vous voulez donner quelques sous pour soutenir le label ou le podcast. Patreon.com/podcut.
Rejoignez-nous.
On aime bien les commentaires et les étoiles.
Et rejoignez-nous sur le Discord et mettez des étoiles et des commentaires gentils. On aime bien les commentaires gentils.
À tout le monde.
Dans le respect
sur toutes les plateformes,
des règles
vous pouvez donner des notes.
des étoiles 5. Bon allez, bisous à tout le monde.
Bisous, bye, ciao.
Ciao. À la prochaine.
Bye bye.
Tout ça.
Ciao. La veille d'Halloween, il fait une crise de convulsion devant le bus scolaire. Il est transporté en urgence par un enchaîneur.
Excuse-moi, je pense à notre monteur. Reprends ta phrase.
Mais je reprenais ma phrase. C'était une nouvelle phrase.
Pardon.
Du coup, reprends.
Vas-y.
Vas-y.
Ok.
Je suis désolée pour le bruit. J'ai un distributeur de croquettes pour les chats et il y a ma voix en plus. Donc j'étais là, je vais pas faire du bruit supplémentaire en me retenant de rire. Voilà, c'est bon.
Pardon Rémi pendant le montage.
Mais c'est bon, j'ai attendu que la personne parle.
Des guides des âmes, oui non c'est ça.
Attends, je me permets de te couper.
Oui.
Tout le monde est bien en train d'enregistrer et tout se passe bien parce que comme on a perdu Alistair et qu'on le relance pas, on a aucune sauvegarde derrière.
Moi j'ai le général. Hein.
Ouais. Ok, bon bah c'était tout, c'était juste bon.
Non, tu fais bien.
On a plus de filet, les enfants.
Ça va bien.
Et c'est ça, on aime voler à l'air libre.
On est des pros, on fait sans une prise. C'est parti.
Si seulement.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.